bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le lundi 29 décembre 2014 et nous revoilà encore réunis pour l'enregistrement du 12e épisode de l'Entrepode qui, comme vous vous en doutez, ne sera pas du tout consacré à Noël que déteste Christophe et qui du coup n'est pas là, donc sache que nous pensons à toi. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai hâte de l'avoir dans deux jours, étincelante de lumière, habillée d'une tenue grand soir, de strass de paillettes, les lèvres d'un rouge vif surmonté d'une coiffure tendance. Elle va enfin mettre un peu d'ordre dans ce fouillis qu'elle nous présente une fois par mois pour les enregistrements. J'ai nommé Starlette.
C'est un compliment?
Tu veux ta robe dorée?
Bon, on dirait, non? Tu sais pas.
Alors lui, c'est le contraire. Nous aimerions le voir arriver dans deux jours, habillé d'un pull jaune moutarde trop court, d'un pantalon usé aux genoux, de lunettes accommodées par du façon... De lunettes accommodées par du scotch façon Félix, mal rasé, sentant la collégienne qui se néglige, pour pallier à ce défilé constant de bon goût, de classe à l'état pur. Un vrai dandy, j'ai nommé Lulu.
Je t'emmerde.
L'invité du jour est un spécialiste de l'internet, des réseaux sociaux et des dernières technologies, mais il est également journaliste, conférencier, auteur d'une vingtaine de livres, écrit dans Télérama, Libération, hein, Monsieur Touche-à-Tout, ça va? Tranquille les... C'est bon? Il est ici pour nous parler de sa dernière BD, Eno, la chasse aura stack.
Mais tu l'as pas lu.
J'ai nommé Sébastien Bailly.
Il y a un roman jeunesse.
Il y a un truc que je fais pas, c'est dessiner. Hein.
Je pense avoir baissé dans son estime après avoir lamentablement triché en regardant sur son épaule lors de son dernier quiz qui est pour moi surmontable. Mais que voulez-vous, les manouches mangent du niglo et sont parfois un peu fauchetons. Sera-t-il me pardonner de me laisser une chance de donner un jour une bonne réponse sans tricherie? Je nommé Freddy.
Oui, bisous mon chat.
Oh, il y a de l'amour.
Et ça... ça sent la transpiration. Elle aussi est plutôt active sur les sociaux. Son nom de code Brutil à 27 fait fureur dans le salon virtuel qu'elle a ouvert dans la catégorie Ma voix douce et sensuelle pour t'endormir le soir. Ce sera encore une joie de l'entendre chatouiller mon tympan de sa voix tellement suave, j'ai nommé Didouille.
Bravo.
Ah bah moi, elle me plaît pas du tout. C'est, d'habitude, il y a un truc gentil, mais là, c'est méchant.
Alors, il a la même passion que Tosa Marité, c'est-à-dire les dernières technologies, Internet, les réseaux sociaux, le journalisme. Je me demande même si la venue de Sébastien Bailly n'est pas le fruit de... Bah oui, en fait, oui, c'est pour ça que t'as fait venir Monsieur Je Touche à Tout, parce qu'il fait les mêmes choses que toi, quoi. D'accord.
Il fait plus de choses que moi, quand même.
Et Nico dessine aussi des BD, c'est quand même...
Mais moi, ça va me faire du bien d'en prendre un petit peu, de m'instruire un peu dans tout ce domaine-là. Donc,
c'est pas faux, ça va faire du bien, oui.
Je te laisse les commandes de l'émission et j'ai nommé le grand Nico.
Ouais.
Merci, Marius, dis donc. Et toi, t'avais largement le temps. Hein.
Bah ouais.
Toi, t'aurais pu dire plus de conneries.
Oui, mais il y a combien, là? Il y a au moins 2 minutes. Hein.
Au moins.
Non, mais c'est pas très, très grave. Hein. Mais c'était très bien.
Ah non, mais bon. Je suis content de moi.
Moi, bon, c'est le principal. Donc pour info, Sébastien ne fait pas de BD. Hein. C'est un roman jeunesse.
C'était une blague.
C'était une boutade.
J'ai hâte d'entendre ta critique. En fait.
Bon, bah on trinque alors. Santé. C'est...
Et donc, bah oui, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Entrepode à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc cette année, pas d'épisode de Noël particulier. Mais un épisode qui va nous permettre d'échanger, comme l'a dit Marius, avec Sébastien Bailly, un personnage rouennais multicarte, hein, pas fait toute la biographie, on reviendra avec lui plus tard, et qui est notamment là pour sa dernière parution en date, un livre jeunesse, Eno et la chasse au Rastak.
C'est pas une BD.
Il n'y a pas de « et ». Eno, virgule.
La chasse au Rastak. Putain, j'ai pas bossé non plus.
Et il n'y a pas de virgule.
Ça, par contre, j'avais marqué, moi.
Il n'y a pas de virgule.
Eno, la chasse au Rastak.
En fait, il n'y a pas de virgule sur la couverture, mais il y en a une sur la tranche.
Bon, on a voilà. Tous les deux raison.
On bon. A bien bossé.
Ok.
Enfin, donc... pas tout le monde. Mais...
moi, je savais qu'il n'y a pas de virgule. Hein.
C'est le seul truc dont tu avais une quelconque information. Et donc, bah, comme l'a déjà dit également Marius, malheureusement, Christophe ne peut être des nôtres aujourd'hui.
Ou pas.
Il doit être frais et dispo pour son travail de demain matin. Donc, bon. J'ai l'excuse
bon
qui me paraît un peu
Christophe.
Bidon, mais...
Rappelons qu'il est fonctionnaire, quand même.
Ça va lui faire plaisir quand il est connu. Et donc, au sommaire de ce numéro, un retour sur les épisodes précédents. On attaquera avec la rubrique à braque sur différents sujets. On échangera donc avec notre invité, qui sera le gros de notre épisode.
J'hésite à la faire.
C'est parce qu'on a perdu Lorraine.
Excuse-moi, moi, à ta place, je serais déjà barré. Parce que là... À un moment, il faut dire, messieurs, hein,
que les censeurs.
Tu peux défendre Sébastien.
Je quitte cette table.
Non, mais... Ah, on l'a plus.
Alors, attends, tu je l'ai préposé au clavier.
Non, on l'a pas celle-là.
Ah, bah, si.
Attends. Continue comme ça, moi je te dis tout de suite, Nico, je quitte cette table.
C'est bien, c'est que c'est spontané.
Est-ce
ouais,
que
c'est...
toutes mes réponses sont déjà prêtes?
Nous verrons bien. Freddy nous fera un petit quiz, puisque tu as préparé un quiz
et oui, absolument.
En lien avec notre invité, je suppose, fidèle à ta...
Et oui, avec l'univers de notre invité.
Ah, voilà.
Ce qui a ouvert un peu le champ des possibles pour les questions.
Je vais perdre, moi.
On va se marrer, tiens. Mais Marius qui est bien préparé, va y arriver.
Tu vas prendre le coup, il peut pas bouger.
Il s'est mis à fond, BD. Je pense qu'il est au taquet.
Oui, parce qu'ils ont changé l'ordre de place, je peux même plus copier.
Ah oui, on l'a pas dit, on a inversé l'ordre et.
Je suis pas bien.
Là, il est perdu.
Il va bien du tout. Juste que tu saches qu'il fait.
Didou, y a-tu prévu un.
Notre invité ne fait pas que de la BD, il réalise aussi des films. Donc, il faut juste que tu saches, comme ça, après, c'est plus facile pour toi.
Moi, je ne crois pas si bien dire, effectivement. J'ai un homonyme qui réalise des films.
On va en parler tout à l'heure.
Des films série. Dont on peut parler ou vous avez l'air d'être un peu gêné aux entournures.
Non, c'est juste qu'il m'a flingué ma présentation d'invité. Mais...
Ah merde. Je suis désolé.
C'est pas grave, je la ferai quand même.
Didouille, as-tu préparé une séquence pour s'endormir moins bête?
Ah ben toujours, oui.
Je l'ai pas vu dans le conducteur, c'est juste pour ça.
Ah, ça c'est juste pour dire aux auditeurs qu'en fait, pour une fois que j'ai pas fait mes devoirs, tu me... Hein?
Je ne répondirai pas dessus. Bref. Starlet,
bon,
qu'as-tu testé pour nous cette fois-ci? Tu nous réserves la surprise ou...
Oui.
D'accord.
Mais elle l'a mis dans le conducteur. Hein.
Oui, elle, oui. On le sait tous.
Je l'ai vu, ouais.
Et puis, ça sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire à Sébastien, si tu veux préparer un coup de cœur ou un coup de gueule, tu as 3 heures devant toi avant qu'on arrive à cette partie de l'émission. Donc, t'as tout ton temps.
J'ai 2-3 idées, mais ça va dépendre de comment ça se passe.
Ok.
Il sera peut-être plus large.
Le coup de gueule sera peut-être contre l'émission.
Voilà, c'est ça.
Et en cette période de festivités traditionnelles, vous ne couperez pas à notre tradition.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'après le générique, vous entendrez Ludo, qui souhaitera finir l'année en beauté avec une chanson de circonstance qu'il nous présentera donc en fin d'émission.
Tout à fait.
Donc ça aussi, tu nous réserves une surprise,
surprise, enfin,
digne des plus grands.
En tout cas, c'est un petit morceau qui date de 1973 et publié et vraiment sorti en 74 en France.
T'es pas né, Marius?
Ah, si, je suis né.
Non, c'est moi qui étais pas né.
Vous allez voir, c'est une perle de.
Sorti en 73, je lui dis, t'étais pas né, Marius? Mais si, j'étais né en 74.
C'est dans l'autre sens que ça.
Je sais pas, mon âge, moi, madame, moi, je suis pour rien, moi. Je suis pour rien du tout, moi. Ils m'ont dit ça, moi, je fais ça.
Et ben, je vous propose d'enchaîner avec le retour sur les épisodes précédents.
Résumé de l'épisode précédent.
Une requête, Marius?
Une requête, ouais. J'ai pas internet, donc je vais pas pouvoir poster les photos en direct live.
Trop
qui
con,
est
trop,
trucs.
Trop con.
En direct,
c'est pas
moi
qui
n'ai
pas internet. C'est vous qui n'avez pas internet. Je suis chez vous, mon donnaze.
C'est dommage, hein. Surtout, c'est les gens qui attendent sur Google Plus qui doivent
être. J'ai pouce bout.
Je pense que. Ouais, mais il doit être impatient.
On communique beaucoup maintenant.
Oui, pour dire à Sébastien, donc, Marius a l'habitude de nous balancer des photos en live. Mais comme on n'est pas diffusé en live.
Ouais, mais c'est un direct live différé.
Tu les mettras en ligne quand tu rentreras chez toi.
Non, ça me gêne aussi. Alors, vous avez changé la plage, je peux pas poser.
Ah, mais là,
photo,
je t'en compte, perturbe. Cela étant, je vais laisser la parole à Freddy.
Oui.
Qui a un petit sujet à nous faire, un retour sur.
Ouais, c'est ça.
Un invité plutôt.
Ouais, je vais pas parler beaucoup puisque j'ai préparé un petit son. Je me suis rendu à la vente aux enchères caritative organisée par Monsieur Rêve, du Rêve de l'Escalier. C'était le 18 décembre dernier à l'hôtel des ventes de la Seine à Rouen. Et une très belle soirée avec beaucoup d'œuvres qui sont vendues. J'ai moi-même acheté un petit Chihiro de Gaël Levarlet qui est très bien chez moi.
T'es pété de thunes en fait, toi.
Et c'est pour les enfants du CHU, je le rappelle.
Oui.
Non, t'es vraiment mort, toi.
Tu veux dire autre chose après ça ou pas?
Non, c'est bon, vas-y, enchaîne.
Donc voilà, une vente aux enchères caritatives qui a rapporté beaucoup de sous. Monsieur Rêve va nous le dire lui-même puisque j'ai fait une petite interview sur place.
Super.
Et normalement, si la technique fonctionne, on l'entend maintenant. Alors, Monsieur Rêve, on sort de la vente aux enchères caritatives au profit du service oncologie pédiatrie du CHU de Rouen. Pour quel butin récolter?
Eh ben, je dois dire qu'on a été très très surpris parce qu'on avait fait une estimation qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a eu au final. C'est-à-dire qu'on a eu plus du double de ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire à peu près 4 500 € pour les enfants du CHU.
Au final, 4 500 €?
Tout à fait.
C'est beau, hein?
C'est magnifique, je suis très ému que les gens aient enchéri sur les œuvres des différents artistes qui ont contribué à cette vente. Et puis je suis content pour les enfants parce que là du coup ça va mener à terme des projets.
Et des artistes locaux pour la plupart?
majoritairement des locaux, des gens qui habitaient sur Rouen ou qui habitent encore sur Rouen. Et puis voilà, un engouement dans la salle qui était magnifique.
Une bonne ambiance, on peut le dire.
Une super bonne ambiance, une vente très détendue et très rigolote.
Voilà, la suite, c'est quoi? C'est une remise de chèque officielle? Est-ce qu'il y a un petit événement qui est prévu?
Alors normalement, avec le service du CHU, on va faire une vraie fausse remise de chèque qui est prévue avec normalement Rémi M qui s'occupe de la communication du CHU. Donc on va voir avec l'hôtel des ventes comment ça se fait et puis ça se fera dans les prochains jours, je pense.
On communique ça sur le blog, sur l'entrepod.
Ah, ça serait super et puis merci à vous.
Merci à toi surtout.
Voilà, j'ai fait un petit ricanement comme ça à la fin.
T'as raison, ça ponctue bien une intervention. Exactement. C'est parfait.
On sent super pro là-dessus, sur ce coup-là. Hein.
Non, mais je souligne à nouveau la belle soirée qu'on a passée. Il parlait de la bonne ambiance et c'est vrai que c'était détendu. Il y avait beaucoup de monde, à savoir que la salle était pleine. Toutes les œuvres sont parties, ça ne l'a pas dit, mais ce qui est quand même assez remarquable. Et le magot récolté, quoi. 4 500 euros, c'est quand même quelque chose.
Les artistes avaient tous fait don de leurs œuvres.
Oui, c'est ça. Y compris des artistes, enfin, des artistes aussi très cotés. Je pense à Vervich qui avait fait don d'une œuvre qui est partie pour un prix raisonnable vu sa cote, mais un bon prix pour le but de l'opération.
Ouais. Et le maximum récolté était pour quelle œuvre?
Pour l'œuvre de Vervich qui est partie à 190 euros.
D'accord.
Bien. Non, c'était pas mal. Et l'après-midi, il y avait aussi des dédicaces d'auteurs qui étaient là.
190 euros, c'est plus qu'abordable, quoi. Enfin, c'est
pour un verre,
c'est quand même abordable.
C'est sympa comme prix, ouais. Ouais. Et puis l'après-midi, effectivement, il y avait deux auteurs, Jean-Marie Minguez et le deuxième, le nom m'échappe, mais peut-être on pourra le mettre sur le blog, qui dessinaient des super-héros. Et moi, je lui ai demandé de me faire un choupi parce que c'est le super-héros de ma fille en ce moment. Ce qui l'a fait beaucoup rire. Et il me l'a fait quand même. C'était très sympa.
C'est mignon en même temps. Mais voilà. C'est quand même une belle initiative, effectivement. Enfin, Mickaël nous en avait parlé quand il était venu, mais à l'époque, il y a déjà quelques mois.
On est pas si c'était en 55.
C'était avant que Marius soit né, en fait, en 79. Mais voilà, là, ça s'est concrétisé, effectivement.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'était le retour sur les épisodes.
Et tous les ans, il y a cette démarche-là de fait.
Non, c'était exceptionnel.
C'était ponctuel, voilà.
Du coup, ça va peut-être être reconduit, vu face au succès.
En fait, ce sont les œuvres qu'il avait accumulées durant toutes ces années.
Non, mais là, peut-être qu'il va y avoir des artistes qui vont se proposer spontanément, non? Enfin, c'est.
Peut-être. Je crois qu'il n'y a pas pensé lui-même. Oui,
oui. La prochaine, j'y vais. J'achète et je revends.
Sacré Marius.
Voilà, c'est tout pour moi, Nico.
Okay. On me fait des signes à ma droite, je suis perdu. Je suis perdu, un auditeur.
Je crois qu'il veut dessiner ta main sur la feuille.
Voilà. Il est jeune, le garçon.
Il est beau. Hein. Oui, je lui ai dit.
Donc, ça doit être le nom du. C'est Julien Hugonard.
Voilà, c'est ça. Merci, Marius.
Merci, Junior. Hugonard Barch.
Oui, exactement.
Voilà.
Donc, c'est Marius pro, Junior, voilà. Pas Marius.
Parce que l'autre,
faut quand même savoir que dans cette
l'autre,
émission,
il a pas de connexion.
Là, il est en train de manger le chocolat.
Là, il s'agissait de BD.
Vraiment, et des dessins.
C'est terrible d'être humilié à chaque épisode, hein, Marius.
Ouais, j'aime bien. Moi.
Et chaque quart d'heure de chaque épisode.
À chaque fois que tu ouvres la bouche. En fait. Quant à moi, à moins que quelqu'un d'autre ait des sujets à faire sur des retours d'épisodes précédents, il y en a un que je vais partager, le premier avec Ludo. Oui. Donc c'est sur la soirée des Golden Blog Awards.
C'était sympa.
On peut peut-être raconter dernier. À Sébastien avant ce que.
Alors donc oui, pour la faire courte, hein, ceux qui nous ont déjà entendu en parler, ça c'était chiant. Mais en gros, on avait participé à la cérémonie des meilleurs blogs de l'année et blog podcast. Et on a été dans les shortlistés dans les 10 derniers. Donc on avait des invitations.
Ouais. Ah, moi je me la pète plus que ça. Hein. Je dis à tout le monde qu'on était dans les 5 premiers.
Ouais. Non, 10. On était dans les 1 premiers, mais on n'a pas gagné. C'est bizarre.
C'est une émission où on se la pète parce que je crois que j'étais dans le jury du premier. Je crois que j'étais dans le jury du premier podcast d'or en 80.
Ah ouais.
Ouais, en 2002, 2003 par là.
D'accord, bon, en tout cas, nous, on n'en faisait pas à l'époque, on était encore en culotte courte, pour certains. Et du coup, avec Ludo, on a pu profiter d'une invitation, Et même si Ludo, là, la bouche pleine, il n'arrive pas à parler. Bon, l'image de la cérémonie, moi, ça n'a pas trop changé par rapport à ce que j'avais déjà vécu en 2012, c'est-à-dire une cérémonie pas si intéressante que ça, où tout s'enchaîne, c'est plus une de la pub, quoi. Avec un son hyper fort, on n'entend rien du tout de ce qui se passe, etc. Mais c'est pas pour ça que moi j'y allais et que j'avais essayé d'emmener Ludo. C'était plus pour échanger avec d'autres blogueurs et podcasteurs. Et c'est là que ça a été plutôt sympathique, puisqu'on a pu rencontrer notamment Bouli et Maud, les patrons du Bidule et animateurs du podcast du même nom, ainsi que leur chroniqueur musique, à quel Ludo a fait un peu de rentre dedans vis-à-vis de Kankyu. Ouais. Non, Marius, là.
J'étais léger, non, j'étais si fort que ça. Ouais.
On a pu croiser Walter
Proof. Pas plus
Proof.
Que d'habitude.
C'est lui le lourd.
On a vu l'ami Walter Proof qui nous a fait sympathiquement un petit salut. Mr. D, donc le grand vainqueur, lui, puisque c'est l'agence 2Geeks qui a remporté le award du meilleur podcast de l'année. Et puis un poditeur, La Mise à Feu, avec qui on a échangé quelques instants sympathiques. Donc c'était vraiment sympa pour ça avec Ludo à Paris. On était dans les salons de l'hôtel de ville de Paris et c'était cool, vraiment, vraiment une bonne petite soirée. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludo?
Moi, j'ai parlé. Je trouvais sympa. J'ai trouvé surtout ce qui est sympa, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes qui font les mêmes choses que nous.
Des autres gens, quoi.
Des autres gens, ouais, mais c'est des domaines différents.
Moi, je voulais voir Walter Proof.
Mais écoute, non, mais c'est l'occasion en plus de voir des gens à qui tu as l'occasion d'échanger des fois par podcast interposé, mais là physiquement, donc je trouve que c'est quand même une belle initiative, même si effectivement c'est vrai que techniquement et tout le son, c'est pas, par exemple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top et tout, mais je trouve que rien que l'initiative, le fait qu'elle existe déjà, c'est
exactement
chouette. Et puis donc, dans un décor qui était vraiment les salons de l'hôtel de ville de Paris,
c'est quelque chose, on y va pas tous les jours,
non, en fait. vraiment c'est
enfin, nous, en tout cas.
Non, puis les projections donc de lumière dessus, là, toutes les couleurs, ça faisait classe.
Non, j'ai passé une très bonne soirée, c'était très sympa.
Donc
et
voilà.
Et rencontrer Mr. D, c'était l'occasion, parce que j'écoute son podcast régulièrement.
Ouais.
Je peux demander pourquoi il y a un petit déj qui est en train de s'installer sur la table avec des pains au chocolat et des croissants.
Écoute, je ne sais pas, on a prévu de faire
des tartes. Il y avait plus de chouquettes.
Et des Zayenaya Azori. Ah, ça y est, j'ai internet.
Oh, c'est génial, on va se marrer.
Chier.
Autre sujet sur lequel je voulais revenir. Marius, à moins que tu aies quelque chose à dire, je sens.
Oui, j'ai un truc qui vient de me revenir. On peut parler aussi du concert de la Maison Tellier.
Ah oui, j'y étais aussi.
Ouais, bah, c'est allez-y. Pour ça que je te regarde intensément.
Je me demandais, mais pourquoi me regardes-tu?
Donc, le concert de la Maison Tellier au 106, avec Tahiti 80, qui était simplement formidable. Quoi. Tahiti 80, je ne suis pas spécialement rentré dedans. C'est bien, mais je n'étais pas venu pour eux et je ne suis pas rentré dans le truc. Mais alors, la Maison Tellier, ça fait deux fois. Et
à chaque fois, un enchantement.
Et à chaque fois, ouais.
Une ambiance rarement vue à Rouen, hein, je tiens à signaler.
Ah oui,
c'était
à un moment, c'était un peu fouillé sur le côté droit, là. Je sais pas si t'as entendu.
Moi, j'étais de l'autre côté, mais justement, c'était bien, quoi, pour une fois que c'est vivant comme ça.
Trop vivant, à mon goût. J'aime pas quand c'est le bordel aussi en bas, et que ça discute, et que ça piaille comme des. Je sais pas qui a piaillé comme une merde en bas. Là,
mais... c'était moi.
Putain, le vieux chiant, lui, en concert.
C'est clair.
J'aime pas quand il y a du bruit, ça m'énerve.
Si tu cherches Marius, il est assis au dernier rang.
Il fait le ronchon. C'est le vieux du Muppet Show.
Non, mais c'est vrai que ça a braillé pour le moment, c'était chiant. Il y a plein de gens qui ont fait. Je vais me faire bordel. Oui, c'est vrai. Mais non, c'était bien. Ils assurent, ils sont toujours au top. C'était spécialement intense. J'ai vraiment aimé. Voilà.
Très bien. Bah, écoute, on va rester dans le cadre familial de Marius. Je voulais revenir vite fait sur Jean-Édouard Cricquioche.
Ah, je croyais que tu voulais parler des Manouches.
Moi aussi, j'attendais un truc comme ça.
Non. Puisque depuis le dernier épisode, donc le 22 novembre à 4h33 du matin à l'heure de la métropole et après 19 jours, 14h33 minutes et 5 secondes, Jean-Édouard a rejoint Pointe-à-Pitre, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est là-bas que ça arrivait, je suis plus sûr. Non, je sais plus où ça arrivait. Mm-hmm. Ah, bref, il a fini la route du Rhum.
C'est la route du Rhum, donc oui, il y a des chances que ce soit là-bas. Ouais.
En 17e position de sa catégorie classe 40, en étant parti dernier quand même. Donc voilà. Il a quand même. Et puis, donc j'avais fait un petit.
Et il a toujours ses dents cette année.
Non, mais pour expliquer à Sébastien, il a eu des petits soucis techniques.
Mais d'abord,
qui est Jean-Édouard Cricquioche? Voilà.
Il est venu à ce micro déjà.
Déjà pour commencer. Oui.
C'est le cousin de Marius qui est donc skipper, qui l'année dernière était venu suite à la Transat Jacques Vabre. Mm-hmm. Cette année a fait la route du Rhum et il est venu, il était venu nous en parler, ouais, etc. Donc là, on a suivi un peu son périple puisque il y a un petit billet récapitulatif sur le blog si vous voulez voir. Il avait fait il nous faisait vivre. Via Facebook, ces péripéties nombreuses, parce que c'est quand même un truc de fou, hein, fait à traverser l'Atlantique en solitaire comme ça, c'est quand même. Il est passé en plus dernièrement sur la chaîne normande, on est tombé dessus avec Delphine.
Et c'est vous
c'est nous qui regardons de temps en temps. Et en fait, c'est un bon client, quoi. Tu le retrouves là, il a toujours ses bons petits mots. Il est...
Et surtout que le monsieur fait pas ça dans la vie, il est directeur de cinéma à Louviers.
Exactement. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu son état d'esprit, toujours sa bonne humeur, malgré les événements et les éléments qui sont déchaînés contre lui, allez jeter un petit coup d'œil sur le billet de l'Anthropode. J'ai repris toutes ces citations et c'est chapeau pour lui.
Fallait le faire.
Quand même, oui. Enfin, moi, je le ferais pas, c'est sûr.
Ah oui, c'est vrai. Et puis, il vient d'acheter une Zoé, donc vous pouvez le préciser.
D'accord. C'est passionnant.
Non, c'est un petit message privé.
Ok,
pour lui.
D'accord. Il nous écoutera peut-être pas, mais bon.
Il écoute à chaque fois.
Ah oui. Mais nous, c'est quoi ce bordel, alors?
si c'est une émission où on se la pète, j'ai fait un stage d'optimiste à
En fait, c'est un truc pour
à 14
nous.
14 ans, au lac de Bédane.
Et, franchement, levez la main. Qui n'a pas fait un stage d'optimiste?
Ça va être très, très radiophonique.
Tu lèves
tous la main. Allez. J'avais jamais entendu ce truc-là avant aujourd'hui.
Mais c'est les petits. Mais
je sais ce que c'est.
Les petits bateaux à voile.
Oui. Ah non, j'ai jamais fait de bateau à voile.
On fait ça à Bédane, dans la région. Notamment.
Alors non, moi, j'ai fait ça sur le lac de Gérardmer, dans les Vosges.
Ah non, à Bédane.
Ok. Très bien. Je sais pas quoi dire, en fait.
Il y a une touche qui dit c'était vraiment très intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
C'est exactement celle-là.
C'est bien, c'est qu'il y a une spontanéité énorme dans cette émission. C'est formidable.
Toi, t'as bossé ton clavier, toi.
On m'a collé le clavier, j'en suis ravi, mais forcément, enfin, un petit temps d'adaptation.
Et puis, sinon, bah, pas beaucoup de commentaires, mais quelques-uns depuis le précédent. Tu vas arrêter ça tout de suite.
Je propose que j'échange ma place avec des films.
Christophe, reviens, tant pis, il va pas bosser demain. Donc un petit retour et on reste dans la thématique Marius, oui. Puisque l'ami Cousbou, la personne
oui,
qui te
bah
suit,
oui, j'ai quelqu'un qui me suit donc c'est en Google Plus et je le remercie parce
et
que
il te remercie nommément pour Timber Timbre et Jesse Marchand puisqu'il trouve que tu lui as fait découvrir des bons sons etc. Et
bah,
il voulait t'en remercier. Ouais. Je suis pas sûr qu'il va tout apprécier ce que tu vas faire écouter, j'en ai entendu un.
Le 60 secondes?
Ouais.
Ouais, non, c'est spécial.
Bon, on verra.
Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas grand monde qui va apprécier.
Mais donc, en tout cas, il tenait à te dire, parce qu'on te charrie beaucoup, mais cela étant, tu proposes des musiques qui plaisent à nos auditeurs.
Tu sais, il me l'a dit, on communique.
Ah, d'accord.
Par Google Plus.
Non, mais bon, faut que les autres le sachent. Parce que sur Google Plus, il n'y a personne à part vous deux. Donc, voilà. Sébastien aussi. Bon, pardon, excusez-moi.
J'ai pas fait de demande à Sébastien, tiens, je vais le trouver.
Walter Proof, qui a été littéralement embarqué par les récits de voyage de Audrey et Benoît lors du précédent épisode.
C'était chouette, cet épisode.
Tout comme Monsieur Hobby, qui a beaucoup aimé cet épisode. Également Jonathan, donc avec qui j'ai échangé, qui est un podcasteur du podcast Voyage Cast, donc qui est consacré au voyage, donc forcément la thématique de Benoît et Audrey, ça lui parlait. Il tient aussi un autre podcast assez intéressant qui s'appelle Anthropodcast sur l'anthropologie. Enfin, après, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Et c'est un poditeur suisse, donc on sort un peu de la.
Wow.
De la métropole
internationale.
Alors il aime beaucoup le podcast, par contre, c'est vrai que il trouve, enfin pour lui en tant que Suisse, des fois on est un peu trop local.
On est un peu trop speed. Non. Je croyais qu'en tant que
locale,
Suisse, t'allais dire qu'on était un peu trop long et lent.
Je ne fais pas ce genre de préjugés stéréotypes, sauf sur les manouches. Mais il y a peut-être pas de manouches en Suisse, donc ça ira. Mais en tout cas, sinon, ça lui parle, donc il aime bien. Et un commentaire de Guilin, je ne sais pas si Freddy connaît ce Guilin, mais en tout cas, il t'a directement envoyé une petite pique, parce qu'il a bien aimé l'épisode.
Ah, bah, oui.
Mais
revois ta géographie, Freddy.
Sur la géographie, sur ton quiz, il t'a fait remarquer qu'un pays qui se trouvait sur trois continents, il y avait la France, avec les territoires d'outre-mer.
Ça chipote.
Donc voilà, non mais c'était juste voilà, la petite pique pour te taquiner un petit
accordé.
Peu.
Accordé.
Voilà.
Prends ça dans ta gueule.
C'était exactement ça. Et puis,
tu lui mettras un point au classement.
D'accord, voilà. Oh merde, faut que je fasse ça, le classement. À couper. Et puis bah, je vous propose d'enchaîner.
J'en ai juste une, je voulais juste dire que Nabila a été libérée. Ça, c'est mon retour sur l'épisode précédent.
C'est vrai. Donc, que tu nous avais parlé.
Go for it, Nabila. Go for it.
Avec le geste du poignet, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, écoute, je te laisse seul responsable de cette expression. Voilà. On passe tout de suite à la rubrique Abrac.
Pour penser sans les mots. Pour être véritablement pensé sans les mots.
Freddy.
Oui.
Tu voulais aborder un sujet.
Absolument.
Je t'écoute.
Alors, il s'agit d'un documentaire réalisé par Samy Batik, qui est un ancien Rouennais installé à Paris aujourd'hui, qui est allé en Haïti, à Haïti, je crois qu'on dit comme ça. Bon.
On ne dit pas qu'on va en Tahiti. C'est pareil, je pense.
Exact. Non, mais non,
c'est pas pareil. C'est en Avignon, en Alexandrie, quoi, c'est ça ? Bref.
En Avignon, je crois que c'est dans le pays d'Avignon. Enfin, bref.
Bon, bah,
c'est n'importe quoi.
Il est parti à Port-au-Prince, ouais. À Haïti, et il a filmé.
En Haïti, je crois.
Il a ramené des images pour faire un documentaire qui s'appelle Battre tambour, qui consiste à retracer l'histoire un petit
c'est
peu
pas
de la culture.
Plutôt de battre tambour et s'est arrêté, non ?
Non, justement, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à ça. Et en même temps, battre tambour, c'est l'action vaudou, la culture vaudou, qui s'appelle comme ça. Et lui s'intéresse aussi, notamment à cette culture vaudou, mais surtout à la musique qui est liée à ça. Il avait fait une petite reconnaissance, il avait. Préparer un projet participatif, un financement participatif. Sébastien connaît bien ça puisqu'il l'a
du
fait
crowdfunding.
Pour. Crowdfunding. Ouais, ouais. Pour Eno, il l'a fait. Oui. Peut-être tu nous en diras un petit mot tout à l'heure.
Oui. Sa dernière BD. Là.
et donc il a récolté des fonds, et il est parti faire un documentaire qui a l'air vraiment très bien puisque pour l'heure je n'ai vu et tout le monde n'a vu que le teaser. Et Samy Batik est à la recherche d'un distributeur et de diffuseur. Donc je trouvais que c'était l'occasion mettre son action en avant en tout cas, et puis quelque chose qu'on peut voir sur Vimeo, pas sur YouTube,
voilà, sur
Dailymotion, mais sur Vimeo, ça s'appelle Battre tambour, on voit un teaser qui est très bien fait, des très belles images.
J'ai regardé cet après-midi, on voit effectivement une espèce de danse, incantation vaudou,
ouais,
c'est assez impressionnant
ça,
d'ailleurs.
C'est ça. Une chose, moi je connaissais pas du tout, mais surtout, le sujet est intéressant, mais les images sont très belles, donc ça promet beaucoup, j'espère qu'il arrivera à...
N'en avais-tu pas fait un billet sur Dusson la Joie ?
Oui, absolument, il y a quelques mois, oui. Bah, à l'époque où...
Il avait fait le crowdfunding ou
ouais, c'est ça, c'est ça.
Crowdfunding.
Attention à ma prononciation. Freddy, la campagne, elle est toujours en cours ?
Non, c'est fini, c'est financé, c'est réalisé, c'est monté, c'est prêt à être diffusé. Et voilà, le fait de le mettre en avant aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas, si quelqu'un nous entend pour le distribuer, pour le diffuser, ça serait un joli coup de pouce pour lui.
Ça devrait être une facilité, 24, une formalité.
Oui, une formalité, c'est bien.
Marius, Google Plus, tout de suite.
Je rappelle à Sébastien qu'ici, on fait et on défait les carrières.
C'est important. Ouais. Alors fais gaffe à toi quand même.
Fais gaffe parce que tu as déjà fait carrière. Il ne reste plus beaucoup d'options. Quoi.
J'ai déjà défait aussi un peu. Donc,
C'est une menace, les gars. Je crois que c'est une menace.
Ah, il nous attaque. Ah, d'accord.
Compte.
Merci, Freddy. Bon, on mettra
le lien vidéo, pour voir le teaser.
Le teaser
qui est très chouette. Ouais.
Qui est vraiment sympa, en fait. En plus, c'est vraiment une 1 minute 30. C'est vraiment un teaser. C'est vraiment tout court.
Ouais. Ouais.
C'est très intéressant ce que je viens de dire.
Didgeridule aussi qui me suit.
Comment tu dis
Didgeridule.
Ok.
J'envoie des.
Eh ben Marius, tiens, puisque tu parles.
Hop.
Ça va être à toi.
Ah, fais péter. Vas-y, j'envoie déjà avoir une photo.
Une photo, d'accord. Et donc tu vas nous parler de.
Arthur Béatrice.
Qui est ? Vas-y.
C'est le frère de Jeff Barbara. Non. Ah oui, après Jeff Barbara, Arthur Béatrice, donc, qui vient de sortir un album, la Working Out, qui est un album toujours comme je les aime, en fait, très cool. Tu veux pas lancer un petit peu de musique ?
Ça va venir.
Hein ?
Je pense qu'il est en train de galérer.
Connexion en mousse aujourd'hui.
Non, c'est très 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 cool, très... Très long, c'est très long à venir.
C'est très long.
Vous avez vu comment que c'est sympa ?
Tiens, il y a un blanc radiophonique.
Hey, la technique, hein, c'est fort. Donc ouais, moi, ça me une toute petite ressemblance avec London Grammar.
Un petit peu, première écoute.
Sauf qu'ici, on alterne entre deux chants différents et très complémentaires, qui sont Ella Girardot et Orlando Léopard, qui sont londoniens également. Oui, c'est leur nom, Orlando Léopard. Je suis désolé, c'est vrai que ça fait très londonien en plus.
Bernard Léopard.
Et là, Girardo et Orlando, je vais au pas. Et donc, ouais, des très bonnes ambiances, c'est reposant. Je le mets souvent quand on a du monde. Tu le mets en fond sonore, ça passe.
Les gens se font chier, ils se cassent. T'es tranquille, tu passes une bonne soirée.
Non, non, c'est, j'ai écouté un peu, c'est pas mal.
Non, ouais, c'est bien. Mais de toute façon, on a personne qui vient à la maison.
Bizarrement.
Je le mets souvent en fond pour moi tout seul. Et puis, bon, c'est leur premier album. Ils ont mis 2 ans à le sortir parce que c'est des. Ils sont très, très, très pointilleux. Je connais un groupe assez pointilleux, Kankyu. Mais là, ils sont extrêmement pointilleux. Donc, ils ont mis 2 années à sortir l'album. Parce qu'ils ont sorti des singles, en fait. Et là, c'est l'album qui sort. Donc, le. Eh bien, je le conseille.
Non, ça a
donc
l'air plutôt sympa. Et tu compares à London Grammar, je préfère ça à London Grammar.
Ah, même moi,
non, mais
c'est
parce que
chiant
tu l'as
sur
trop
la
écouté, London Grammar. Non, c'est chiant, putain.
Mais là, il y a du renouveau sur tout le long de l'album. Donc
tu rappelles comment ça s'appelle?
Donc, c'est Arthur Béatrice, le groupe. C'est tiré d'une série américaine, Golden Girl, le nom. Et puis Working Out. Tous les liens vont être sur le site.
Là, c'est le morceau Late.
Ouais, Late, ouais. Donc
c'est cool. Bah écoute, merci Marius.
Non, mais voilà.
C'est pour moi.
C'est pas mal, hein. Pour attendez, mal, hein. Vous allez voir l'autre truc. Hein.
Le truc, c'est un clin d'œil.
Ah bon? Ah, c'est pas un truc que t'aimes bien, rassure-moi.
J'adore.
Ah bon?
Ah ouais, je suis fan.
Il y a un contexte, ok. Il y avait personne qui avait trop de sujets sur la rubrique Abrac.
Vas-y Nico, je crois que t'en avais plein.
Moi j'en ai quelques. Non, ça va être assez. Je vais essayer de faire rapide. J'ai même pas passé d'extrait sonore parce que je voulais pas.
Merci.
C'était un peu pour ça. Puis surtout Christophe n'étant pas là, je voulais pas lui infliger ça derrière, etc. Donc c'est une petite rubrique un peu métal là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de métal. Un an à peu près, je crois. C'était quand il y avait eu Gaelic. Donc juste trois sujets que je vais faire assez succinct. Donc pour dire que Rammstein, le groupe de metal indus allemand, est sur Spotify depuis le 27 novembre.
Oula.
Donc c'est juste pour dire un peu que le
Spotify élargit son champ du
que
musical.
Spotify voilà avait déjà un catalogue assez étoffé depuis de nombreuses années et que maintenant même les sujets un peu plus on va dire de niche comme le métal sont bien représentés.
Oui, enfin, Rammstein
c'est pas une niche quoi.
Non, mais ça y était pas. Hein. ACDC n'y est toujours pas.
Non, c'est plutôt un charme. C'est pas une question de.
C'est pas. Je pense que c'est le. Enfin bref.
Ils ont un public clairement. Donc
c'est bon, vous allez pas vous engueuler encore.
Moi ça va. C'est pour commencer à parler comme ça.
Et donc il y a encore quelques artistes qu'il arrive d'être difficile à trouver sur Spotify, mais ça devient de moins en moins fréquent. Donc j'ai cité là tout de suite ACDC ou Erwan que je présentais la dernière fois où tous les albums ne sont pas présents, mais maintenant peut-être Deezer. Hein, je parle
Deezer, c'est ce que
Marius
c'est
chez Deezer, mais je pense qu'on commence à avoir des offres comme ça par abonnement qui sont vraiment très intéressantes. Et donc bon, voilà, c'était le clin d'œil métal comme je faisais un petit sujet métal.
On attend toujours Madness Rain sur Spotify. Syndrome du vampirisme.
Et est-ce qu'il y a une offre musicale comme ça qui offre l'ensemble du catalogue musical mondial?
Je pense pas.
Deezer, ouais. Deezer.
Non, t'as pas tout sur Deezer. T'en as moins que sur Spotify.
D'ailleurs, je voudrais lancer un petit appel à Deezer.
Il y a
parce que,
Napster,
vu
non,
la.
Napster, c'est mort. Non, ça y est, c'est reparti.
D'où il y a raison. Napster est revenu,
les gars. 9,95 hein, par mois. Et au parfum, les gars.
Et je crois qu'ils sont même en partenariat avec je sais plus qui. Peut-être SFR ou je sais plus qui. Qui donne un abonnement à Napster dans son.
C'est tellement
ça s'appelle Napster.
Ouais, c'est la même boîte, mais qui est devenue légale, en fait.
Je dirais rien, c'est pareil.
Sébastien, oui.
Il veut dire un truc.
Oui, mais j'attends mon tour et donc je risque d'attendre.
T'es trop discipliné là. T'es trop discipliné.
Ça me semble. Non, il y a Groove Shark aussi qui existe. Alors qui est peut-être. Alors là, je suis pas allé voir dans les niches, mais il y a quand même pas mal de choses qui a l'avantage d'être gratuit.
Oui.
Pour l'instant. Et qui doit être légal maintenant, il ne l'était pas au départ. Mais
d'accord.
Il fonctionne sur la pub, non, essentiellement, ou comme ils se.
Pour l'instant, je pense qu'ils sont en phase de prise de part de marché, donc ils doivent fonctionner à perte. Donc c'est d'accord. Le bon moment pour y aller.
D'accord.
Groove Shark, je vais aller voir tout de suite. Parce que, comme je voulais dire.
Je t'envoie le lien sur Google Plus.
Ah, il n'y a pas de souci. Fais-moi une demande d'amis.
Ça en fera 4.
Sur Google Plus, il n'y a pas besoin. Mais...
Non. Oh, tu fais quand même des demandes. Arrêtez, je connais quand même mon. Non.
Google Plus, c'est un peu comme Twitter en fait. Tu suis les gens.
Il faut bien les suivre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les demandes.
T'es pas obligé d'accepter.
Enfin, bref.
Marius, il voulait dire un truc depuis super
Marius,
longtemps, en fait.
Mais finalement, je sais pas si c'est
il intéressant.
Vas-y. Non, je voulais dire qu'en fait, Arthur Béatrice, donc, j'ai retrouvé encore sur Deezer. Toutes les découvertes que je fais, c'est sur Deezer. Et vu la pub que je fais à Deezer et qui m'ont lamentablement entubé la dernière fois sur mon abonnement, ce serait cool qu'il fasse un petit geste s'il m'écoute. Chose qui,
évidemment,
à mon avis... très.
Tu sais, on fait beaucoup de pubs pour Spotify et on n'a pas de rien du tout.
Mais il pourrait quand même revenir vers moi. Mais tout ce que je découvre, c'est quand même sur Deezer.
Par contre, c'est trop tard. Il est 10 heures, mais 2. 10 heures 2.
On s'ennuie,
hein, vraiment. On s'ennuie.
Je t'ai connu mieux, Freddy, effectivement.
D'autant que si on écoute l'émission, on écoute n'importe quelle heure.
C'est clair. C'est le principe du podcast, ouais. Exactement. Autre sujet, toujours dans la rubrique métal. L'Ophophora passe au 106 le 17 janvier. Bah, alors, je sais que ça parle à personne ici. Je sais pas.
Bah, si.
Moi, j'aime bien. Donc juste c'est un groupe. Moi
juste,
j'en
juste avant que tu continues, je trouve que c'est un peu plus dynamique là, en ce moment.
Mais oui, hein. Mais carrément.
En général, Christophe s'endort au bout de 10 minutes. C'est ça le problème.
On te fait des bisous, Christophe.
On se voit dans deux jours. Et donc l'OFO, c'est un groupe dont je suis plus trop l'actualité, mais bah, comme ils passent pas très loin, comme quand ils étaient passés en 2012 à l'abordage, bah c'est pas très loin, c'est à Évreux, donc j'y étais allé. Là, ils sont à quelques encablures au 106, je vais aller jeter un petit coup d'œil.
Quand ils sont passés à Bordeaux, c'était pas très loin, il y a fait un tour.
Non,
il y a encore des places ?
Je suis plus vraiment. Oui, je pense qu'il reste des places, oui.
Ah ouais ?
Et donc bah c'est un groupe, moi je suis vraiment plus, mais bon, ça
va
faire un petit côté. Madeleine de Proust, en fait, plus que ça, plus que d'aller voir un groupe, c'est avoir un petit côté musique énervée pendant quelques heures. J'y vais avec mes vieux potes. Bon, pas Christophe, malheureusement, il est pas dispo. C'est dommage pour lui. Mais je pense qu'il serait venu avec plaisir.
Ah oui, j'imagine.
Là, je pense que ça lui aurait piqué un peu.
Oh oui, ça aurait été plus proche de la Madeleine de Proust que la Madeleine de
Proust. Et c'est quand?
C'est le 17 janvier au 106. C'est un samedi soir.
Non, je serai sur les pistes de ski.
Côté métal, sur le 106, il va y avoir Cannibal Corpse et puis Amon Amarth qui vont passer.
Amon Amarth, je ne connais pas. Bah, Cannibal Corpse, bon, c'est pas trop mon kiff non plus, mais ça peut être marrant, par contre, d'aller voir un peu ce que
c'est.
Métal,
quoi.
Ouais.
Pour les amateurs.
Et puis, bah, pour rester dans le métal, mon dernier sujet, ça concernait le Hellfest, l'édition 2015.
C'est complet, là, non?
C'est complet, donc j'allais y venir justement.
Ah, c'est Marius, t'as vu, c'est complet, mon chien.
C'est la 10e édition. Annoncé par les organisateurs comme un Best of Hell. Oh yeah. Donc ça dépouille. Donc ça réunira les 19, 20 et 21 juin des groupes tels que Scorpion, Judas Priest, Motorhead, Alice Cooper, ZZ Top, Slash.
C'est bien Airborne. La française ZZ Top.
Ouais, ça m'est venu comme ça en fait.
Est-ce qu'il y aura GZ ou pas?
Ah bah, c'est rajouter des cognes. Allez, Korn, Marine Monson, Slipknot, Face No More, Limp Bizkit, Anthrax, Arch Enemy, Meshuggah, NoFX, etc. Pour ne citer quelques-uns des 160 groupes programmés, rien que ça.
Sur 3 jours.
Donc le Hellfest a été complet en 20 jours. C'est un record jamais atteint par un festival en France, tout style de musique confondu.
Combien il coûte le pass 3 jours?
C'était 180 euros, je crois.
Oh, ah ouais,
ouais non, mais ouais. Ça fait 1 euro le concert, quoi.
Ouais, mais tu verras pas tous les concerts.
Absolument.
Delphine, on en verra aucun, même, je pense. Si tu arrives à t'enfiler 160 concerts sur 3 jours.
De métal, en plus.
Mais Georges, rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con? Même.
Et donc en plus, le 17 décembre 2014, donc il y a 12 jours précisément, les Festival Awards, donc un peu pour rester dans les Golden Blog Awards, c'est des cérémonies récompensant les festivals, ont récompensé le Hellfest Open Air Festival comme meilleur grand festival, c'est-à-dire les festivals de plus de 70 000 personnes. Donc 40 000 personnes ont voté parmi les 138 festivals, donc c'est quand même un truc qui a quand même une... Effectivement, tout à l'heure quand je disais niche, c'est vrai que le métal c'est plus vraiment une niche quand on voit ce genre de choses, donc plus d'informations sur Hellfest.fr, et puis bah je désespère pas de pouvoir y aller d'une façon ou d'une autre, c'est un appel pour les organisateurs, si jamais ils écoutent, pourquoi pas avoir...
Ils nous écoutent.
Mais ils vont écouter, alors on va leur faire un peu de promo, mais en tout cas moi c'est vrai que... Le métal, c'est ma passion. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup, même si j'écoute moins, mais j'aime beaucoup, effectivement, avec Céline Dion. Et bah, ça serait sympa de pouvoir le couvrir un peu comme on a fait le rock en scène ou d'autres choses, couvrir des événements comme ça et apporter notre petit regard. J'inviterai pas Christophe si jamais il y a possibilité.
Oh, ça serait un regard décalé.
Ça serait marrant. Je pense que ça l'intéresserait de le voir, oh, mais pas trois jours. Pas trois jours.
Déjà une journée,
pas 10 minutes.
Donc voilà un petit peu pour la rubrique à braque et je vous propose de passer à notre invité.
Delphine, hey, c'est à toi, Delphine. Raiders, oh my really, really, oh my goodness, Raiders. Oh my goodness, real secondary rate. Nous avons fixé une doctrine. Raiders, oh my really, really, oh my goodness, Raiders. Oh my goodness, real secondary rate. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Freddy, à toi.
Oui, alors ce soir, mes amis, nous recevons Sébastien Bailly.
Oui,
bonjour, Sébastien.
Sébastien est acteur et réalisateur. On lui doit notamment Douce, La fille de nulle part, ou plus récemment Où je mets ma pudeur. Alors Sébastien, j'avais regardé ta photo sur internet. Tu semblais un peu moins chevelu et tu ne portais pas de lunettes. Ma première question, c'est pourquoi cette soudaine métamorphose ?
Ce Sébastien Bailly, là, existe bien. On est amis sur Facebook. Ça nous a beaucoup amusé de devenir amis sur Facebook. Donc, il est effectivement réalisateur.
Attends, j'ai pas fait cette erreur.
Et je crains que
pas
si.
Toi, donc, Freddy, pas toi. Donc,
Sébastien Bailly est désormais ami avec Sébastien Bailly.
Voilà. Et de temps en temps, nous échangeons des choses sur Facebook et plus personne n'y comprend rien. Tu es tout excusé.
Bon, vous l'avez compris, je me suis laissé volontairement berner par les moteurs de recherche. Je me suis fait embobiner par Google Images.
Google Plus. Google Plus.
Remonte un peu ton micro, Freddy.
Ah, mais j'aimais bien comme ça. Ah oui, c'est pas bien pas pour le son, d'accord, ok. Non, Sébastien Bailly n'est pas réalisateur, encore moins acteur. Mais peut-être va-t-il nous apprendre qu'il a déjà fait partie de la bande à Rémi Julienne.
Il vient d'apprendre lui-même qu'il faisait de la BD, donc.
Peut-être qu'il était cascadeur sur les plateaux, à cheval ou à vélo, qui sait. Non, le Sébastien Bailly que nous avons à notre micro ce soir est journaliste, auteur, formateur, consultant. Ça rentre tout ça dans la case métier, la déclaration de revenus, ou ça dépasse ?
Je m'en occupe pas du tout de la déclaration de revenus, j'ai délégué. Et en tout cas, j'ai plus de carte de visite non plus, ça tient pas. Donc voilà.
Bon, vous l'avez compris.
Tu as délégué, il faudra que tu m'expliques comment tu fais. C'est génial, ça, comme blanc.
Peut-être madame. Enfin bon, ouais. Alors, notre invité est aussi un spécialiste du web. Un dinosaure de la toile, on pourrait dire. Songez qu'il profitait de l'Internet haut débit dès 1995. C'est vrai, ça, c'est vrai.
T'as pas entendu le...
Ah non, il avait déjà le haut débit.
Non, j'avais le haut débit en 95.
Comment c'est possible ?
C'est possible parce que j'avais la chance de bosser dans la presse informatique à ce moment-là et mon employeur était aussi fournisseur d'accès, donc on avait un gros tuyau qui sortait de l'arrière du bâtiment. Donc on était branché directement sur le gros tuyau.
Un gros tuyau, sortez d'où ?
Il y avait aussi quelques magazines érotiques qui étaient fabriqués dans le bâtiment, rien à voir.
Donc ça, dès 95, ça nous semble fou ici.
D'accord.
Il sort depuis tellement longtemps qu'il en a de la corne sur les doigts. Je sais pas si vous avez vu là.
Tant que c'est sur les doigts.
Imaginez qu'il fait partie
du surf. Alors, faut mettre une photo parce que le vieux dinosaure qui a de la corne sur les doigts, excuse-moi, tu ne vois pas super quoi.
Imaginez qu'il fait partie des trois dernières personnes en France à encore utiliser Caramel et Lycos.
Caramel n'existe plus.
Lycos, mais si, lui, il y a toujours accès, lui.
Mais il n'y a plus personne.
Eh bien, il y est tout seul, avec deux autres.
Avec son copain Benoît Sébastien Bailly, peut-être.
Sincèrement, quand il y avait du monde, c'était pas terrible, ouais. Donc c'est beaucoup mieux de...
Je pensais que ça n'existait plus, qu'ils avaient fermé il y a un an.
Mais ils sont encore trois,
et
dont lui.
Et va chercher Lycos, toujours.
Et son adresse mail, je vous le donne en mille, elle n'a jamais changé, c'est sbailly@libertysurf.fr.
Liberty Surf.
C'est vrai aussi.
Je connaissais une copine qui avait
Il dira pas
ça.
Oui, tu me balances son adresse mail à tout le monde.
À l'époque, j'ai eu une adresse at club internet, mais pas Liberty Surf.
Liberty Surf, vous vous souvenez de ça ou pas ?
Oui, oui. Bah oui.
Je sais, ça me fait penser. Ouais.
Alors sinon, on ne dirait pas comme ça, mais notre invité est un déconneur.
c'est pas ton pote en fait.
C'est la fête. Hein. J'espère que tu es content d'être là. Hein.
C'est un compliment ou pas ? Non, pas tellement. Il a à son actif une série de livres intitulés Le meilleur de l'humour noir, Le meilleur de l'absurde ou dernièrement Le meilleur des vannes. À propos, tu n'as pas eu de procès avec Florian Gazan ?
Alors, faut il nous raconte le meilleur en quoi, lui?
Ah, je crois qu'il a fait.
C'est pas celui qui avait fait croire qu'il était président de la République.
Non,
c'est Gérald Dahan, ça.
Ah non,
la vanne de l'émission.
Non, il a travaillé avec Jean-Luc Delarue, Florian Gazan, sur Ça se discute.
Oui, c'est ça, mais il a surtout écrit un livre sur les vannes. Et puis, de toute façon.
C'était pas drôle.
Quelle émission !
Non, mais je dis ça parce que Sébastien a écrit un livre sur les vannes.
Exactement.
Et puis, de toute façon, Florian Gazan, il ne sait même pas ce que c'est un zeugme. D'ailleurs, autour de la table, vous savez ce que c'est un zeugme ?
Non, justement, je suis allé voir Monsieur Rêve il n'y a pas longtemps qui m'a dit
naze.
Tu vas voir Sébastien Bailly, il va te faire des zeugmes. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce
que tu lui demanderas ?
Quelle bande de nazes alors ? Bah, il nous dira ça tout à l'heure.
Ouais. Voilà. Donc il est venu, mais il n'a pas le droit de parler.
Il ne peut pas le dire maintenant alors.
T'es content d'être là, dis donc.
Qu'est-ce qu'un zeugme ?
Là, je m'étais noté.
Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est Sébastien, un zeugme.
Qu'est-ce à dire ?
Qu'est-ce à dire ? Vous n'avez pas l'accent ?
Un zeugme. Un zeugme, c'est un attelage de deux morceaux qui vont pas ensemble avec un morceau qui irait bien tout seul.
Oh la vache !
On dirait les jeux de ma fille. Un exemple, c'est super simple.
Avec un exemple, c'est beaucoup mieux. Elle descend de la colline et dans mon estime.
D'accord. Ah, c'est fort, ça. Tête de ma mère.
J'ai en face Marius en train de réfléchir à quelque chose. Voilà.
En général, les gens retiennent mieux avec elle a descendu sa culotte et dans mon estime.
Ah ouais. Ça j'aime.
Ouais.
Je maîtrise, non?
Ah, mais c'est Christophe, il est viré. Hein.
Non, viens, Christophe, reviens pas. Je reste là, je kiffe.
Bon, je vais pas me moquer. D'abord parce que c'est pas le genre de la maison. Ensuite parce que Sébastien Bailly, ici présent.
Non, mais juste un truc. Zeugme, ça s'écrit comment? Et ça vient d'où?
Z-E-U-G-M-E.
On reconnaît
l'étymologie.
On reconnaît les joueurs de Scrabble au fait que c'est ça dans le zeugme qui les intéresse en général. Oui. Mais l'étymologie, ça vient de zeugma. Voilà.
D'accord, non, c'est un vrai mot, c'est pas un truc créé. Ok, moi je le crois sur parole. Hein.
Mais non, mais il a pas fini.
Ah, si, si, c'est très bien, je peux aller plus loin, ça va jusqu'au joug, parce que j'ai J-O-U-G. Qui...
Combien de points ça au Scrabble?
moins que zeugma. Comme quoi l'évolution améliore les choses.
Et du coup, depuis ce livre, j'en note quelques-uns. Je t'en ai fait passer un ou deux, mais tu m'as jamais répondu. Enfin, ça, c'est...
T'en veux sur Liberty Surf maintenant.
Je vais te donner ma nouvelle adresse.
Ah, merci. Bon, donc j'ai dit je me moquais pas, et d'autant plus que Sébastien m'a déjà nommément cité dans l'un de ses livres.
Oh là, pas pour une blague, c'est pas possible.
Ah non, je vous jure, c'est vrai.
Pour ses chemises.
C'est dans son best-seller « Entendu au bureau ».
5 exemplaires...
Ah oui, mais il y a une page
donnée, pas vendu, donnée.
Quasiment. Alors, ça, c'était ma question suivante, en fait. Combien d'exemplaires vendus?
Alors, il faut savoir que Entendu au bureau, c'est une blague qu'on faisait sur Twitter, et où c'est donc un hashtag pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Donc, qui
sont... Marius, tu vois, non? Ouais.
Voilà. Il y en a aussi sur Google+.
Plus, ouais.
C'est entendu, la lettre O,
voilà.
Bureau.
Et donc pendant 7, 8 mois, peut-être une petite année, on a rigolé comme ça.
Je le fais toujours,
ouais.
Dans l'espoir du tome 2.
Alors il y aura sans doute pas
de tome
2. Et donc on a fait un petit livre électronique qui reprenait les meilleurs des entendus au bureau, qui étaient des phrases absurdes et surtout sorties complètement de leur contexte. Donc
moi je l'avais acheté, ça veut dire qu'il y en a eu 4 autres d'achetés, c'est ça?
Alors toi tu l'as acheté, il y en a eu 4 autres d'achetés. Pour mémoire, il y avait un bouton à côté du bouton acheter qui était le bouton pirater. Et là, il y en a eu beaucoup plus.
Ah merde.
Alors, c'était quoi la citation?
J'en ai eu plusieurs. Je te ressors ça tout à l'heure. Je l'ai sur mon PC.
T'as pas bossé, quoi.
Mais si,
il a du mal à se citer lui-même.
Il te la fera lire.
Bon, plus sérieusement, Sébastien Bailly forme aussi des jeunes journalistes sur la question du net, des médias sociaux, dans les plus grandes écoles du pays. Non, il n'y a pas de vanne, c'est vrai.
À Lille, non, c'est notamment.
Notamment.
Je travaille pour l'école supérieure de journalisme de Lille.
Et enfin, et surtout, Sébastien a une actu, la sortie de son livre « Eno, virgule ou pas, la chasse au Rastak ». Un livre classé en littérature jeunesse qui s'adresse plutôt aux 9-16 ans, c'est ça?
Oui.
Bon, si vous êtes adulte, ça passe très bien.
Oui, je vous confirme.
N'est-ce pas? Eno d'abord sorti en édition numérique, avant qu'on puisse le trouver en version papier. Sébastien va nous parler de tout ça, de son livre, du numérique, du papier, du net. Et pourquoi pas de recettes de cuisine, lui qui est un fin cordon bleu. Allez. Du moins, on le dit. Bienvenue à l'entrepode.
Ça, c'est le coup bas quand même, ça veut dire quoi?
T'as pas testé? Non, j'ai jamais testé, mais on le dit. Voilà.
D'accord.
Bienvenue à l'entrepode, Sébastien.
Bienvenue
Sébastien.
Eh bien, merci. Hein.
Par quoi commencer, Ardé?
Eh bien, Sébastien a déjà répondu à pas mal de questions. Peut-être on peut commencer avec son actu chaude, la sortie d'Eno. Je disais, avant qu'on parle peut-être du contenu, qu'il est d'abord sorti en version numérique, c'est vrai. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que. Enfin, d'une manière générale, qu'est-ce que tu penses de l'édition numérique? Ça va être ça la question. Mais,
oui. Alors, curieusement, je vais te proposer de répondre à cette question-là dans un deuxième temps pour. Des questions de logique pure. Ce qui est important dans un bouquin, c'est d'abord ce que ça raconte. Si je réponds d'abord à comment je l'ai fagoté pour qu'on puisse le trouver, je mets la charrue avant les bœufs. Enfin, quelque chose dans le genre. Et donc non, ouais, je préférerais raconter...
Il y avait un zeugme là ou pas?
Oui, je cherchais aussi. Ouais. Du coup, je suis à fond dans le truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut te rajouter?
L'avantage, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de faire ni de vanne, ni de zeugme, ni quoi que ce soit. Les gens croient qu'ils n'ont pas compris.
Marius, toujours.
Sur ton bouquin, du coup... pardon.
Vas-y, poursuis.
Je voulais juste dire, donc, sur ton bouquin, il y a un truc qui m'a intrigué beaucoup.
Attends,
moi.
Il n'a pas expliqué.
Mais attends, laisse-moi poser ma question.
Il répondra s'il veut.
Ce qui m'a beaucoup intrigué, en tout cas qui était a priori le fondement de, enfin
pas le pitch, mais en tout cas ce qui fondait le livre, c'était toute cette description d'une société qui est basée sur le choix, en tout cas l'aléatoire. Et je voulais savoir un petit peu comment tu en es venu à cette idée-là et jusqu'où tu as poussé le concept, voilà, pour essayer de bâtir, si je comprends mieux, une société qui est entièrement bâtie sur cette logique-là.
Donc la particularité du monde dans lequel le héros évolue et dans lequel l'histoire se passe, c'est effectivement que toutes les décisions y sont prises en tirant à pile ou face. Donc cette idée-là, je ne sais pas comment je l'ai eue. Un jour, je l'ai eue et je me suis dit, oui, on peut faire quelque chose avec. C'est le moment où je me suis retrouvé un peu embarrassé, parce qu'une fois qu'on a eu une idée pareille, c'est... Et en fait, en tirant le fil jusqu'au bout, effectivement, ce qui m'a surpris moi-même, hein, parce que je suis mon premier lecteur, je fonctionne un peu comme ça. Ce qui m'a surpris moi-même, c'est que la société, elle se tient, c'est-à-dire que on arrive à créer un système politique, un système judiciaire, un système social dans son ensemble qui tient la route, peut-être pas plus mal que d'autres qu'on connaît, en se fondant sur l'idée que toute décision importante doit être prise en tirant à pile ou face. Donc c'est la première idée. La deuxième, c'est qu'on peut pas poser deux fois la même question.
Puis il faut aussi bien savoir choisir sa question aussi, en fait.
Et le corollaire, c'est que si on s'est posé les questions, ça se passe beaucoup mieux.
Voilà.
Tu n'as pas fait récemment une conférence qui s'appelait « L'art de jouer à pile ou face, de tirer à pile ou face ».
Alors, c'était au rêve de l'escalier.
C'est un peu dans la question, non?
C'était au rêve de l'escalier, l'endroit où tout se passe à Rouen.
On ne connaît pas.
Décidément, non, on ne connaît pas. On n'en parle pas non plus.
Le rêve de quoi?
Moi, je trouve ça. Enfin, vraiment, je trouve l'idée de départ comme ça est super originale. Enfin, c'est vraiment. Ça accroche vraiment, en fait. Et est-ce que tu es parti de cette idée-là pour construire ton histoire, ou est-ce que l'histoire tu l'avais déjà avant et à ce moment-là tu t'es dit dans quel contexte je la placer?
Juste pour rebondir sur ce que dit Ludo,
tu l'as pas laissé répondre à ma question.
Excuse-moi. En fait, je crois qu'il pourra pas répondre.
L'idée.
Non mais je vais noter les questions puis vous me laisserez une heure.
Pour remettre juste dans le contexte. Là,
c'est pas le moment de l'invité, c'est le moment des questions à l'invité.
Non, c'est pas une question en fait. C'est pour revenir sur ce que disait Freddy et disait un petit peu. C'est un roman classé jeunesse 9-16 ans. Enfin, on l'a lu tous les deux. Effectivement, ça s'adresse pour les enfants parce que c'est écrit de façon assez simple et ça va, enfin simple, mais pas simpliste.
Non, on va y revenir.
Moi qui ai 35 balais, j'ai pas trouvé, je suis porté dans le truc, j'ai pas eu le temps de le finir jusqu'à présent, mais effectivement, tout se tient et c'est une histoire qui est globale et qui s'adresse pas uniquement à des jeunes, pour que les gens qui puissent nous écouter à ce moment-là se disent pas bon bah voilà c'est un truc pour enfants, c'est Noël, etc. Non, enfin on peut le lire à tout âge. Alors à partir de 9 ans effectivement, parce qu'après il y a peut-être des enjeux qui sont peut-être un petit peu compliqués à comprendre pour des plus jeunes, puis il faut savoir lire aussi parce que mine de rien des phrases qui sont bien qui sont tournées, etc. Mais c'est vraiment un livre qui est. Enfin, on sent qu'il y a une structure globale, voilà. C'était pas une question, c'était juste pour.
Juste une remarque, c'est pas pour tartiner, hein, mais.
Mais je. J'adore qu'on le tartine.
Je vais quand même la placer. Non, je trouve qu'au niveau du style, moi j'étais. Enfin, si tu veux, le roman dit jeunesse, oui, j'en ai lu des passages, j'ai pas tout lu, malheureusement, parce que moi ce que j'attends, c'est. Mais on en parlera tout à l'heure, c'est l'édition papier, en fait. Mais.
Elle existe déjà.
Elle est sortie.
Il a dit tout à l'heure.
Je suis resté sur Kindle.
Oh la gueule.
Peu importe. Ce que je
Marius attend la BD.
non mais c'est pas grave. Ce que je veux juste dire, c'est que ce que j'en ai lu, moi j'étais extrêmement surpris par le style en fait. Je sais pas comment tu as, enfin le temps que tu as pris pour
le trait de crayon
pour écrire.
Est assez...
Si tu es revenu. Non, je t'assure. Enfin évidemment on pourrait lire quelques passages, mais on va pas le faire là. Mais franchement c'est très bien écrit. Voilà. Le personnage, c'est pas parce que le personnage a 11 ans que ça s'adresse à un public effectivement dit jeunesse que par ailleurs tu prends pas plaisir à lire la façon dont c'est fait. Je trouve que ça prend pas le lecteur.
Pour être clair.
Peux-tu répondre à ces 12 questions, s'il te plaît?
On dit pas ça par flagornerie, parce que Sébastien, on le connaissait pas avant qu'il passe la porte. Non, mais faut, pour préciser aux gens, il y a que Freddy qui le connaissait jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour faire du copinage ou quoi que ce soit, parce que, en rigueur, on s'en foutait un peu de toi.
Ça c'est le compliment.
Il faut qu'il parle. Non, mais je rigole, voilà. On va te laisser parler.
Tu vas te sentir bien.
Non,
avec
c'est
nous.
Juste, tu vas voir. Je te fais une liaison te permettant, Sébastien, de rebondir et de reprendre la parole.
C'est quoi ce bordel alors?
Justement, pour qu'il y ait une transition. Il l'a dit tout à l'heure, Sébastien. C'est le premier lecteur, c'est lui. Donc, il est adulte. Donc, il fait en sorte aussi que ça lui plaise. Donc, Tu peux continuer là-dessus, Sébastien.
Donc tu peux répondre ce que dit Didou.
Alors, je vais essayer de répondre à peu près dans le désordre. La première question, est-ce que le monde préexiste à l'histoire ou l'histoire au monde? En fait, l'idée d'écrire pour la jeunesse, au sens large, est une idée assez ancienne. J'ai travaillé dans la presse jeunesse. Et puis, j'ai trois fils qui sont de gros lecteurs et qui n'avaient pas l'âge de lire les autres livres que j'ai pu écrire. Ah, c'est en train de s'arranger avec le temps. Et donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en écrive un pour eux. Mais je ne voulais pas faire la Xème ressucée de Harry Potter ou le 12e volume du Seigneur des Anneaux, si tant est que j'aurais été capable de le faire. Ce qui reste à prouver. Je ne voulais pas refaire quelque chose qui avait déjà été fait, donc il me fallait une idée originale. Donc l'idée originale, ça a été cette histoire de tirer à pile ou face. Donc je me suis assuré que ça n'existait pas ailleurs en demandant à mon fils aîné qui a déjà tout lu. Et à partir de là, j'ai pu raconter mon histoire. Mais c'est dans ce sens-là que les choses se passent. Il me fallait un truc qui fasse la différence, sinon c'était pas drôle. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. Sur les compliments sur le style, je suis très touché, ému, tout ça. Je sais pas si on doit répondre quelque chose. Je pense que l'idée, effectivement, c'est d'être lisible, très lisible. Et qu'on peut le faire sans faire bête pour autant, c'est-à-dire que ils sont pas cons, les petits là. Le plus jeune que je connaisse qui l'ait lu, il a 9 ans effectivement. C'est un neveu, donc forcément c'est extraordinaire. Il a un oncle qui a écrit une histoire, c'est génial. Donc je me fie pas trop, mais il l'a lu. Il est allé le présenter à l'école. Et là, ça devient intéressant. Et le bouquin, il est en train de tourner. Il y a tous ses copains de classe qui sont en train de le lire les uns après les autres. Ils font la queue parce qu'il y en a qu'un en papier.
Ah, mais c'est sorti, alors.
et ils sont en train de le lire. Donc là, c'est un moment où le truc m'échappe complètement, où je connais pas les gamins, et où ils se le passent, ils le lisent, ils en parlent. Et c'est assez sympa pour l'auteur. Donc 9 ans, ça marche. Et puis, voilà, tous les gens, effectivement, plus âgés, qui vont aller voir qui vont voir derrière, quoi. Qui vont voir le contexte, la toile de fond de cette histoire, et qui vont comprendre ce que c'est que poser les questions, prendre des décisions, tirer à pile ou face. Tout ça, effectivement, bah, ça fonctionne manifestement aussi pas mal. Donc j'ai effectivement donné, je continue de répondre dans le désordre aux questions, j'ai effectivement donné une conférence, c'est comme ça qu'on dit, on donne une conférence, en même temps pour
merci,
le coup, pour,
c'est cadeau.
En même temps c'était vrai, je l'ai donné, donc...
C'était au profit du CHU ou pas?
Même pas. En même temps, il y avait moins de monde qu'à la vente aux enchères. Mais donc j'ai donné une conférence sur l'art de tirer à pile ou face. Et du coup, j'ai creusé un peu plus, de manière un peu plus universitaire, le sujet après avoir écrit. Et le nombre de décisions qui ont été prises dans le monde en tirant à pile ou face. Alors on connaît le truc de base, hein, le début de match de foot, des choses comme ça. Mais je vais prendre un seul exemple, dans le domaine du sport, c'est une partie de ping-pong 1936. C'est la finale, la grande finale de du championnat du monde, ou coupe du monde, ou machin, championnat. Et 7h35 de match. Donc je sais pas comment on fait 7h35 de match de ping-pong, humainement. Et ils en ont tous eu marre, donc ils ont tiré à pile ou face au bout de 7h35, ce qui est quand même hallucinant. Voilà, donc des histoires comme ça, il y en a plein, des choses plus importantes que des matchs de ping-pong.
En Coupe du Monde de football aussi, ça s'est vu.
Ça s'est vu, ouais. Tout à fait, en Italie, hein, en 1960.
C'est plus récent, en
oui.
Plus,
ouais. Pas 60, mais 60 et quelques, mais je suis une bille en foot. Donc,
Freddy.
C'est Freddy qui... C'est...
Non, je ne saurais donc pas te donner la date, mais...
Non, mais c'est l'Italie qui, effectivement, gagne la demi-finale par tirage au sort à la fin de la période et qui finira par gagner la Coupe du Monde cette année-là. Donc voilà, il y a des tas d'histoires. Donc c'est et je soupçonne qu'il y ait plein de gens qui fassent comme ça de temps en temps.
Oui.
Voilà.
Est-ce que tu aurais écrit différemment ton livre en ayant fouillé à ce point avant?
Ouais.
Mais je pense que je l'écrirais différemment si je l'écrivais aujourd'hui plutôt qu'hier. Donc je peux, oui, forcément. Je l'ai écrit sur 3 ans et demi. Il méritait pas, donc ça m'a pas pris 3 ans et demi, mais il y a 3 ans et demi de délai entre l'idée et le résultat final. Donc c'est fait par petits morceaux et au fil de mes autres activités, donc dans les périodes de calme.
Comme on est des mauvais chroniqueurs, mais on aurait dû te demander ça peut-être en premier, est-ce que tu peux nous faire le pitch de l'histoire?
Ah oui, effectivement, on est des mauvais chroniques.
Je m'inclus dedans. Hein.
Ah, de toute façon.
Je vous avais tendu la perche, hein, mais.
Faut être plus franc, enfin, faut y aller, quoi, parce que nous, tu sais.
On comprend pas facilement.
Le pitch de l'histoire. Donc, c'est Eno qui a 11 ans, qui est un petit garçon, donc, qui commence son apprentissage de chasseur de Rastak auprès de son père, qui est le chasseur de Rastak du quartier. Et qui va découvrir au fil d'une aventure ce qu'il y a beaucoup plus loin que son quartier, et puis de ce qui se passe. De là, oups, c'est un pitch que je rembobine. C'est.
Ça, il fait vachement bien le pitch qui rembobine.
Alors, ça, Gondry l'a déjà fait, par contre. Tu ne pourras pas le refaire.
Et donc je suis toujours embêté pour en raconter beaucoup plus que ça. C'est un roman initiatique, donc il va y avoir une vraie aventure, une quête, la recherche et la compréhension d'un mystère et puis des découvertes qui vont aller jusqu'à mettre Eno en danger complètement et puis qui vont l'amener à découvrir des choses sur lui, son père, la société qui l'entoure, qui sont peut-être pas aussi simples que ce qu'on voit avant de commencer à grandir.
Alors tu peux peut-être nous expliquer juste ce qu'est un Rastak.
Ah, je sais pas. Si
bah, je sais pas. Voilà. Moi,
mais si, le Rastak, on le sait assez vite. Je vais pas vous expliquer pourquoi ils partent à la chasse au Rastak vraiment, oui. Mais pourquoi ça s'appelle la chasse au Rastak.
On
mais
le sait vite.
Il est chasseur de Rastak, donc les Rastak sont des petits animaux qui ressemblent assez précisément, et ça, je ne l'ai vu qu'après, à un animal qui existe, qui est le rat géant de Madagascar. Pour ceux qui non, d'accord.
si, parce que moi j'ai préparé l'émission et donc j'ai lu sur ton blog.
Voilà.
Ça ressemble à un gros rat.
Tu es tellement professionnel.
Alors, c'est
des grandes pattes arrière.
Qui serait debout alors.
C'est un rat qui serait debout, deux grosses pattes arrière, deux toutes petites pattes de devant.
Une vraie tête de rongeur.
Oui, c'est pour ça qu'on les chasse.
Une grosse gerboise en fait.
Il y a de ça. Oui. Il y a de ça. Et ce Rastak est un nuisible, comme on peut s'y attendre, notamment parce que avec ses pattes de devant, il va avoir la capacité de téléporter ce qui touche dans la limite de son poids. Et donc, ce que j'explique, c'est que c'est à cause des Rastak qu'on ne retrouve les chaussettes jamais qu'une par une et non pas par paire, puisque c'est le...
Les fameuses chaussettes orphelines.
Voilà.
C'est ça, c'est un truc de fou, ça.
T'as des Rastak chez toi, non, Marius?
Il dit des trucs et je suis là, mais c'est vrai, en fait.
Non, c'est ma vie, hein. C'est ma vie qui raconte.
Ah, mais c'est ça, en vrai, alors.
Oh, putain, j'ai des Rastak dans la caravane.
Donc oui, non, moi j'étais assez d'accord avec Nico quand je suis arrivé, il m'a dit, bah, écoute, j'étais agréablement surpris. Et je lui ai dit, mais c'est fou, mais moi aussi. Non pas qu'on en attendait moins de ta part, mais on était plutôt habitués à ce que tu écrivais avant, en fait.
Ah moi non, pas du tout. Ça veut dire qu'avant, t'aimais pas trop, en fait, c'est ça.
Non, je veux dire que c'est très différent de ce qu'il écrit habituellement. Habituellement, ce sont plutôt des recueils ou des choses plus techniques sur le net, des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature jeunesse, on est d'accord.
C'est ça, on est d'accord. Moi, je m'attendais vraiment à un truc jeunesse et je me disais que j'étais pas le public.
Et
c'est plus
c'est ça.
C'est
ce que j'allais dire aussi. Dans un second temps, je m'attendais plutôt à quelque chose qui s'adresse plus vraiment à des enfants. Moi, là, j'ai trouvé que ça s'adressait effectivement à des enfants, mais pas seulement. Enfin, moi, en tant qu'adulte.
Dans un sens, c'est un côté Harry Potter, c'est-à-dire transgénérationnel.
Moi, j'ai pas lu Harry Potter.
On aime, ou on aime pas. Hein. Je sais pas si t'as mis Harry Potter.
C'est pas ça. C'est que, écoutez, c'est maintenant qu'on en est là et que je suis élevé au rang de Harry Potter, je vais y aller parce que j'ai absolument pas besoin de continuer cette émission.
Non. Quand je dis après, on verra. Harry Potter, il y a eu 7 tomes, etc. Non, mais c'est à dire que le style est direct. On en parlait avec Ludo, moi, enfin avec Freddy. J'ai eu l'occasion. Je suis pas très médiéval, fantastique, etc. Parce que en général, ça met des plombes à se mettre en place. On a tout un background qui est assez noir, assez obscur, etc. Puis on se dit quand est-ce que l'action va partir. Là, en 20-25 pages,
ouais.
Ça part. On est tout de suite dans le style. Les phrases sont efficaces, c'est court, ça va droit au but et il n'y a pas de truc alambiqué, etc. Tout en ayant une histoire qui est assez fournie parce qu'à chaque fois on se dit ah tiens, je l'avais pas vu venir ce truc-là, etc. Et je trouve ça vachement intéressant. Et c'est dans ce sens-là que j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à un truc peut-être un peu pour enfants. C'est vrai que le nom peut faire un petit peu enfantin, mais je me suis dit Harry Potter à l'école des sorciers, c'est hyper enfantin en fait. Mmh.
Alors voilà. C'est assez drôle ce que tu dis là parce que Harry Potter, moi j'étais journaliste dans la presse jeunesse au moment de la sortie du tome 3 de Harry Potter, donc avant le lancement, enfin avant que ça prenne la dimension que ça a pris dans les 2 ans qui ont suivi. Et donc j'ai lu les 3 premiers tomes alors que les adultes les lisaient pas encore. Et quand je disais autour de moi c'est vachement bien ce truc-là, on me regardait en rigolant. Mmh. Et c'est moi qui en ris aujourd'hui parce que depuis tous les gens qui riaient parce que je disais ça l'ont lu. Mais c'est vrai que et alors pour moi le modèle de ça c'est le Roi Lion. Alors c'est, on est complètement. Mais non, mais le modèle de la double lecture jeune adulte, c'est le Roi Lion. C'est-à-dire que les jeunes le voient très premier degré, très et très facilement, et ça marche et ça fonctionne. Et j'ai dû le voir, je sais pas, ça a 10 ans, donc je l'ai vu à 35 ans.
Plus 20 ans.
Je sais plus. Non.
Ils ont dû faire les 25 ans, les 20 ou 25 ans il y a pas longtemps, bon, parce que ça a sorti au ciné.
Quoi qu'il en soit, j'étais déjà adulte. Mais j'ai trouvé que ça se voyait aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des choses comme ça à double niveau, et c'est ça que j'ai cherché à retrouver. Donc que j'ai cherché à refaire, en tout cas. Donc je suis assez content que ça ait l'air de marcher.
Bah écoute.
Et pour terminer, sur mon avis en tout cas, je trouvais aussi, moi, que c'est très bien écrit, qu'on retrouve aussi du vocabulaire recherché d'époque, qui colle à l'époque en tout cas. Et ça, c'est plutôt appréciable quand on découvre les pages. Et voilà, on s'ennuie jamais, ce que tu disais, l'aventure, elle continue, l'histoire, elle continue tout le temps, et il se passe toujours quelque chose, et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est une bonne surprise. C'est dans ce sens-là que je disais que j'étais agréablement surpris. Mais c'est que vraiment, j'ai trouvé ça très bien écrit et j'étais surpris et j'étais embarqué dans l'histoire.
Et tu crées
tout
un
le
univers
temps.
De toutes pièces.
Ouais,
c'est
et c'est facile
avec
à
des
se,
mots, du vocabulaire.
C'est facile à se glisser dans l'histoire, donc moi en tant qu'adulte, mais j'imagine que pour un enfant, c'est du coup aussi assez facile de, soit pas de s'identifier, mais de se glisser dans l'histoire elle-même, quoi.
Pas de commentaire.
Mais je suis alors sur la réception et la façon dont dont vous le prenez là. Moi, à votre place, j'aurais été le premier à me méfier. Quoi. Enfin, c'est le mec qui arrive et qui fait un truc qu'il a jamais fait.
Alors, je dirais pas que j'étais méfiant,
non,
mais il y avait un peu de ça quand même.
Il y a de ça.
Il y avait...
Bon, c'est qu'est-ce que voilà.
Inconsciemment, alors, je
il y a une raison.
T'es pas dans la catégorie littérature jeunesse. Donc,
il y a une raison de plus à ça. Et ça, c'est pour revenir à ta première question que j'attends donc en deuxième maintenant.
faire les transitions.
Tient, hein. Ça devient compliqué. Je vais vous laisser. C'est un peu trop compliqué pour
mais,
moi.
Marius, t'es toujours là ou pas? Il y a quelque chose.
Ouais, moi, j'envoie de la photo.
Il y a quelque chose qui incite à la méfiance, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur. Et c'est peut-être de ça dont tu veux qu'on parle ensuite.
Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah, ce qui m'intéresse.
Oui, on va en parler. C'est pas ce qui me chagrinait ou ce qui me...
Freddy Transition.
Mais, du coup, on va revenir à ma première question. L'édition numérique en premier, pas d'éditeur. Donc, comment tout ça, c'est...
Didou, je vais poser une question.
Il y a quelque chose qui me chiffonne.
On fait traîner un peu parce que l'invité, elle est la bouche pleine.
Non, juste pour revenir sur la méfiance ou pas, moi, j'ai vu la couverture du livre. J'ai pas eu le temps de fêter parce que je suis en vacances. Je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, n'est-ce pas?
Donc, t'as pas eu le temps.
Non, mais...
Mais alors, le temps, c'est pas grave, c'est bientôt la rentrée.
J'ai lu le
pourtant, Didouille, c'est une BD, ça se lit vite, hein, je comprends pas.
J'ai lu. Non, mais je savais les grosses lignes, je suis allée voir. Voilà. Pour autant, il n'y a pas de méfiance à avoir. Je veux dire, moi, on travaille avec Lire, c'est partir. C'est une association qui, à la fois, font des petits bouquins de contes qui sont très connus et d'auteurs beaucoup moins. Donc, c'est pas forcément édité par ceux qu'on connaît. Et on a des livres qui sont très très lus par nos élèves parce qu'ils adorent. Et justement, je trouve que le titre, il est super accrocheur. Parce que moi, par exemple, là, on a demandé ce qu'était un...
Ah bah oui, un Rastak.
Voilà. Et ça, c'est le premier truc qu'un élève pourra demander. Donc ça, c'est ce qui va aider l'enfant à ouvrir déjà le bouquin. Après, moi, je vais essayer de le tester sur mes élèves. J'ai proposé... Mais en version Kindle, hein, puisque on peut tous avoir ça, et je suis sûre que ça va faire un carton.
Même dans
un
l'heure.
Même dans l'heure. Et surtout dans l'heure, tu vois. Le bibliobus avant y passer, mais maintenant.
Non, mais c'est vrai que t'as plein de mots qui t'intriguent. Toi.
Exactement.
Lance-coin, la première fois que tu lis un lance-coin, je me suis dit, alors, en tant qu'adulte, tu te dis, est-ce que c'est un mot que je ne connais pas? Est-ce qu'il crée un truc, etc.? Et c'est des petits mots par-ci par-là, tu te demandes si c'est. Un enfant, il va pas se poser de questions, peut-être, il va tout de suite comprendre le contexte. Et quand t'es un adulte, tu dis, est-ce que ma culture est défaillante sur un terme?
Alors sur ce coup, lance-coin.
Ouais, je vais pas le dire parce que c'est dévoilé au fur et à mesure.
Ah mais... d'accord. Oui.
Ah, c'est dans le livre aussi, ouais. Mais dites-le.
Moi, je suis pas sûr d'avoir toutes les références. Enfin, j'en sais rien, mais
moi non plus.
Il y a sûrement des choses.
c'est ça qui est fort, c'est un méta-livre en fait.
Et donc on te laisse répondre sur la question de l'édition numérique.
Alors l'édition numérique. Alors c'est une très très vieille histoire entre l'édition numérique et moi. Vous avez un peu de temps.
Oui, vas-y.
Oui, on a tout le temps.
Voilà. C'est ta soirée.
C'est magnifique.
C'est ta nuit à ce niveau-là.
Non, il se passe aujourd'hui dans le monde de l'édition quelque chose de nouveau. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça fait une douzaine d'années que ça prend de l'ampleur, à savoir la capacité pour les auteurs de disposer d'outils qui leur permettent seuls de produire des contenus peuvent avoir le même niveau d'exigence que les contenus produits par les éditeurs traditionnels. Alors dit comme ça, c'est
ce qui revient à dire que n'importe qui peut.
Ça veut dire que n'importe qui peut faire un livre. Mm. Le verbe faire s'applique bien là.
quand tu dis faire, tu dis non seulement l'écrire, c'est-à-dire après produire, l'imprimer.
C'est-à-dire non, c'est dans l'autre sens. C'est à minimal l'imprimer. On peut produire un objet livre.
Le contenu on voit après.
À un coût ridiculement bas par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ans, et sans avoir besoin de connaissances techniques délirantes. Donc faire un livre, c'est facile aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que c'est facile, c'est même plus cher du tout. Donc le phénomène fait que de plus en plus de gens y ont recours. Et puis arrive Amazon, et c'est là où ça devient encore plus drôle, qui propose aux auteurs des outils, pour le coup, d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire, si on arrive à envoyer une photo avec Google+, on sait faire un livre. Enfin,
c'est pas gagné pour tout le monde.
Il y a un problème de syntaxe quand même.
j'ai des idées. Hein.
J'aimerais bien que tu les couches sur le papier un jour.
Et donc voilà, j'écris mon texte dans un traitement de texte et j'ai un livre deux jours plus tard. Voilà.
Donc ça, pourquoi t'as mis 3 ans et demi?
Alors parce que peut-être qu'en deux jours c'est pas top. 3 semaines c'est pas mal. Stendhal faisait des choses assez bien, mais
un livre numérique, on est d'accord.
Papier.
Papier
ou numérique, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui,
papier, je ne comprends pas comment ça marche. Sur Amazon.
Sur Amazon,
bah, tu fais ton texte, machin, et ils le sortent en papier. Je sais pas, tout le monde sait ça, quoi.
Sur con. Laissez répondre, Sébastien.
Vous voyez des fions. Hein, comme
donc
ça.
Aujourd'hui, il existe, comme tu. Non, pas toi, mais comme les gens ont une imprimante chez eux.
Qui fonctionne
qui
sans
fonctionne
bruit.
Sans bruit. Comme de la même façon qu'on a une imprimante, il y a des imprimantes à livres. Donc j'envoie mon fichier et j'appuie sur une touche et il y a le livre qui sort où.
Et la couverture, tout ça, t'envoies ton livre, fichier. Tout, voilà.
Donc aujourd'hui, je donne à Amazon le fichier intérieur de mon livre, le fichier de la couverture, et Amazon sort un livre à chaque fois que quelqu'un le commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock.
Ah, génial, voilà. Je ne connaissais pas.
Il n'y a pas de stock, il n'y a rien, donc il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de mise de fonds. Simplement, dès qu'on commande un livre en papier, le livre en papier est imprimé et envoyé.
D'accord. Voilà.
Donc ça, aujourd'hui, sur Amazon, il n'y a aucun problème pour le faire.
Et ça doit coûter cher à l'unité, comme ça, non?
Alors, le Eno, aujourd'hui, est à 10,51€, je crois, sur Amazon, en version papier. Donc moins cher que les livres de qualité équivalente faits par les vendus en librairie, très clairement.
Tu t'occupes de rien.
Tout ça parce qu'ils s'affranchissent des coûts des intermédiaires, c'est pour ça.
On s'affranchit des coûts des intermédiaires et aujourd'hui, et c'est un autre problème, Amazon se moque complètement de vendre à perte.
Oui, voilà. Bah depuis le début, Amazon.
Oui, ouais, voilà. Non,
c'est pas leur chiffre d'affaires, mais la marge, c'est pas leur.
Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est disruptif, c'est-à-dire que la chaîne du livre traditionnel peut pas lutter en face de ça. Même si elle voulait, ce serait très compliqué. En plus, elle veut pas. Mais même si elle voulait, par rapport à ce qu'elle fait, ce serait très compliqué. D'un autre côté, Amazon ne paye pas ses impôts en France. Amazon a une politique sociale toute pourrie. C'est bien ça comme analyse. Mon niveau d'analyse est au taquet.
Vraiment, on revendique, hein, nous. Hein, c'est bon.
Ils n'écoutent pas, en plus, Amazon.
Donc aller s'acoquiner avec Amazon de ce point de vue-là, c'est pas bien. Et on me le reproche.
D'accord.
Il y a des gens qui refusent d'acheter Eno, la chasse au Rastak, parce que c'est sale, c'est chez Amazon.
Bah, ils ne payent pas leurs impôts. Hein.
Oui.
C'est intéressant, par contre.
Non, mais ça, c'est intéressant, et j'en suis conscient. Il n'y a pas de problème. J'ai un contrat à signer chez un éditeur traditionnel pour un bouquin qui sort en septembre, là. Donc, je continue ça. Ça ne met pas en cause ça. Mais Amazon, en contrepartie, me permet de gagner mieux ma vie que l'édition traditionnelle. L'auteur est celui qui gagne le moins bien sa vie sur un livre publié de manière traditionnelle. Alors que là, je retrouve une place. Très clairement, je gagne 2 euros par exemplaire.
D'accord.
Kindle ou papier. Et je gagnerai au mieux 1 euro en édition traditionnelle.
Ah oui. Voilà.
Alors, du simple au double.
Non, mais ça donne une échelle.
C'est du simple au double. Alors, Amazon achète les auteurs aujourd'hui pour se prendre une position dominante. Peut-être. Donc, peut-être que je fais effectivement le jeu du gros méchant qui me mangera plus tard. Mais c'est intéressant de tester. Et ça permet de faire des choses et puis de savoir de quoi on parle. Et puis je fonctionne un peu comme ça aussi. Il y a des choses qui existent, je vais aller les essayer pour jouer avec. Il y a des vrais gros succès sur Amazon aujourd'hui. C'est-à-dire que, y compris en France, hein, y compris à Rouen même, puisque même si on vous reproche d'être un peu local, on n'est pas loin. Mais Agnès Martin-Lugan, par exemple, qui a écrit « Les gens heureux boivent et lisent du café », l'a d'abord publié...
C'est un jeu.
Non.
Non, bien... Il y en aura un dans l'émission, hein, faudra pas le louper.
Bien tenté. Non, elle a d'abord publié chez Amazon avant de d'être contactée par Michel Lafon. Donc on peut ensuite retrouver revenir sur un schéma classique. Et pour moi, c'est même quasiment idéal, c'est-à-dire vous prouvez sur Amazon
votre légitimité, en fait.
Que vous êtes capable d'aller conquérir 100, 200, 1500 lecteurs, c'est un gros succès chez Amazon. Donc 1500 lecteurs, mais c'est plus qu'un roman papier. Un roman papier qui vend à plus de 1000, c'est énorme. Vous prouvez chez Amazon que vous êtes capable de le faire et vous reprenez le circuit traditionnel. C'est ce qu'on faisait avant en publiant en revue avant de faire des livres et ce genre de choses. Mais les choses changent et ça m'amuse bien de les tester. Voilà.
C'est un auteur, je sais pas si tu connais, je vais le prononcer, c'est un auteur anglo-saxon, Hugh Howey, qui a écrit Silo, qui est en fait une trilogie de science-fiction, et il a commencé par publier, en fait, au départ, il était dans il s'auto-produit, enfin, je sais pas si c'est le terme, s'auto-édité ou...
Ouais, l'auto-publication.
L'auto-publication, pardon, voilà, sur Internet, et en fait, il a commencé par une nouvelle, qui a eu un très très gros, qui a fait très, un très gros buzz sur Internet, et il en a finalement tiré un roman, qui a eu un très gros succès sur Internet, et il a été effectivement, il a intégré après la chaîne traditionnelle.
L'édition classique.
Voilà, et
je crois que tu en avais parlé dans l'entrepôt d'ailleurs.
Oui, oui.
Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas.
Aujourd'hui, il est distribué en France par Actes Sud, la collection Exofiction.
Et dans les gros succès commerciaux, 50 nuances de gris commencent de cette façon.
Je ne savais pas, d'accord.
Ah, bah, ils auraient pas dû.
C'est un autre débat, ça.
C'est un autre débat. Ce qui est intéressant, c'est en termes voilà. Là, pour le coup, je parle de chaîne économique,
oui, voilà,
et de légitimation.
Légitimité.
Bah, attends,
Taxation.
C'est un néologisme. On a tous compris ce qu'on voulait dire.
Légitimation.
Marius, comment tu dirais, toi?
Que tu aimes pas, de toute façon. En tout cas,
non, mais je disais ça juste pour le clin d'œil.
D'ailleurs, elle a eu l'auditoire.
Ça a été. C'est clair qu'on
a eu
combien
deux déclinaisons, un film, je sais pas quoi.
Non, le film il sort le 14 février, si c'est pas du commercial, ça. 14 février, le jour de la Saint-Valentin.
Mais là, tu as des logiques après.
Enfin, Harry Potter il sort à Noël, et puis bon voilà, c'est du commercial.
Bon, enfin, tu vois pas le Père Noël.
Noël.
Quand tu dis que là, tu vas de l'amour, le cul, la baise.
Oh purée.
Ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Dis-nous, il retrouve ses automatismes.
Elle s'était bien tenue jusque-là, pardon.
Oui,
pardon,
ça, d'habitude.
Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est dans le cadre.
Impassible.
Dans le cadre de l'autopublication.
Moi, j'admire,
il est habitué. L'application sur Amazon, c'est d'ailleurs un succès, c'est 1000 lecteurs ou 1500. Mmh. C'est maintenant comment on fait pour aller chercher ces 1000 ou 1500 lecteurs. C'est quelle stratégie tu as pour. Pour essayer de toucher le plus de monde possible.
Après, c'est le vrai piège du truc. C'est-à-dire que faire le livre, c'est facile.
Voilà.
Écrire un livre, il y a plus. Un Français sur deux l'a fait, tant bien que mal, donc c'est pas non plus compliqué. Non mais c'est hallucinant le nombre de gens qui ont un manuscrit dans leur tiroir. Donc il va y avoir une somme de cochonneries sur Amazon assez conséquente. Donc ça c'est d'abord une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il va y avoir besoin de gens pour faire le tri. Donc de journalistes,
d'éditeurs,
il va y avoir besoin de remettre de l'ordre. Donc très bien. En même temps, la bonne nouvelle c'est que l'offre culturelle a jamais été aussi riche. On n'a jamais eu aussi facilement accès à autant de choses. Mais le piège, pour revenir à ça, c'est que pour transformer même un bon texte en succès ou en succès relatif, il faut aller le chercher le public. et que les outils que propose Amazon ne sont pas les outils que propose un éditeur. Mon éditeur traditionnel retravaille le texte avec moi, ça c'est bien. Mais aussi travaille la couverture, puis il y a des représentants qui vont dans les librairies, puis il y a les librairies qui défendent les bouquins, et puis il y a les envois au service de presse, et puis voilà, c'est un métier, c'est plein de gens, c'est important, c'est voilà. Là, personne, c'est-à-dire que le mec, voilà, moi j'ai mis Eno en ligne et puis démerde-toi quoi.
Ouais. Il y a aussi les commentaires que tu peux faire suite à l'investissement que tu as fait sur Amazon, le bouche à oreille.
Mais le bouche à oreille, ça marche pas tout seul.
Il faut que les gens le lisent.
Et puis,
est-ce qu'on peut reprendre la première étape qui était le financement participatif?
Donc,
là, déjà, on est la première chose.
Sur la
commercialisation
et la façon dont moi j'ai conçu les choses, et je sais pas encore si ça va marcher. Mais je compte beaucoup sur cette émission pour ça.
Alors, ça va marcher.
On fait et on défait les carrières.
Mais donc la première étape, et là j'ai mis ma casquette de gars qui fait croire à tout le monde qui s'y connaît un peu en internet. Et
on y a cru. Hein.
C'est-à-dire que si ça marche, je serai d'autant plus crédible. Si ça marche pas, ça... et donc non, la première étape, ça a été ce que je me suis dit. Le premier moment de ma réflexion, c'est ce qui va faire la différence sur internet, c'est la qualité de la couverture. Le premier élément visible du livre, c'est sa couverture, et avec une couverture amateur, j'y arriverai pas.
C'est mort.
C'est mort, rien ne passera, on passera pas ce truc-là. Donc il me faut une couverture, et une couverture pour le faire de manière professionnelle, ça a un coût. Un illustrateur, tout simplement, qui fait un joli dessin, voilà, faut le payer, et c'est normal de le faire. Donc j'ai commencé par du crowdfunding.
Je le dis mieux que nous.
Muy bien.
Donc sur le site Ulule, où j'ai effectivement fait un appel aux dons, au milieu de l'été, parce que c'est trop facile de le faire à un moment où les gens sont attentifs.
C'est bon.
C'est comme nous, sortir une émission entre les deux fêtes.
Et donc j'ai récupéré la somme nécessaire à la réalisation de la couverture. Et non seulement ça, mais en plus j'ai autour du projet 42 donateurs qui sont impliqués, qui ont mis un peu d'argent, qui ont envie de savoir ce que ça va devenir. Bref, j'ai un noyau dur de communauté autour de mon projet que j'avais pas initialement. Donc ça, c'est la première étape, et cette étape-là va me servir aux étapes suivantes.
1150 euros, c'est ça, de mémoire ?
De mémoire, oui. Un tout petit peu plus, je sais plus, mais 1150, c'est ce que je demandais, j'ai dû avoir 1220.
C'est énorme. Cette somme-là, c'était pour la couverture.
Cette somme-là, c'est pour la couverture, donc les gens ont reçu en contrepartie un exemplaire numérique dédicacé, un exemplaire papier tiré hors commerce, voilà. Mais là, il fallait donner un peu plus. Mais quand on réserve ses sous pour les ventes aux enchères de la rentrée, forcément,
c'est pas tout donné.
Donc ça a été ma première étape, et puis la deuxième, donc c'est la mise en vente sur Amazon, d'abord en format numérique. Alors le gros défaut d'Amazon, c'est d'être 100% Kindle.
Ouais. C'est une question technique qu'on allait te poser.
Alors c'est une question technique, mais c'est vrai que c'est un format propriétaire. Alors ceci dit, ça se casse assez facilement, ça se pirate très bien. Enfin, y a pas de...
Bravo.
Pas si facilement quand même.
Ah, j'ai essayé. On est écouté par les
médias
quand même.
Je le disais en micro, c'est-à-dire que ouais. Moi je l'ai acheté sur Amazon. Sur les temps, j'ai un Kobo, donc ouais. Fnac. J'ai essayé de le mettre, ouais, mais j'en ai racheté un. Bref. Et du coup, j'ai essayé de le mettre dessus. Et là, il te dit non, impossible de le mettre.
Il faut modifier le
fichier. Donc, t'as plein de trucs, t'as des logiciels qui existent, mais ils sont gratuits pendant un mois, et puis après, il faut que tu payes, ou sinon, il faut que tu trouves plein de... Enfin, c'est plein de trucs. Je veux dire, pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas si simple.
Alors, ceci dit, c'est possible. C'est pas non plus souhaitable. Et puis, l'avantage du Kindle, c'est qu'il y a effectivement une appli iPad, une appli ceci, une appli cela. On n'est pas obligé d'avoir un Kindle proprement parlé.
Exactement.
Ceci dit, c'est un handicap, mais c'est un handicap qui fait qu'on est quand même chez le leader du marché.
Oui, quand même.
Quitte à choisir, autant être chez le leader. Donc première sortie au format Kindle, et puis 3 semaines ou 1 mois après, la version papier rendue disponible. Voilà.
Assez
rapidement, parce que le Kindle démarrait pas très bien. Voilà. Donc il fallait relancer les choses.
Pour revenir à la communication, ça veut dire que tu as créé un compte Facebook, Eno, tu as créé un compte Twitter. Peut-être d'autres qui m'ont échappé.
Google Plus, peut-être.
Alors, il y a une page...
Ça fait partie de la com, en tout cas.
Il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter, il y a le relais sur mes propres comptes, y compris Google+, LinkedIn, Pinterest, voilà.
Ça, c'est quoi? C'est on met tous les atouts de son côté pour se faire...
Pour ratisser le plus large.
On essaye de ratisser large, oui.
Alors d'accord, ok, tout ça, c'est tous les outils qui, pour une personne, ça permet de pallier peut-être l'absence d'eux, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps, en fait. Je veux dire, tu sais, pour animer une communauté, animer une page Facebook, aller sur Twitter, etc., si tu veux un minimum... c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui font pas que ça, mais presque. Donc, t'arrives à concilier.
On a un bon exemple au micro.
C'est un métier. C'est un métier.
Et tu arrives du coup à concilier à la fois les autres activités et cette partie de communication où tu fonctionnes, je dirais, de façon perlée, quoi.
Je concilie assez bien, mais en même temps, j'ai la chance de faire ça au quotidien depuis 20 ans. Les réseaux sociaux, ça fait que 10 ans, mais ça fait 10 ans que je fais ça tous les jours, y compris pour des patrons et des clients. Donc, je suis dans mon univers et c'est quasi anecdotique sur une journée.
D'accord.
Mais pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce truc-là du jour au lendemain, ça serait autre chose.
Pour quelqu'un, certainement. Pour quelqu'un qui croit que parce qu'il a écrit ses 150 pages, il va devenir le roi du pétrole, alors qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un réseau social, alors qu'il ne sait pas ce que c'est que de mettre en page une maquette, alors que voilà, là, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est dans le domaine du miroir aux alouettes. On nous sortira quelques exemples du chapeau. Que moi, tous les exemples que je connais de gens pour qui ça a marché sont des gens qui soit ont fait appel à du coaching au sens large, à du conseil, soit avaient des compétences au-delà de ce qu'ils écrivaient par ailleurs.
Qui c'était cette personne qui s'était auto-publiée sur, alors je sais plus, je vais te dire une bêtise, sur Amazon ou autre chose, je sais pas, et qui avait trouvé la technique, c'est-à-dire qu'en fait je crois qu'elle a dû acheter. En fait, où elle avait commandé plusieurs.
La technique de base sur Amazon, c'est que beaucoup de gens achètent en même temps pour remonter dans les classements, pour être plus visible. Ouais.
Ah oui, marche comme ça en fait. Mmh. C'est par rapport.
Dès qu'on est dans le top 10, dès qu'on est dans les premières bandes, il y a une spirale.
Pour arriver dans le top 10, quand même. C'est faisable.
T'as été bien dans les...
Je suis pas si mal, mais je suis pas encore suffisamment haut pour bénéficier de l'effet d'aspiration. Mais c'est pas tant que ça, en fait. Si on regroupe bien sur une journée, on monte très vite, très haut.
Et au final, est-ce que tu avais prévu, je sais pas, des chiffres, tu te situes comment? Est-ce que tu es heureux du démarrage? Tu parlais tout à l'heure d'une petite déception au démarrage.
Alors moi, je suis jamais content, donc je suis pas content. Mais parce que c'est
français, quoi. Normal. Hein.
Donc non, je trouve que ça pourrait être mieux, surtout que c'était la période de Noël et que voilà, j'en ai pas vendu 5000, je trouve ça assez décevant.
Demain ça sera fait, mise en ligne demain, les auditeurs, je pense qu'ils vont s'y plaire.
Mais en même temps, dans les témoignages qu'on a, il y a des témoignages de gens qui ont fait un vrai succès sur Kindle en vendant 5 le premier mois, et je suis largement au-dessus. Donc.
C'est vraiment, enfin. On incite les gens à lire. Et il y a la possibilité sur Kindle, si je dis pas de bêtises, de pouvoir lire un extrait.
Voilà. Alors donc,
ce qui est l'intérêt des livres numériques, effectivement.
On peut tout à fait télécharger gratuitement les premières pages. C'est même assez. Enfin, je crois que c'est assez conséquent.
Justement, c'est toi qui choisis le nombre de pages?
Non.
Ou c'est un format, c'est un pourcentage du bouquin?
C'est un nombre de pages, oui, je crois que c'est un. Je sais même pas si c'est un pourcentage du bouquin.
Parce que sur Kobo, des fois, c'est très très limité, quoi. T'as lu à peine un chapitre et ça s'arrête. Puis des fois, t'as 50 pages.
Ça dépend beaucoup de la longueur du chapitre.
Oui. Ok, je me perds.
Après, il y a un système qui peut être sympa, c'est. D'offrir un exemplaire à une école, et l'école fait passer à une autre école, qui fait passer à une autre école.
Tu nous fais ta crise, ta petite parano. Pour le feu, merci, Bijon. Et toi, ton tuyau, t'as qu'à te le mettre dans le cul.
Il est lourd, en fait.
Christophe, il les connaît par cœur, ces jingles, celui qu'il a fait.
Non, mais moi, je vais le faire diffuser l'info dans les écoles.
C'était l'un des buts, ça, que le livre se retrouve dans les CDI, qui soit étudié en classe. Est-ce que tu avais réfléchi avant?
Non, j'ai pas réfléchi. Mais j'aurais pourtant, peut-être dû. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que aller commander sur Amazon pour une école, c'est pas si simple.
Non, mais.
Et donc ça limite des possibilités. Alors même que je pense là pour le coup que c'est le type de bouquin qui peut provoquer des rencontres auteurs et élèves intéressantes sur le fond, sur les questions, la façon de poser questions, le tirage à pile ou face, etc. Il y a des
débats philosophiques.
Les interventions en classe, je les vois bien sur ces thèmes-là.
Moi aussi.
Bon, ta première est programmée, ça y est.
Ouais.
Rosé sur lueur, ça te fait pas peur ou pas?
Ah non, alors ce serait pas pour ma classe, parce que c'est trop petit.
Alors pourquoi tu relèves, toi, espèce d'enfoiré?
Mais par contre, ça peut être pour Barbara.
Que tous les auditeurs connaissent bien sûr Barbara.
Ah oui,
Barbara,
tout ça, voilà,
la femme de Christophe.
Oh, elle n'a peut-être pas envie d'être connue comme la femme de Christophe.
Oui, Christophe. Le voisin de Saline.
Non, mais c'est vrai, ça. Non, il y a plein de questionnements. Les débats, les échanges avec les enfants sur ce sujet, c'est riche. C'est très riche.
Mais sérieusement, c'est vrai que moi, quand je fais l'analogie avec Harry Potter, c'est que. Comme quand je lisais les Harry Potter il y a quelques années à la fin, c'est de me dire, tiens, dès que j'ai 5 minutes, bah, plutôt que de regarder une série, d'écouter la musique ou quoi que ce soit, tiens, je vais me mettre sur le bouquin. T'as envie d'y revenir en fait, parce que il y a le côté frais, direct, et t'as envie de suivre l'intrigue en fait. Donc je te dis, ça encore sans flagornerie, on se connaissait pas. Mais c'est vraiment un truc.
J'aime bien ce mot, la flagornerie.
J'aime bien ce mot-là. Je trouve ça. Je sais pas ce qu'il veut dire,
on
mais
sur un auteur, alors ça y est, il va chercher des mots dans le dictionnaire.
Le quoi?
Super moche comme mot.
Je voudrais savoir si.
Ouais, ça veut dire quoi en fait?
À partir du moment là où tu n'avais pas de. En gros, de plan sur la comète, tu as voulu faire le bouquin, tu l'as fait. Maintenant, on va voir ce que, la vie qu'il va avoir. Qu'est-ce que tu envisages derrière? Est-ce que tu te dis, je voudrais étendre l'univers ou pas? Ou c'est un one-shot et je passe à autre chose derrière? Parce que c'est. Voilà.
L'adaptation ciné demain
putain,
ou pas
non, avant l'adaptation ciné, je pense qu'effectivement une adaptation en BD, ça serait.
Parce que nous, on a un petit Super 8.
Ah, voilà. Marius, il avait vu avant toi.
Non, mais je suis assez
visionnaire.
Ouais. C'est ça le mot que je cherchais.
Alors le livre se tient complètement, se termine et finit à la dernière page. Ceci dit, tout est en place pour qu'il y ait
Parce que tu peux creuser.
Pour qu'il y ait une suite. Tout est là, hein. C'est-à-dire que tout est posé et tout est prêt pour rebondir, même si ça s'arrête là, c'est pas très grave et ça se tient, mais tout est en place pour qu'il y ait un tome 2. Voilà, donc la suite.
Oui, c'est pas en place par hasard.
Bah, il vaut mieux préparer un tout petit peu son coup au cas où il y a plus de 3 lecteurs.
Le concept, tu peux le pousser. Enfin, après, tu peux aller vraiment dans différentes.
Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je commence à avoir des gens qui me racontent la suite. Donc.
C'est bien, t'as même pas besoin de bosser en fait. Les gens te donnent des idées, tu pioches ce qui est bon.
Oui, je me dis, non, j'ai expliqué à un ou deux que je ferai en sorte de prendre aucune des idées qu'on me donne. Donc, du coup, ils me donnent toutes les idées possibles.
Ça, t'es bien
emmerdé. C'est beaucoup plus drôle.
Sur ta. Je vais revenir sur une. Je fais moi-même le clavier tout seul. Ce qui m'intéresse à savoir, c'est sur ta technique d'écriture. Tu
fonctionnes. Elle est plus concis que toi, hein, je te garantis.
Bah, c'est possible. Non, mais tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes sur un plan, tu fonctionnes. Tu poses déjà les bases et après, dans l'histoire où tu vas du point A au point B, ces deux points sont définis et tout ce qui
s'est passé. Est-ce que tu as toute l'histoire en tête?
Ou est-ce que tu y vas et à la limite. Des choses se passent, des accidents, des bifurcations.
Ouais. Parce qu'en 3 ans et demi,
tu fonctionnes.
En 3 ans et demi, t'as peut-être fait évoluer l'histoire aussi.
Et aussi par rapport à. Eh oui.
Ça. Oui, Ludo, vas-y.
Ah oui, non mais parce que ça. Non mais.
Alors, tais-toi. Faut qu'on retrouve la phrase de voilà. Jean-Edouard en fait.
Par rapport.
Il a essayé l'école de journalisme, Ludo, il était recalé. C'est vrai en plus.
Les 1500 mots, il les faisait en 25 000, donc.
Il a gonflé tous ses jurés.
Et surtout par rapport à ce que tu écris par ailleurs, quoi. En fait. Parce que c'est quoi? Non, mais.
À qui est-ce que tu te comparerais-tu?
Non, je veux dire, les livres que tu peux faire, par exemple, sur le meilleur d'eux, etc., c'est une technique particulière, je suppose, qui n'a rien à voir avec la technique d'écriture de roman. Et l'écriture de roman, c'est aussi autre chose. Donc, c'est pour moi deux exercices complètement différents.
Sont des exercices différents. Alors c'est le seul truc que je fais. S'il y a une ligne directrice, à 7 ans j'étais un poète génial. À 17 ans je me suis aperçu que j'étais pas génial et il m'a fallu plus de 20 ans pour m'en remettre. Mais s'il y a une ligne directrice, c'est l'écriture. C'est-à-dire que j'ai toujours joué à écrire. Et professionnellement aussi. Et donc j'ai toujours eu ce plusieurs musiques en simultané et toujours eu conscience de l'exercice de style, c'est-à-dire qu'il y a des voilà, il y a pour quand je fais un article en presse quotidienne régionale, c'est là, voilà, c'est comme ça, quand je fais autre chose, c'est comme ça, etc. Donc j'ai toujours eu ça. Et puis comment écrire pour les jeunes, c'est une question que je me suis posée assez tôt. J'ai lancé mon premier magazine jeunesse PC Junior en 97 98. Donc j'ai commencé à écrire pour les jeunes à ce moment-là. J'ai écrit pour les jeunes pendant 5 ou 6 ans à cette période-là, et quasi exclusivement pour eux. Donc j'avais cette musique-là et mais ce rythme-là.
Dans un cadre journalistique, par
dans un cadre journalistique. Mais il y a déjà des vraies questions sur la façon dont on écrit. Donc sur les différences de jeu, les différences de gamme, les différentes façons de s'adresser au lecteur, ça je maîtrise à peu près. Et puis après, sur la technique du roman, c'est super compliqué. Donc j'en ai écrit d'autres hein, quand j'étais jeune, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils sont pas encore totalement détruits, mais relire c'est une catastrophe. Et mais là, donc 3 ans et demi, mon idée de départ, et puis une ligne très très frêle de scénario, et après j'avance à vue. Par contre, comme ça dure 3 ans et demi, je reprends beaucoup parce que normalement pour que ça ait l'air relativement homogène en 3 ans et demi, même moi j'ai un peu changé et d'activité et tout ça, donc c'est beaucoup repris à la fin pour donner de l'homogénéité, mais sinon je m'ennuie en fait. Si je sais trop bien où je vais, je m'ennuie, c'est pas drôle, donc faut que je me la raconte aussi l'histoire.
Et donc tu es plutôt... Ouais.
Donc j'ai la ligne directrice, mais je sais, parfois je mets le héros dans des situations dont je sais pas encore comment je vais
d'accord,
le sortir.
D'accord, ok.
Mais c'est quoi ces histoires de poèmes? Il paraît que t'es très...
Oui, c'est ça.
J'aimerais bien, ça, aussi, ouais, hein. Un petit poème...
Quoi?
Un petit poème normand ou...
J'ai balancé un peu, Sébastien, tu m'en veux pas? Ouais, bon, d'accord. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Là.
J'adore.
J'ai balancé.
Mais non,
c'était plus
non
que
pas,
moi.
Pas tant que ça, finalement. Tu nous as quand même introduit le fait que tu, à 7 ans, tu étais poète.
À
17 ans.
Tu fais quoi, tu dis? J'ai entendu, il introduit, c'est la fête.
J'ai balancé sur le fait que tu as fait ta thèse de maîtrise.
Non, pas une thèse, pas une thèse.
Une thèse de maîtrise. De maîtrise.
Un mémoire.
Beaucoup plus modeste.
J'ai pris une thèse.
Excusez-moi, j'ai pas fait d'études longues comme vous, ça va.
Pas mal la thèse de café.
La thèse de café, ouais, pas mal.
C'est drôle.
Thèse de café.
Pas mal ça. C'est bon ça.
Je parle pas beaucoup.
On n'est pas habitué en fait.
Oui, Marius. Ah, oui, donc j'ai fait ma maîtrise à Rouen sur la poésie normande, donc dont je suis un des deux spécialistes mondiaux vivants.
Avec l'autre, avec le poète normand.
Enfin, dont j'étais un spécialiste, parce que j'ai tout oublié. Donc j'ai pris des notes et tout. Si vous aviez des questions à me poser, voilà.
Peut-être on aurait bien aimé un
tu veux
exemple.
Un exemple de poésie normande. Alors, juste que les choses soient très très claires. J'ai bossé pendant un an, j'ai rendu un gros machin de 150 pages A4 pour expliquer que la poésie normande n'existait pas.
Oh merde. Nous en sommes la preuve vivante.
Néanmoins, quelques poètes normands. C'est bien ça. Hein. Ouais, donc j'ai promis. Non, en fait, quand j'ai dit ça, j'ai dit que je viendrais avec un poème normand et que je vous lirais un poème normand. Donc c'est.
S'il te plaît.
Alors contemporain ou.
Non, enfin presque. Hein, c'est Francis Yard, donc il est mort. Le pauvre garçon, il a une rue à son nom à Rouen et il a même un collège ou un lycée à son nom à Buchy.
À Buchy,
hein, pour les gens qui ont Google Maps.
Bah avec Nico, on connaît, avec Delphine, on habitait le pays de Bray.
Voilà,
donc, du pays de Bray.
Voilà,
donc,
Francis, je le suis.
Francis Yard, très exactement, Athanase Francis Yard.
Oh, ben dis.
Je comprends qu'il est enlevé. Là.
Il a Yard enlevé. Avec un voilà. E à la fin et ou un.
Je crois pas.
Non. Yard.
Ah, d'accord.
Un peu à l'anglaise quand même.
Yard.
Athanase Francis Yard. Un poète dont Émile Verhaeren. Je savais que je me planterais sur Verhaeren. A dit, vous au moins, vous êtes de la campagne et vous écrivez les pieds dans le terreau. C'est bien.
Oh putain, ça donne envie de l'écouter celui-là.
Et Émile Verhaeren, qui lui n'est pas normand, mais est quand même mort à Rouen, écrasé par un train.
Ah bon, comme ça.
Bah, avec un moins méchant.
Voilà. Et donc Francis Yard avait non seulement les pieds dans le terreau, mais aussi dans le fumier. D'accord. Et c'est donc au fumier qu'il a consacré un poème mémorable que je vais maintenant vous lire. Le fumier par Francis Yard.
Pourquoi vous avez demandé un poème? Il y a eu le temps que ça prend.
Toi, tu te rendors.
Je pense que tu vas bien te marrer.
Fais tes photos. Est-ce que tu as besoin d'un fond musical ou pas?
Tu as quelque chose dans le genre fumier?
Toi, t'es un fumier. Ouais.
Une chanson. J'ai rien préparé. Une chanson de Renaud. Un truc.
Avant, on avait rissé varié. Ils ont elle, le printemps.
Ouais, il a fallu juste de la musique. En fait.
Oui, ouais. Vas-y, on t'écoute.
Bon, allez.
Ah, c'est... Alors, par contre, je me suis pas bien exercé.
C'est l'addiction.
Nous ferons
fi. Béant comme éventré, noir de poule gloutonne qui fourmille grattant sur son dos arrondi. Devant l'étable basse, au chaume reverdi, le fumier large s'ouvre au soleil de l'automne. Dans le sang purulent, épanché de sa plaie, en une flaque sombre au bord du gazon gras, voraces et grognants se vautrent les verras, et leur truie au ventre lourd comme une laie. Il fume, et son parfum se répand et circule, une puissante odeur chauffe les basses cours, cependant qu'un chariot, revenu des labours, près du cloaque noir, péniblement s'accule. L'homme saisit sa fourche et, grisé par la laine, fouille le tas de chair qui crie et s'amollit. De lambeaux palpitants, la voiture s'emplit, l'attelage s'ébranle et s'en va dans la plaine.
Waouh!
Bravo! Ah ouais, ah. C'est beau!
Non mais, en fait, tu nous as menti, Francis Yard, c'est Ludovic Froh.
J'adore.
Ça, je suis dit,
C'est le genre de poème qu'on peut accrocher dans ses toilettes. Enfin, ah ouais. Tout le respect que j'ai pour Francis Yard. Hein, mais...
Et donc, tu es l'un des derniers spécialistes vivants donc, de Francis Yard.
De Francis Yard, pas du tout. J'ai dû écrire 10 lignes sur lui.
Mais attends, alors...
Il faut quand même avoir l'idée, quand même.
Donc, tu fais lettres modernes. Oui. Et comment te vient l'idée de dire « Ah, je ferais bien mémoire sur les poèmes normaux ?»
Je fais lettres modernes. Je vais voir mon prof, je lui dis « On fait quoi pour ma maîtrise ?» Voilà.
Bah, tu vas faire les poèmes normands.
Je me dis « Il y a un truc que personne ne veut faire. » Je dis « Chiche !» Moi, j'en rajoute un peu, mais oui, c'est simple.
J'aime bien l'idée.
Moi. Bah oui, mais moi aussi. Ceci dit, le poème, j'ai pas trouvé ça. Je trouve ça même.
Ça t'inspire. Hein.
Bah, c'est pas que ça m'inspire, mais ça je vois la Normandie toi, en fait. Là. Je vois la ferme, je vois l'agriculture, je vois.
C'est beau, hein?
C'est beau, hein? Oh, bah,
on voit les pieds dans le fumier.
Avec les verrons.
Donc ce sera une émission en odorama, j'espère.
Bien sûr. Non, mais c'est original, en fait, effectivement. Merci de nous faire partager ce moment de poésie normande. Voilà.
Bah oui.
Je ne connaissais pas la poésie normande.
Moi, j'avais envie. J'étais curieuse.
Tout ça pour clore le chapitre Hainaut, la Exactement. Chasse au Rastak. Disponible, tu nous rappelles tout ça?
Donc, le plus disponible sur le blog de l'émission.
Ah oui, les liens. De toute façon.
Exactement. Voilà, donc, c'est par là qu'il faut toujours passer, je crois.
Exactement. Voilà. Il va vite. Hein,
8 millions de visites le mois dernier, tu m'avais dit.
Exactement. 8 millions.
Ouais, ça cartonne en ce moment.
Ça cartonne de fou.
Grâce aux photos de Marius.
Voilà. Ouais, Nick Tony. Voilà.
Et au sein des.
Michto
D'ailleurs, pour Noël, les filles montrent leur sein en photo, donc sur le blog, donc on attend beaucoup de gens. Ouais.
Moi, je voulais profiter qu'on ait Sébastien sous la main pour lui poser d'autres questions d'actualité, si vous êtes d'accord.
Ouais, bien sûr.
Comme il connaît beaucoup de choses sur beaucoup de sujets.
Ouais, vas-y.
La vache. Là, tu
savonnes
la planche quand même.
Alors, Nabila.
Depuis tout à l'heure, il faut que je le dise, il a la bouche de Bruno Salomon. Voilà.
Le fabricant de ski.
Salomon! L'acteur d'En Fais pas ci, fais pas ça.
Ah oui, je cherchais à qui il faisait penser, c'est
Vas-y,
ça.
Vas-y, est-ce que tu peux me faire mes désordres?
Bravo. Ça aurait pu être Sim, écoute, c'est bien tombé.
Ou Topalov, ma chemise, où est ta vie, ma chemise?
Ma chemise grise, mais oui, tout à fait.
Vas-y,
plus sérieusement, en fait, il y a tellement de questions qu'on pourrait lui poser sur des sujets qui nous intéressent tous. Moi, j'ai vu dernièrement, tu parlais de Facebook sur ton blog, et tu n'annonçais pas le déclin de Facebook, mais tu parlais de cette éventualité.
Oui.
Ça nous intéresse tous parce qu'on a tous un compte Facebook. Est-ce que tu peux
tous sauf un.
Google.
Peut-être qu'il est visionniste, Marie.
Et tu parles d'alternatives aussi, de d'autres choses qui.
Voilà. Donc c'est un sujet qui nous intéresse tous a priori. Est-ce que tu peux développer un petit peu? On peut aussi renvoyer sur ton blog, Sébastien. Tiens, bailly.com, qui est très intéressant, notamment.
on apprend beaucoup de choses sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en donner deux petits mots?
Alors, j'ai joué à un jeu auquel je refuse généralement de jouer, c'est-à-dire de faire cinq prévisions pour l'année qui vient. C'est un truc qui se fait.
C'est ton côté, Elisabeth Tessier.
Ouais. Oui, c'est ça. Waouh.
Donc, j'attends que François Hollande m'appelle pour son horoscope. Mais donc là, je fais cinq prédictions, dont une qui tient au déclin de Facebook, qui est pas. Alors, je prends pas trop de risques. Hein, le déclin est en route. Aux États-Unis d'abord, où les jeunes sont de moins en moins nombreux à être sur Facebook. Alors de moins en moins nombreux sur Facebook, ça fait pas grand-chose, ça se voit pas trop, parce qu'on part de tellement haut que ça a beau décélérer, ça va toujours très vite. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce que Facebook perde de la vitesse et à ce que les gens aillent voir. Alors forcément au profit d'autres, Internet va pas disparaître du jour au lendemain. C'est déjà le cas un peu aujourd'hui, hein. Les plus jeunes passent du temps sur d'autres services, sur des choses, à des endroits, Snapchat par exemple, mais à des endroits où leurs parents sont pas. Ouais. Le vrai problème de Facebook, Instagram, c'est que c'est plein de vieux maintenant.
Bah ouais, c'est devenu mainstream, quoi. Voilà.
Voilà. Donc le jour où ta mère arrive sur Facebook, voilà. Donc alors l'avantage que les jeunes ont encore, c'est que les parents ont pas compris qu'il y avait des groupes secrets. Donc les parents sont rassurés parce qu'ils voient pas en fait que leurs enfants font des conneries sur Facebook.
Marius vient ici tout de suite.
Il me prouve qu'il est encore Facebook. Mais il a Snapchat,
donc pour répondre à cette question là, oui, Facebook va baisser un peu et puis Facebook devient de plus en plus compliqué à utiliser. Facebook de moins en moins.
Pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on veuille fouiller un petit peu, sinon ça reste très accessible.
Twitter marche très bien aussi. Enfin, Twitter,
10 fois moins. Le ratio,
oui, c'est ça,
c'est de 1 à 10 entre le nombre d'utilisateurs de Twitter et de.
Un petit détail justement, Google Plus, Marius poste tellement fréquemment des trucs qu'il va nous prouver que Google l'a considéré comme spam.
Monsieur Smith, ouais,
qui nous dit, t'as été considéré comme spam. Il a fallu que je restaure ton lien.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien l'habitude sur Google Plus d'avoir
d'un coup 10 photos en une heure. Mais ce que tu disais,
Oui, Delphine a les notifications, ça fait peur quand même. Ouais, mais moi je bosse.
Ce que tu disais sur Facebook, c'est aussi une question de cycle, je suppose. Enfin, parce que tu dis,
alors, c'est une question de cycle, hein. C'est des cycles qu'on a déjà vus, sauf qu'on n'a jamais vu personne, enfin aucun service monter aussi haut que Facebook. Mmh. Mais c'est des cycles qu'on a déjà connus, avec notamment la disparition de MySpace, par exemple.
Mmh. Absolument.
Dans un genre très différent, la perte complète de visibilité des skyblogs chez les jeunes qui sont
qui là aussi était monté très très haut.
Le compteur de nouveaux blogs sur Skyblog était hallucinant à voir défiler. Et même, alors, quelque chose de très français, Copain d'avant, qui a longtemps été leader, alors qu'il y a un service qui est d'une nullité crasse absolue, mais qui a été doublé par Facebook assez tard en termes de nombre d'utilisateurs.
Moi j'ai arrêté parce qu'en fait mes copains d'avant c'était mes copains de maintenant.
T'as un concept là. Copains de maintenant.
Attends, on va couper ça, des fois quelqu'un te le pique. Je le coupe au montage.
Ce serait sympa, ouais.
C'est considéré comme un média social, Copain d'avant ?
Bah, dans la mesure où ça permet de rentrer en relation les uns avec les autres et de se causer, ouais.
Mmh. Bah oui, tu mets les films que t'aimes bien.
Ah bon, pas du tout à jour, j'ai mon truc.
Moi je suis un peu.
Encore une fois, une photo avec des dreadlocks dessus, donc.
Moi j'ai supprimé le compte.
Je suis un peu le vieux con sur les réseaux sociaux, c'est hormis les trucs type Facebook, je passe sur Twitter nulle part, mais les autres, les nouveaux, les émergents, quelle est la différence, sur quoi ils se différencient par rapport à Facebook?
Tu parlais
hormis le fait que il y ait pas les parents. Est-ce que c'est le seul critère de différenciation?
Non, ça c'est pas un critère de différenciation, c'est un critère qui explique pourquoi les jeunes migrent d'un lieu à un autre.
Et tu parlais notamment d'équivalents qui pourraient venir de Russie ou de Chine.
Oui, alors ça c'est un délire. C'est parce qu'il me fallait une cinquième prédiction. Allez. Ceci dit,
Ah, t'es vachement inspiré.
Moi je tombe comme un con, je tombe dedans. Ouais.
Tu vois, quels seraient les nouveaux réseaux sociaux? Ce serait quoi la différence par rapport à Facebook? Sur quoi
aujourd'hui, il y a deux réseaux sociaux qui montent aujourd'hui. C'est Instagram qui appartient à Facebook et Pinterest qui n'appartient pas à Facebook pour l'instant. qui sont effectivement en croissance forte, qui s'appuient plus sur l'image que sur le texte. Voilà. Et puis il y a un énorme réseau social auquel on pense pas en général, qui a autant d'utilisateurs que Facebook, c'est YouTube.
Oui.
Qui a toutes les fonctionnalités du réseau social, qui est basé sur la vidéo. Aujourd'hui, YouTube, c'est un réseau social, et il y a autant d'utilisateurs en France de YouTube que de Facebook.
Ouais.
Oui, il y a le système de publication, de commentaires.
Il y a un blanc parce qu'on réfléchit tous, en fait.
Ouais. Et Snapchat.
Vous voyez, on en a déjà causé, Saugo.
Ah bon?
Alors Snapchat,
c'est furtif,
ça s'appuie sur l'idée que qui devrait tout, plaire aux jeunes, que les publications disparaissent au bout d'un temps relativement court. Facebook est en train de déployer des fonctionnalités similaires pour ce qu'on publiera sur Facebook. Ça arrivera dans les semaines qui viennent. Le problème, c'est que c'est complètement
illusoire,
puisqu'il suffit de faire une capture d'écran de Snapchat et de la mettre sur Facebook pour que d'un seul coup, ça soit plus. Voilà.
Il y a Dubchat aussi qui.
Dubmash,
ouais, qui marche d'enfer auprès des jeunes.
C'est plus une application,
C'est du gadget, c'est une application. Quand on regarde un peu la façon dont c'est cherché, etc., c'est en train de se casser la figure aussi vite que c'est monté. Ouais, ça va pas durer. C'est le genre.
Pas, pas que les jeunes.
Droit d'auteur aussi. Oui, je connais quelqu'un avec.
En plus,
je pense à la même personne. Qu'aller voir le Hobbit aujourd'hui, non?
C'est ça.
Je vais voir.
Droit. Ton métier fait que tu dois t'intéresser à tout ça, à toutes ces nouvelles sorties, à tous ces nouveaux médias sociaux.
Ouais, je suis obligé.
Mais quel est ton métier?
T'as un compte Facebook?
Ah bah, j'espère pour lui.
En quelle année l'as-tu? C'est ça la question.
C'est ça.
Ah, je sais pas.
Quand tu étais.
Et est-ce que tu peux nous dire où on va? Tu parlais de prédiction tout à l'heure, mais dans quelle direction on va au niveau réseaux sociaux? Est-ce qu'on a atteint déjà un sommet? Est-ce que notre vie va être dirigée par les réseaux sociaux? C'est dans 5 ans, dans 10 ans, comment on utilisera tout ça?
C'est Facebook il y a que 10 ans. Hein. Donc c'est pas facile d'imaginer.
Non, mais c'est même assez drôle. Ce qui est assez drôle, c'est de relire. Alors ça m'est arrivé très tôt dans il y a très longtemps de lire des bouquins de prospective encore plus anciens que moi. Et ce qui est phénoménal, c'est de voir comment les gens se trompent. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis toujours refusé à la moindre prédiction jusqu'à ces 5 prédictions d'il y a 3 jours qui sont mes premières prédictions.
T'as bien fait de le faire.
Mais donc non, j'en sais rien. Ce qu'on voit, c'est arriver des objets connectés qui vont dépasser les choses.
Venir, ouais.
La seule et vraie question fondamentale qui se pose, c'est à quel moment l'ordinateur sera plus intelligent que nous.
La Matrix.
Voilà, c'est. Il y a aussi autre chose. Excuse-moi, mais pour rebondir sur ce que tu dis, en plus la difficulté de prévoir, c'est-à-dire que nous, on raisonne aussi en tant que. En tout cas, moi, en tant que personne ayant vécu une vie avant Facebook et aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand je vois mes enfants, quand eux, ils ont quasiment vécu avec Facebook ou les réseaux sociaux. Je parle de Facebook, c'est pas autre chose. Et ça modifie aussi complètement la façon d'approcher
la communication.
Bah oui, c'est. Et eux, ils seront eux et leurs enfants. Alors là, pour le coup, je dirais, vont être complètement baignés sur des choses où nous, je sais qu'on peut avoir des inhibitions ou peut-être des interdits ou des tabous là où il n'y en a pas du tout. Enfin, on peut le voir facilement. Ne serait-ce que sur la vie privée, sur des choses où à la limite, on est beaucoup plus, je trouve, plus
réservé. Public.
Réservé. Alors, soit on pourrait considérer soit timoré, soit prudent. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Que pas mal de jeunes. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Je vois ça avec le petit bout de la lorgnette qui est la mienne. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ce côté-là.
Je confirme.
J'ai pas osé le dire.
Je vous ai parlé de mon télescope.
Il pose une question super sérieuse.
Mais oui, c'est impossible. C'est...
Ah, mais il a terminé très mal, par contre.
Là.
Bon, du coup, on se souvient plus de ta question.
Non, je crois que sur la vie privée, effectivement, et sur ce qui change avec Internet, les jeunes se rendent pas compte. Moi, je suis intervenu en classe de 3e début décembre, c'était assez drôle, je fais pas ça souvent, et je commence une phrase en disant ce qui a changé avec Internet, et là, je les vois me regarder. Moi, bon, ça a pas changé avec Internet. Que...
Bah oui, voilà. Oui,
en fait, putain, le mec, il est tellement vieux qu'il a connu la vie sans Internet. Voilà,
c'était à peu près ça. Sur, donc, effectivement, ils sont dedans et c'est naturel. En revanche, sur la notion de la vie privée, c'est pas forcément. Enfin, ils se rendent pas compte, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'ils se rendent compte. C'est-à-dire que ils se rendent pas compte et ils vont en payer le prix. C'est-à-dire qu'ils se rendront compte le jour où ils se seront brûlés les doigts. Donc vaut mieux leur expliquer. Le problème, c'est qu'il y a plein de parents qui comprennent rien à rien et que les gamins font ce qu'ils veulent sur Facebook en entraînant les copains et les copines dans ce qu'ils montrent. Et moi, pour les jeunes que j'ai autour de moi, c'est pas tant ce que eux vont mettre en ligne que ce que leurs copains vont mettre en ligne qui pose problème. Et là, il faut voilà, là il faut leur expliquer quoi, qu'on montre pas certaines choses, que on montre que ce qu'on pourra montrer encore dans 5 ans ou dans 10 ans, et que voilà, donc ça permet de parler plein de choses. Le tout, c'est d'en parler, d'avoir des gens à qui en parler.
C'est ce pourquoi on t'avait fait venir en classe, pour prévenir un petit peu des dangers.
Non, en l'occurrence, c'était pas sur cet aspect-là que j'intervenais, mais c'est un aspect très important. Et voilà, moi, alors. J'y suis, moi, en tant que père, très attentif. Ouais.
Mais de toute façon, au collège, tous les ans, ils ont une sorte de petite conférence là-dessus, sur les dangers, le danger d'une mauvaise utilisation d'Internet. Et tous les ans, chaque classe a son...
Je l'ignorais.
Voilà. Mais ça fait partie des programmes du collège.
Il y a des intervenants spécifiques. En fait, c'est en général pas les enseignants des matières, mais il y a un certain nombre d'intervenants qui font le tour des établissements et qui interviennent sur ces sujets-là.
De la CNIL, notamment.
Il y a de la CNIL, il y a
des intervenants de la CNIL...
Voilà. Non mais c'est intéressant, puis, parce que c'est comme tout. Hein,
oui, c'est ça. Et en tout cas, moi, mes enfants, à chaque fois, ils revenaient à un moment, on nous a expliqué que... Mais en fait, il faut des fois des discours peut-être choquants pour eux, pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience.
Le juste milieu entre la diabolisation, comme on peut l'avoir tant en temps dans les médias, en disant c'est le mal suprême,
mais c'est surtout
un peu à la Morano qui
c'est
va
surtout
te dire
que dans ces conférences-là, c'est amené, voyez, vous avez fait ça, vous n'avez pas forcément pensé à mal et tout. On dit, voilà, vous êtes comme tous les jeunes, vous vouliez partager telle chose, mais voilà ce qui se passe derrière. Et là, ils font, boum, c'est un grand recul, mais c'est un adulte qui fait partie du truc, qui connaît le système des réseaux sociaux.
C'est des cas concrets, en fait, qui sont importants à montrer.
Oui, moi, en tout cas, j'ai un petit jeune qui pourrait faire part de son expérience sur les 4 fois où il a eu un intervenant qui est venu à son collège.
Il déteste son père.
expliquer les dangers d'Internet.
Viens dire.
Il veut pas dire. Ah, il est timide.
Mais il a raison de protéger sa vie privée.
Alors, tu vois, donc il a tout compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà.
Là où il nous expliquait tout à l'heure qu'en fait, ce qui était dommage, c'est que l'intervenant qui était venu, voilà, il a eu le même type d'intervention avec MSN, avec quelque chose qui n'était pas du tout mis à jour, un logiciel que personne n'utilisait. Donc du coup, tu me corriges si je me trompe.
Il pardonne pas ça.
Et là c'est réglé, c'est-à-dire qu'en gros c'était le même truc, c'était pas mis à jour, et du coup les jeunes sont restés.
C'est comme quand Sébastien se pointe, il parle de caramel, quoi.
D'où l'importance.
Non mais c'est ça, c'est d'être à jour.
D'où l'importance pour l'intervenant venir d'être quand même bien dans le.
Mais cela étant, c'est une difficulté. Tu
perds en crédibilité.
Tu l'évoquais, Freddy, c'est le besoin que t'as d'être toujours à jour pour pas passer pour un sénile ou un mec qui radote sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, quoi.
Et puis surtout, on peut pas faire semblant. Donc à un moment, faut pas faire semblant de savoir. C'est-à-dire que c'est normal de se faire dépasser, de reprendre. Enfin voilà, on est dépassé du jour au lendemain et on reprend le jour d'après. Donc c'est un domaine dans lequel d'un jour à l'autre, on n'est plus celui qui sait, mais celui qui apprend, et ainsi de suite. Donc c'est et ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde.
J'ai pas vu de publication d'Upmash, c'est comme ça. C'est
oui.
De ta part, du coup, c'est normal. T'as essayé. Normalement, t'as essayé.
Le jour où l'appli est sortie, j'intervenais devant des stagiaires, donc j'ai pas pu jouer avec. Voilà, et le lendemain, c'était déjà has-been, donc je vais pas me ridiculiser.
Mais parce que quand tu sais, tu essaies tout ce qui sort.
Alors, par exemple, j'ai pas de compte sur Mythique.
D'accord.
Qui est un réseau social.
Il est sur Attractive World.
Parce qu'il est exigeant.
Parce que je suis exigeant.
Attends, on
a un, petit
on a un niveau social où on l'a pas.
Mais ce qui est drôle, Sébastien dit que, qu'il est en formation avec des stagiaires, et régulièrement, sur Twitter, on voit apparaître cette petite phrase, enfin moi, Nico, tu dois l'avoir aussi, dites coucou aux stagiaires, parce qu'il leur apprend le fonctionnement de Twitter, et donc on répond tous, coucou les stagiaires. Et ça montre aussi peut-être la réactivité de l'outil. Finalement, ça pour toi, il y a un intérêt.
Il y a ça qui montre la réactivité de l'outil et le fait que instantanément, en général, je perds entre 5 et 10 followers.
Alors toi, en tant que journaliste, Twitter, tu en penses quoi en tant que
journaliste,
oui, en tant que journaliste, mais aussi dans le cadre de l'utilisation.
Donc en tant que journaliste.
Non, pas forcément. En fait, pas forcément les deux. C'est-à-dire que entre, par exemple, une Valérie Trierweiler qui va s'épancher via Twitter, entre un journaliste qui peut effectivement suivre l'info.
Et politique aussi. Qui balance
ce côté instantanéité, tu vois, des fois sans prise de recul aucune. Tu en as quel Tu vois ça comment?
Pour moi, Twitter, c'est le premier usage, c'est une source. Donc, c'est du bruit. Donc, ça se filtre, ça se trie, ça se vérifie. C'est une source. Donc, c'est une magnifique, c'est un magnifique endroit où il y a plein de choses qui circulent. Donc, c'est le lieu aujourd'hui où une information publique est diffusée en premier. Quand il se passe quelque chose sur la voie publique, c'est d'abord sur Twitter, et quand il se passe quelque chose devant des gens, c'est d'abord sur Twitter. C'est là qu'il y a les choses en premier. Donc c'est une source énorme. On va plus vite avec Twitter aujourd'hui qu'on peut aller avec l'AFP ou même en local en faisant la tournée de la police et des pompiers deux fois par jour. Donc Twitter pour le journaliste, c'est d'abord ça. Après, c'est un lieu de promotion de sa propre image, et c'est à ça que jouent beaucoup de gens, donc y compris les journalistes, les politiques, les marques au sens large. Je te montre ce que je sais, ce que je fais. Voilà, donc.
Exemple, Eno, la chasseur à stack.
Oui, avec ses 19 abonnés.
Ben 20 parce que je me suis abonné tout à l'heure.
Voilà. Donc, ça sert à ça. Et ce qui est intéressant sur Twitter de ce point de vue-là, c'est qu'on a effectivement un endroit où les leaders d'opinion sont présents. Donc, tous les journalistes dignes de ce nom sont sur Twitter. Tous les preneurs de décision aujourd'hui sont sur Twitter. Les décideurs d'entreprise sont sur Twitter. Je crois que c'est sur Twitter une personne sur cinq est décisionnaire en entreprise. Voilà, on est sur ce type de créneau là. Donc c'est intéressant de s'y montrer, de s'y faire voir pour se faire connaître. Mais on n'a pas le côté masse de Facebook. Par contre, on a un bon démarrage qualitatif.
Mais ce que voulait dire Ludo, c'était le côté pas trop réfléchi de certaines publications, et le côté du coup voilà, j'ai balancé ça et de dire après j'aurais peut-être pas dû, effectivement c'était pas calculé.
En même temps, c'est grande gueule, il y en a plein qui ont dit des conneries en interview parce qu'ils sont montés, enfin tu regardais les émissions de Polak où les gens montaient au créneau, ça partait au quart de tour.
Ouais, mais c'est pas la même chose, hein, quand même.
Non, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, ceux qui font ça sur Twitter, excuse-moi, mais Trierweiler, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais
il y en a plein d'exemples, en fait.
Oui.
Non, mais quand je dis ça, c'est des gens, enfin bref. Moi, ils sont pas intelligents, mais
oh putain, ça balance.
Ce qui est intéressant sur Twitter, c'est qu'il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire que j'ai accès, moi, directement à ces gens-là. Ces gens-là s'adressent directement à moi. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait forcément du filtre. Comme il n'y a plus de filtre, il y a des conneries, en termes stratégiques de communication, oui. Forcément. Mm-hmm. Les filtres servent au moins, normalement, à éviter les conneries. Normalement. Ça suffit pas toujours, ou parfois ça en rajoute. Mais donc on a plus ça. Donc forcément, il y a des trucs qui sortent qui c'était. Il y a peut-être des manières plus intelligentes de le faire que comme ça. Et puis parfois sortir un truc énorme qui va être repris partout a au moins le mérite de faire parler de vous.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, quand tu parles de reprise de l'information, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution du métier du journalisme, de journaliste, ou de la déontologie, c'est-à-dire par rapport à la vérification de l'information? Est-ce que tu penses qu'Internet, ça, ça a pu générer de la paresse, entre guillemets, ou non. Pour toi, tu considères que le bon journaliste continue à vérifier ses sources, à recouper, plutôt que de...
Alors, le bon journaliste, c'est celui qui vérifie ses sources et qui recoupe, donc il n'a pas à continuer. Et puis, je crois que ça n'a pas mis de paresse, loin de là. Et ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire que, avant, j'écrivais une bêtise dans le journal. Moi, j'avais écrit mon truc. Il se passait rien. Là, j'écris une bêtise sur Internet. Dans un quart de seconde, je suis dégommé.
D'accord. Vous savez pas ce qu'il a dit, hein, Sébastien Maillon, la loose.
Exactement. Non, mais c'est intéressant que tu vois, d'accord.
Voilà. Donc, je pense que c'est plus un facteur de qualité qu'autre chose.
Oui, t'as intérêt d'avant de balancer le truc.
Et puis c'est stimulant aussi. Enfin, tu reçois sans cesse des informations. Après, tu parlais de tri tout à l'heure. Oui, c'est à toi de faire le tri aussi et d'aller
vérifier.
Pas tout
prendre pour argent comptant.
Et voilà. Ouais, exactement. Mm-hmm. Faut pas être naïf non plus. Mais en tout cas, c'est une mine d'or quoi pour un journaliste. C'est une mine d'or vraiment.
Ou même un blogueur. Sans être professionnel.
Oui, bien sûr.
Quand tu t'intéresses aux choses, c'est toujours intéressant de suivre des gens qui aussi font le travail des fois de filtre pour toi quand t'as pas le temps de le faire. Tu suis des journalistes qui font le filtre, bah ça te permet d'éviter de traiter l'info, etc. Quoi. En fait, je faisais référence, alors j'ai pas d'exemple concret en tête, mais tu sais, à des rumeurs qui ont pu être reprises à des moments par certains journalistes, pris telles quelles, et hop, derrière, rebalancées sur la toile. Et c'est vrai que là, tu as raison, en fait, la sanction, elle tombe derrière.
La sanction est méchante. Le gros problème que ça pose, c'est un problème de vitesse. C'est-à-dire que là, pour le coup.
Une info chasse l'autre, effectivement.
Pour le coup, on. Vraie concurrence de médias plus nombreux à vouloir être les premiers sur l'info et à aller plus vite que l'autre, qui pousse certains pour aller plus vite à s'affranchir d'une ou deux vérifications qui auraient permis de ne pas dire de bêtises.
J'ai un exemple assez récent, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire en Espagne, une histoire qui se passe en Espagne, de la femme qui fait son enterrement de vie de jeune fille,
oui,
avec et qui 9 mois plus tard accouche d'un enfant atteint de nanisme. Et ça a circulé, tout le monde a fait tourner cette info là, qui est notamment sur Twitter. Et puis fausse. Après, on s'aperçoit que ah ben non, c'était pas vérifié. Du coup, voilà, il y a cette tentation de faire circuler. C'est ce que dit Sébastien. Ouais.
Et ça, cette histoire-là a été reprise
par des médias dignes de ce nom,
des hebdomadaires nationaux, etc. Or, ce n'était manifestement pas possible.
C'est pour ça que j'aime bien le Gorafi, moi. qui recoupe toutes ces infos, le Gorafi.
Elles ont beaucoup de mal à s'assurer que leur information est bien fausse.
Ouais, c'est ça, en fait.
Parfois,
c'est le problème. Et que des gens ne le prennent pas pour argent comptant, comme Christine Boutin, qui cite sans aucun problème à la télé, le Gorafi le dit, eux-mêmes le disent. C'est génial. Bon, ben merci Sébastien pour ces éclaircissements, tant sur ton travail d'écrivain, d'auto-édition, et puis de travail de veille journalistique, technologique, et tout ce qui va bien, réseaux sociaux. Je pense que Marius va s'inscrire demain sur Twitter.
Ouais. Mais j'ai une grosse envie d'un seul coup. Là.
Et moi, je vais acheter le livre.
Oui, bah écoute.
Passer à la classe de CM2.
Il y aura le lien qui sera sur.
Et je vais créer un truc avec les écoles.
Sur le billet du blog.
Et on invitera Sébastien pour qu'il nous en parle.
Ah bah écoute, on vous laissera.
Ça sera pas venu pour rien.
Je vais visiter l'heure.
Super, en plus, c'est pas le plus mot. La vallée de l'Andel, il m'a dit. Il connaît soi, donc.
Bon.
On parle encore le vieux François là-bas.
C'est pas foi. De toute façon, on va rester un peu avec toi puisque je crois que Freddy nous prépare un quiz en lien
avec. C'est quoi le thème?
Merci Sébastien.
Ça va être la surprise. Eh ben merci Sébastien.
Je peux rester jouer au quiz.
Ah bah oui.
Tu peux rester jusqu'à ce que t'en aies marre en fait.
D'autant que tu vas pouvoir donner les réponses si eux ne les trouvent pas.
Ah non.
On passe à la suite. C'est à toi.
Un petit quiz.
Ouais, fais vite ton
quiz. Vous êtes prêts? Peut-être, Nico, rappelle tu pourrais
scores.
Nous rappeler les
ce
scores.
Ce n'est pas nécessaire.
Je connais Freddy. En tête, Mister Lulu avec 14 points. Suis.
Il est pas en forme aujourd'hui. Je le sens pas.
Super forme aujourd'hui.
Ah, c'est pas toi, Nico.
Non. Ou alors j'ai dû louper un épisode.
Si, c'est toi, tu t'es raté là.
Non, je crois pas. Moi j'ai 9 points, je suis derrière toi, Didouille.
C'est ses parents qui l'ont raté.
Puis Starlet avec 6 points, Christophe 5.
Et Marius, 3 points.
Et Christophe, il va y dire parce qu'il n'est pas là ce soir.
J'ai 3 points.
Et l'écart va se creuser encore.
Est-ce que
encore.
Christophe peut jouer par téléphone
en direct.
Hugo délire.
Il peut poster sur Google Plus ses réponses.
Tout le tout. Oh merde, il y a un
C'était génial ça.
J'adore la Hugo délire.
Technologiquement parlant, c'était incroyable.
Tu sais que ça existe sur les smartphones, Hugo délire.
Non.
Ah ouais, non, je savais pas.
Si, si.
Hugo délire, c'était quoi?
C'était quoi ça,
anglais, non, c'est pas ça.
C'était Karen Sherrill.
Dans un chariot dans des mines de.
J'ai jamais vu ça.
Je connais pas. C'était
trop vieux.
FR3 à l'époque, Karen Sherrill qui présentait.
Karen Sherrill,
tu jouais,
refaite,
tu jouais
hein,
de chez
Karen
toi.
Karen Sherrill refaite.
À l'époque, non.
Alors, avec si. Le clavier de ton téléphone,
ah ouais.
Qui était pas encore.
Ouais, j'ai pas fait.
Moi, c'était les impulsions plus, analogiques.
Ouais, c'est ça. Et tu guidais le personnage.
Hugo des impulsions anal quoi.
Bon, on y va, un petit quiz.
Allez,
un petit quiz en rapport avec l'univers de notre invité. Si vous avez travaillé un petit peu.
Karen Sherrill.
Si vous n'avez pas travaillé Karen Sherrill, mais notre invité.
Ah, j'ai déjà vu ça.
Vous allez pouvoir répondre facilement à ces quelques questions.
Ah, ça va être dur,
peut-être on commence avec la plus compliquée.
Oh là,
vas-y, c'est pour moi ça. Ça.
Allez, qu'est-ce qu'un dipodidé?
Un dipo.
Ouais, je dis pas avec l'accent. Hein. C'est
un dipod ID.
Dipodidé.
C'est un
entrepôt avec plein d'idées.
Non. Allez-y, posez quelques questions.
Dipo.
C'est un site internet avec
c'est
plein d'idées. Un dépôt d'idées.
Non. J'ai dit que je disais pas avec l'accent.
Donc c'est
pas un dipo d'idées.
Est-ce que c'est un animal préhistorique?
Alors, tu te rapproches.
C'est pas vrai.
C'est pas ça, tu connais la réponse, évidemment.
Non.
C'est un rastak préhistorique.
C'est un animal.
Alors, je l'accorde à Nico, c'est le rastak.
Ah bon?
Plus exactement, il appartient à une famille de rongeurs qui comprend les animaux appelés selon les espèces gerboises.
On parlait c'est moi qui l'ai dit, gerboise.
Oui, il y a 2 heures, tu l'as dit.
Ou rat sauteur, Sébastien nous l'a dit tout à l'heure, le rat sauteur, car leurs membres postérieurs très longs leur permettent de faire des sauts remarquables.
Ouais, d'où dipodidé.
Les dipodidés.
D'où bah, je
d'accord, le point à Nico.
Merci, Freddy, tu te
ressembles. On peut dire qu'un rastak est un dipodidé, Sébastien.
Oui, on peut le dire.
En même temps, j'ai pris cette info sur ton blog.
Ah, mais mince. Ah oui, pardon. Oh, le Kinder.
Comme Canidé, là.
Non, Servidé, machin. Oui, mais moi, j'étais pas du tout là-dedans.
T'as pris ça pour un deux mots, non?
Ah oui, non, mais oui, voilà.
Est-ce que le diplo de cul, c'est parti des diplos d'idées ou...
Je sais pas, Sébastien, tu as peut-être
pas du tout.
D'accord, bon.
À peu de choses près, mais pas trop.
On y va, question suivante.
Allez, notre question.
Cette jeune chanteuse avait fait le buzz en janvier 2009.
Stéphanie de Monaco.
Vous vous souvenez simplement de son nom.
En janvier 2009.
Cette jeune chanteuse avait fait le buzz en janvier 2009.
C'est Papillon de lumière.
Non.
C'est pour buzz que
mais
tu penses à
ça.
Mais putain, laissez-le finir sa question, merde.
Ah, ça y est, elle était finie.
Non. Vous vous souvenez certainement de son nom. Et on parle d'elle à nouveau ces jours-ci dans les médias. C'est pour ça que je
oui, c'est ça,
question.
Cindy Sanders.
Non. Effectivement, on en parle à nouveau, mais c'était pas elle.
C'est pas Cindy Sanders. En 2009. Le buzz
oui,
sur
Internet.
On en
2009.
Parle, on en parle pourquoi.
Tout le monde
pour
l'a
une nouvelle
écouté.
Sortie.
Tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a regardé.
On en parle pour une nouvelle sortie d'album.
On peut dire ça, ouais.
C'est vrai.
Elle fait des reprises.
Elle avait quel âge?
Non,
en 2009. Elle avait quel âge en 2009?
Oh, elle était toute jeune.
Ah, mais oui, mais c'est elle.
Mais oui.
Ah, bah oui, forcément. Bah oui,
on se prenait la taupe.
Non.
C'est comment elle s'appelle? Mais si, comment elle s'appelle, là, celle qui chante le sud, là, machin. J'y reviens, là, le sud, tout ça, là, ta mère.
Chimène Badi.
Chimène Badi.
C'est pas ça, non.
Ah, merde.
Elle a fait le buzz sur le net, vraiment. Ça sortait de nulle part. Et...
Ah, mais oui.
Charlie, Ray, je sais pas quoi.
Ayo.
Non.
Non.
Ils sont loin.
Tu l'as pris sur ma page Facebook, celui-là.
Oui,
c'est
mais pas que je l'avais
filmé par ses parents.
C'est du rap, là, dans ça toute seule.
Oui, c'est ça.
Marilyn du 31 ou je sais pas quoi.
Alors, c'est...
Oh, c'est... du 38. Machine du 38. Du 69.
Ah,
non, c'est du 38.
Il faut la réponse complète.
Amandine du 38.
Amandine du 38. Le point pour Nico.
Marilyn du 31.
Marilyn du 31.
Et pourquoi elle revient?
Marilyn Monroe du 31 décembre.
Elle revient. Donc, c'est Amandine du 38, alias Amandine Rollin, de son vrai nom, nous renseigne le site lesinrock.com, qui nous parle à nouveau d'Amandine. Sébastien l'a repris également sur son blog. Alias Missing. Missing.
Ah ouais, Missing.
Son, son nouveau pseudo. Avec une chanson qui s'appelle Swag Attitude.
Swag.
Bon, elle finira en séquence boss générique.
Ça, ouais, ça vaut ça.
Ça
vaut
ça.
Je me suis infligé une demi-chanson. Et après, c'est plus possible.
T'as déjà écouté Crystal Melody?
Non, mais je sens que ça va arriver.
Je vous conseille. Enfin, je vous la conseille.
En tout cas, le point pour Nico, bravo. Amandine du 38.
Attends,
ah,
bah,
ah bah non,
c'est pas Marilyn du 31.
Si j'avais pas dit ça, il l'aurait pas trouvé.
Bah non, mais...
peut-être ou peut-être.
Bande d'enfoirés.
On poursuit, troisième question.
Ça continue comme ça, moi je te dis tout de suite, Nico, je quitte cette table.
Eh ben personne te retient.
Ok. Ambiance.
Allez. Alors, quels sont... Alors là, Didou, il va être déçu parce qu'il s'agit d'une question réseaux sociaux.
Oh.
Quelles sont les trois personnalités aussi, hein. les plus suivies sur Twitter?
Nabila.
Non, pas du tout. Déjà, ça fait mal aux oreilles à tout le monde.
Le pape. C'est toi qui viens de hurler.
Non, c'est pas le pape.
Ah, c'est nous deux.
Les trois personnalités. Les
Kim Kardashian.
Bill Gates.
Non, non.
Katy Perry.
Ouais, il y avait Katy Perry parce qu'il y a eu soufflage.
Non mais il y a
eu soufflage. T'arrives même pas à remettre ton casque.
Katy Perry, et je vais vous dire, Katy Perry, j'adore. C'est ça, tu nous le dis à tous les épisodes. Donc.
Hey, c'est une fille qui a un sens de l'humour. J'adore.
Je ne valide pas ce point car il y a eu soufflage.
Et il en reste deux.
Kim Kardashian.
Si.
Kim Kardashian. Non.
Mais Kardashian, c'est sur Instagram plutôt, je crois.
Je ne sais pas.
Non, Katy Perry, elle est trop géniale.
Katy Perry est effectivement la première des personnalités suivies sur Twitter.
J'adore cette fille. Tu veux pas me faire ça?
Jay-Z.
Beyoncé. Beyoncé.
Alors, Jay-Z. Nico te dirait qu'on dit GZ.
C'est français ou
Je dis non. Et
il y a Rihanna.
Est-ce que c'est français?
Non, c'est pas français. Non, non.
Lady Gaga.
Elle est quatrième. C'est dommage, on demande les trois premiers.
Madonna. Kanye West.
Non, un autre qui a régressé.
Mm-hmm. Un indice.
Un indice chez vous.
Justin Timberlake.
Justin Bieber.
Justin Bieber, yeah. C'est le numéro 2.
Putain, j'ai
One Direction,
hein.
Non, je sais pas.
Non. Justin Bieber. Tu vois quand tu triches pas.
Il a acheté un avion à 60 millions d'euros, Pépère. Voilà. Et pour son Noël, il se fait
Maria
un
Carré.
Non, numéro 3, c'est.
Mais dis-nous, tes références à date.
C'est très simple, hein. C'est...
Numéro 3.
Carlos.
Miley
Cyrus.
Non.
C'est ça aurait pu être pas mal, ça, Miley Cyrus.
Non, non, c'est pas un chanteur. C'est
une chanteuse.
Bill Gates. C'est un acteur ou une actrice.
Un acteur.
Barack Obama.
Barack Obama. Mm. Ouais. Point pour Nico.
C'est Barack Obama.
Donc ce qui nous fait dans l'ordre Katy Perry. Le point qui ne compte pas.
Ah bah non, j'aime bien Katy Perry.
Justin Bieber, le point qui compte.
Yeah.
Et Barack Obama. Et Lady Gaga arrive effectivement quatrième, mais je crois qu'elle a dégringolé un petit peu dans le.
Et Marilyn, tu es 31, elle est Bah c'est comme moi avec Justin Timberlake qui m'a tout pris Justin Bieber.
Non, j'ai rien pris. Attends, ça n'a rien à voir. J'ai Justin Bieber.
C'est ben, si j'avais pas suggéré Justin,
j'aurais dit Justin Bieber.
Ils vont encore s'engueuler.
C'est une séquence qui se prête
c'est incroyable.
À des conflits.
Regarde ça, c'est
on a échappé à Justin Bieber.
Attends, tu ne crois pas si bien dire.
Moi, je suis dernier.
Ils ne révéleront rien ici.
Oui, exactement.
On t'en dira.
On sait des choses sur Justin Bridou.
Son cousin, en fait.
Vas-y, une question.
Attention, c'est une question à tiroir. C'est-à-dire qu'il va falloir me donner 10 réponses.
10 Oh putain,
donc
il y a 10 points.
Points à prendre.
Oh la vache. Oh putain. Marius, tu peux passer en tête presque. Non, tu resterais derrière Ludo.
D'après Eddy Livre, quels sont les 10 livres les plus vendus au monde?
Harry Potter.
La Bible.
La Bible.
50 nuances degrés.
Non. Il y a déjà 2 points. Hein,
Da Vinci Code.
Da Vinci Code, ça en fait 3.
Attends. Il y en a 2 pour Ludo.
Ouais.
Attends. Il faut que j'en trouve un.
Le Coran.
Non.
Les fleurs du mal?
Non.
La condition humaine.
Le Seigneur des Anneaux.
Game of Thrones.
Le Seigneur des Anneaux.
Guerre épée. Guerre épée.
Non.
Le Hobbit?
Non.
Attends, ça va trouver.
Tais-toi, quand tu fais mieux, tu me gênes.
On est à combien là?
On en a trouvé. Donc la Bible, c'est le premier. Hein.
Oui.
J'ai pas noté les chiffres, mais c'est des centaines de millions.
Et Noé Rastak.
On a eu Harry Potter.
Ouais.
On a eu Le Seigneur des Anneaux, on a eu Da Vinci Code, et c'est tout.
50 nuances degrés.
Non,
je l'ai dit, vas-y, c'est
dedans,
bon, voilà.
Non, il est pas dedans.
Pique pas les réponses, là.
De tous les temps, hein, c'est pas...
De tous les temps.
C'est relativement récent,
autant 50 nuances degrés. Le vin.
Non.
Ah, t'es en centre d'Arby.
Docteur Jivago.
Non.
Non, Laurence Arabie. Arabie. Laurence Arabie, c'est ça, je
t'avais dit quoi?
Terence Randarby. je sais pas moi.
Attends, ça va venir.
Est-ce qu'il y a des Misérables?
Non, il n'y a pas de Victor Hugo dedans.
Ah bon?
Il n'y a pas de français
ni
dedans.
Ni de Zola, ni de.
Il n'y a pas de français alors.
Est-ce qu'il y a un français?
Tristan et Iseux.
Les oiseaux se cachent pour mourir.
Non, il n'y a pas de français.
C'est une série ça.
Si, il y a eu un livre, attends.
Dune de Frank Herbert.
Non, je pense pas.
Non, Dune.
Avec Sting.
C'est quand même.
Tu vois du
ça
français
mériterait, mais.
Ah oui, pardon, il y a un français.
Qu'on connaît?
Oui, que tout le monde connaît.
Misérable et Victor Hugo.
On l'a dit pas de Victor Hugo.
Non,
Guillaume Musso.
Le rouge et le noir. Le rouge et le noir.
Oui, c'est
non,
ça, non.
Non, non.
C'est pas Guillaume Musso, ça va être l'autre. Comment il s'appelle?
Marc Lévy.
Non, je parle de vente de tous les temps. Hein. C'est
de tous les temps.
Plutôt des classiques.
Ouais, c'est
L'écume
ça.
Des jours.
Non. Oh, même si on a eu, avec Da Vinci Code, des ouvrages relativement récents, c'est vrai.
Ouais, exact. Attends, ça va venir. L'histoire sans fin?
de Michael Ende?
Non. Non. Non.
Allez, prochaine question.
Ça va être chaud.
Alors, je donne les indices maintenant
non,
ou pas?
Bah, ah non, attends. Arrête, on va trouver.
Vas-y, vas-y. Marius, on est là toute la nuit sinon.
Alors, il y en a un qui nous vient de Chine.
Ah, Mao, le petit livre rouge.
Le petit livre rouge.
Sun Tzu, là.
Non, Mao, le petit livre rouge.
Oui, mais il y en a aussi, peut-être Sun Tzu,
c'est l'Empire des Sens.
Non, c'était le petit livre rouge. Ensuite.
Le capital. Le capital de Karl Marx, oui.
Non, c'est pas du tout.
Kamasutra.
Donc, la Bible, le petit livre. Là, je vous les donne dans l'ordre. La Bible, le petit livre rouge. Harry Potter, on l'a dit. Ensuite, vous n'avez pas dit, mais c'est pas évident à trouver.
Kamasutra, non.
C'est peut-être pas d'ailleurs l'œuvre la plus connue de.
Un indice, peut-être.
De cet auteur.
Bandage et fétichisme.
C'est Marius, il y allait tous les soirs.
Ah ouais, on reviendra. Je vais vous parler du français, tiens.
Vas-y,
l'adaptation cinématographique sort en 2015.
Ah, je le lis.
Le petit prince.
Le petit prince.
Ouais,
le petit prince, putain. Merde. Putain, ça j'aurais trouvé. Non, le petit prince, ça j'aurais trouvé. Ça.
J'égalise presque.
Ça y est.
Ensuite, ça a été dit. Alors ça, c'est relativement, c'est peut-être le plus récent de tous les ouvrages de la liste.
Vas-y, dis.
À coup sûr, même.
Ouais.
Oui, c'est même sûr. Quelque chose de très récent qui a connu un fort succès.
Prends la vache, tu nous aides vachement.
Oui, je veux dire.
Ah bah oui.
Le dernier Mondiano.
Non.
Mais Mario de Latin.
Plus jeune. Quelle nationalité?
Plus jeune le lectorat. Plus jeune.
C'est American, hein, on peut dire.
Attends, c'est américain et jeune.
Ouais.
Ah oui, mais je... oui, Hunger Games.
Terry Pratchett.
Hunger Games, ouais.
Non, mais on
adapté
va y
d'un
arriver,
film. Hein. Enfin,
on va
y un film qui va être adapté, c'est ça?
Ça a déjà été adapté, oui. Grand succès cinéma.
Millennium.
Non.
Ah, Star Wars. Ah oui, mais Twilight, Divergence.
Twilight.
Ah putain,
Nicolas dit.
Ah
bah, bien content, toi.
Mais donne-lui un coup de pied sous la table.
Il est trop loin.
Ensuite, Da Vinci Code, ça a été dit.
C'est bon, t'as plein de points, arrête de pleurer.
Alors, ça, c'est assez surprenant, je connaissais pas, tu connaissais, non?
Non, mais c'est vrai qu'il y a des rayons aux États-Unis entiers de trucs de ce genre.
Vas-y, je vais trouver, moi, ça.
Ah, de Douglas Kennedy?
Non, je vais vous donner l'auteur, peut-être vous connaissez le titre du coup, il s'appelle Napoléon Hill.
Non.
Ah ouais, attends, je l'ai.
T'es allé aux États-Unis, toi, il y a pas longtemps?
Ça fait une sacrée avance sur les autres.
Et alors, en anglais, tu dirais comment?
L'auteur s'appelle Napoléon Hill.
Oui. Je pense que je vais vous le donner directement.
Napoléon des îles.
Voilà, moi je suis un peu tout.
L'ouvrage s'appelle Réfléchissez et devenez riche.
Ah putain, je l'avais.
Ah ouais, d'accord.
C'est assez surprenant. Ça fait partie des 10 livres.
Ah mais les Américains, ils aiment bien tous les trucs de comme ça.
Ouais.
J'avais trouvé deux quand même.
Et puis le dernier, c'est un. Peut-être tout le monde l'a lu. Enfin moi, en tout cas, je l'avais lu celui-ci, qui est un auteur qui écrit en portugais.
L'alchimiste.
L'alchimiste.
Ah putain.
J'ai failli dire tout à l'heure, mais je me suis dit, c'est pas possible.
Je donne le point à Nicolas, c'est le dixième de la liste.
Si, ouais. Paulo Coelho, c'est celui
qui manquait.
Et donc, il nous manque.
Il en manque un encore.
Qu'est-ce qu'on peut, on peut donner un autre.
Je peux t'appeler 3 points.
Disons que tu peux peut-être donner le point s'il trouve l'auteur.
Ah, c'est à ce point-là.
Ils trouveront pas le titre.
C'est quelques sûr. Indices.
Alors,
pour qui nous prend-il?
Eh ben, on va vérifier tout de suite. Je vous donne le titre. Le Comte des Deux Cités.
Ah oui.
Le comte des deux cités.
Le comte.
Le marquis de Sade.
C'est un auteur américain, français.
Il a
déjà eu en français. On l'a déjà eu, c'était Saint-Ex.
Il est anglais, si je ne m'abuse.
Arthur Conan Doyle.
Arthur Lloyd.
C'est un le comte des deux cités.
Ouais.
Crichton.
C-O-M-T-E.
Crichton.
Oui.
Michael Crichton.
Non, c'est peut-être pas ce qu'on connaît le plus. Enfin, c'est certainement pas
Oscar
autour
Wilde.
De cette table ce qu'on
Phileas
connaît
Lloyd.
Le plus.
C'est vieux. C'est un vieux.
C'est pas contemporain en tout cas.
Il est mort.
Bram Stoker.
Il est connu quand même.
Shakespeare. Ah
oui. Tout le monde connaît.
Anthony Preston.
19e siècle ou 20e siècle?
Bernard Lister.
Je dirais.
Donne-nous le nom, je vais te dire.
Francis Huster.
Je dirais 19e, pardon.
19e plutôt.
Pas 20e. Hein.
Jeremy Foster.
C'est un article.
Oscar Wilde.
Twain.
Non.
Ouais.
Non, Twain, Dickens.
Oui, Charles Dickens.
Ah oui.
Point pour Didouille.
Le quoi? Le
comte des deux cités.
Je ne la connaissais pas.
Voilà.
Charles Dickens.
Qui est classé quatrième de la liste des livres les plus vendus au monde de tous les temps.
Étonnant.
Moi j'en ai eu un, mais qu'on m'a volé.
T'es encore sur Marilyn du 31?
Non, je suis sur le Petit Prince.
Ah pardon. Bien, pourquoi question suivante.
Parce que j'ai dit en même temps.
Ah. Finn O'Gaster.
Actuellement sur Ulule. Le site participatif qu'a utilisé notre invité pour Eno, la chasse au Rastak, un certain Nicolas, tente de récolter des fonds pour restaurer
j'y arrive pas
pour restaurer la trilogie marseillaise de son grand-père. De quelle trilogie
s'agit-il? Marseille Pagnol, le château de ma mère.
Fanny,
Marie,
le boulanger.
Plus belle la vie.
Fanny, un point.
Hugolin, Marius. Marius. Ah bah Fanny, Marius et puis
la femme du boulanger.
Le château de ma mère.
Non, c'est l'autre, c'est le troisième.
Oui, c'est ça.
Fanny, Marius, putain.
Vas-y, je laisse faire.
Attends.
Je suis Clément, je laisse faire.
Prends ton point.
Non.
Marius, Fanny. Le boulanger, merde.
La femme du boulanger.
Attends.
Marius, le boulanger.
Femme du boulanger.
Non, c'est pas Hugolin.
Fanny.
Jean Florette.
Ouh, bijou, doux, bijou.
Dans Camille au soleil.
Putain, je l'ai sur le bout de la langue.
Si on était dans une course au trot, là, elle aurait fauté. Serait parti au galop.
Mais oui, je l'ai.
Je l'ai sur le bout de la langue.
Le bout de la langue, elle a la tête entre les cuisses, elle est con. Des fois, t'en veux des conneries. Là.
En fait, quand tu avais. Pour la trilogie, l'autre, c'était Château de ma mère, Château de mon père et Le temps des secrets. Que t'es...
Mais c'est pas ça la question.
Manon des sources.
Mais non, c'est le grand qui joue.
Non.
Ah, tu me fends le cœur.
Mais non, oui.
Ah oui, un coup, je sais.
Ah oui, Rému.
Bon alors, je vais être obligé de donner un indice, c'est ça?
Ouais, Fanny,
l'initiale.
Attention, ça sera dans une seconde, avant que tu le dises. Parce que ça va bramer dans les micros dans deux secondes. Alors, je préviens.
L'initiale.
Baissez vos trucs.
Oui. Tu suggères un indice?
Ouais.
Vas-y.
En même temps, t'as le droit de jouer normalement, toi.
Mais non, mais oui, il regarde.
Donc non. Mais tourne-toi vers moi, Freddy, si tu veux pas qu'il voit.
J'ai pas spécialement beaucoup
de temps. Vas-y, un indice.
À peu de choses près, il a failli donner son nom à une salade.
César.
Voilà, je connaissais pas. Arriver à ce
c'était
niveau
César. Mais oui, non, mais je l'avais.
Genre, toute mon enfant, j'étais bercé par ça.
Non, mais elle a trouvé les deux premiers, c'est pour Didoui.
Niçoise.
Elle a trouvé
la piémontaise.
C'est moi qui ai trouvé les deux premiers.
Ah oui.
Bah oui.
Donc, oui. 2 points pour Ludo, 1 point pour Didouille.
Non, je le laisse à Starlet.
Je suis carrément à la bourre.
Ouais, elle est à la bourre. Oui, tu veux un chocolat? Non, je les aime pas. Ceux-là, c'est une chou-marque.
Oh. Alors, la question suivante,
c'est moi qui les ai ramenés.
Ah, c'est pour ça.
Je fais une bonne salade de piémontaise, toi.
Oui, c'est César.
Non, j'attendais la fin du sketch.
Ce qui m'étue là, c'est que toute mon enfance, j'étais bercé par ça, César, Marius, machin, tout le temps, et rien, le trou noir.
Donc tu retiens rien en fait.
Ah rien.
On y va, vous êtes prêts?
Vas-y, fais péter.
Tu me fais le cœur.
J'ai pioché une citation.
Ça, c'est bon temps, moi, ça.
Dans l'ouvrage de notre invité, le meilleur des vannes. Une qui me plaît beaucoup, qui me fait.
Si c'est vraiment Freddy, non?
Ah non, j'aurais aimé qu'elle soit de moi, mais non.
Fais péter.
Je vous demande de qui est. Et de si. Oh là.
De
qui est cette citation?
Vas-y.
Les deux choses que je reproche à Balladur, c'est son menton.
Raffarin.
Jean-Yann.
Ah, c'est drôle.
Non, ça aurait pu.
J'ai compris en retard, mais. Des proches.
Il était mort. Chirac.
Non.
Hollande.
Coluche, mais il était mort aussi.
Ah non, Balladur était vivant de l'époque. Il est vieux, hein, quand même.
Il avait déjà un double menton.
Jospin.
Laurent Baffy.
Non.
Laurent Gérard. C'est un comique, un politique.
Je dirais ni un humoriste. Enfin, on peut pas classer dans un humoriste.
Laurent Gérard.
Non, c'est.
Ruquier, non?
Laurent Ruquier.
Non.
Sébastien Valli.
Un journaliste.
C'est un journaliste.
C'est un humoriste, c'est quoi? Est-ce que c'est un humoriste? On peut avoir moins une.
Ou c'est un homme politique?
Alors, c'est pas tout à fait un journaliste, c'est pas tout à fait un humoriste.
Est-ce que c'est un chroniqueur? Est-ce que c'est un politique?
Non.
Laurent Duhamel, non, c'est pas un journaliste.
Peut-être qu'il était journaliste, non? Enfin, en tout cas, on le connaît pas le plus pour ça.
Non. Un acteur?
Non.
Télévision? Radio?
Non.
C'est pas un homme de télévision? C'est pas un homme de radio?
Non.
Écrivain? C'est un écrivain.
Un cuisinier?
Non.
Il est pas de télévision, il est pas de radio,
un
il était
de porno.
Cinéma alors.
Non, mais si tu continues ta liste,
de presse écrite.
Oui.
Sébastien Bailly.
Serge Julie.
Non.
Edoui Plenel.
Non.
Pas du tout.
C'est un peu plus ancien que ça.
Ah, c'est plus ancien.
Léon
que ça.
Léon Zitrone. Non, mais non, il a
putain. Ah oui, tu vas loin là.
Merde, attends.
C'est quelqu'un qui exerce toujours. Hein.
Serge Moati.
Non.
Attends.
On a dit qu'il n'était pas tout à fait journaliste.
En même temps, il publie quand même tous les jours.
Ah oui.
Plantu.
Ah. Ouais, bien joué. Putain. C'est Plantu qui a dit ça.
Dans le monde.
Bravo, Didouille.
Il y a deux choses que je reproche à Balladur, c'est son menton.
Comment t'as fait pour trouver ça?
Pas parce qu'après, j'ai réfléchi. Bah, tous les jours, c'est quelqu'un qui dessine sur un.
Bien joué, ouais, c'est bien.
Bien, ouais, t'as pas l'air comme ça.
Donc, c'est le genre de vanne qu'on retrouve dans le meilleur.
Tu me donnes, tu veux un chocolat?
Comment tu fais, pour, d'ailleurs, une petite parenthèse, mais pour recueillir, c'est un travail de fourmi, non? Comment tu fais?
Ah, il fait aussi.
On te les propose.
comment je fais pour tout.
C'est marrant ça.
Ça recueille.
Je lis énormément.
Fourmis. C'est marrant ça. Fourmis et fourmois sont sur un bateau.
Allez, une dernière.
Ah oui, allez.
Parce qu'il y a des problèmes de bagueule en ce moment. Avec la sauce, c'est normal. C'est ça le travail.
T'as entendu parler de ça? C'est elle, il est pas au courant.
On y va?
Ouais, j'ai entendu.
Ce livre a reçu le prix Goncourt des lycéens 2014. Oh. Et le Renaudot 2014,
oui,
c'est.
Je le sais aussi.
Ah putain, c'était sur France.
Je le sais en plus, je le sais.
Mais non, c'est. Putain, c'est pas Modiano.
C'est la nana, là. C'est une nana, c'est.
Ah oui. C'est pas Patrick Modiano, non.
Fuinkinos.
Ouais, bien joué. Pour...
Et c'est pour Barbara ou c'est le prénom là?
Non.
Amandine.
Non.
C'est Amandine.
C'est bien un nom de gâteau aussi.
Mais... Non. Oui.
Financier.
Ah,
Paris-Brest.
C'est Fuinkinos. Les mémoires
chocolatine.
De. Elle écrit. C'est une jeune qui.
Cookie chocolat. Mais ça, c'est une star de porno.
C'est David Fuinkinos. C'est. Attends, ça va. C'est le prénom de quelqu'un. Une jeune fille.
Ça,
Amanda
d'accord. Non.
Francesca, ça finit par A, les gamins.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non plus.
Sarah. Allez, les gars. Bah, vous me l'accordez quand même.
Non,
oui, c'est accordé.
Bah,
mais...
Ah
non, tu déconnes ou quoi?
Demi-point, parce que si l'autre il trouve le prénom avant toi, et il a l'autre demi-point.
Aline.
Non, mais il a donné un bon indice. Hein.
T'as dit quoi?
Le nom d'un gâteau.
Baba.
Proposé
Baba.
Amandine.
C'est Amandine.
Pas Amandine, c'est un autre gâteau.
Fraisier, non, ça marche pas. Charlotte. Demi-point.
Ah non,
tu déconnes. D'accord, le point.
Tu savais même pas que David. Qui était David Fuinkinos, toi alors?
Quoi? La délicatesse, excuse-moi. Ah là, je te sèche là.
Allez, pense en ta gueule.
Voilà, c'est tout pour moi, Nico. Est-ce qu'il y a eu des changements notables?
Oh bah oui, j'en ai pas.
Il y a
4 quand même là.
C'est ça, Didouille 4. Didouille, pouh.
Moi, j'ai pas dû changer grand chose maintenant.
T'en as eu un ou pas?
Ludo est passé.
Mais c'est beaucoup plus difficile
non,
quand
je suis talonné. Hein. Mais là, j'ai pété mauvais soir.
Ludo 19.
On va dire.
Je suis derrière avec 14. Didouille 15. Christophe,
donc,
on va le pot.
Derrière moi, si je peux me permettre.
Ouais, t'es pas. Christophe, il va être vert.
Christophe est vraiment nul ce soir.
Non, je suis devant toi. J'ai 17.
Il aurait été fort en plus.
Ah, t'as dit 14.
Pardon. Oui, il aurait été fort.
Starlight 6 et Marius 4.
Mais non, j'ai fait j'avais 3 tout à l'heure. J'en ai fait aucun.
Mais t'en as fait un à un moment. Oui, quand tu en avais plusieurs à citer.
T'as eu un point.
T'as cité un truc là quand tu en avais 10.
T'as les bouquins.
Je vais pas tout réécouter, mais je crois que t'as eu un point. Oh là, te donne.
Non, je pense pas. Non, mais j'arrête de prendre des points comme ça. C'est bon, je suis pas non plus à la ramasse.
C'est pas comme si t'étais un manouche.
Il en est pas au point de mentir des points.
Tous les points que j'ai, c'est les points qu'on me donne. Non, j'en veux pas, non.
Ah bah attends, c'est bon.
Ok, on reste là.
Et au pire, tu nous fais le pari.
Puis s'il y a des éditeurs qui tiennent les comptes, qui rectifient s'il y a des erreurs dans les comptes, c'est possible.
Voilà, c'est tout pour moi.
Ah bah c'était déjà pas mal.
Ah bah c'était très bien.
Génial, franchement, moi j'adore.
Moi j'aime bien quand tu fais des quiz.
Mais on sent que c'est les vacances que j'ai eu
le
temps de préparer.
Non, mais je crois que j'ai
un
esprit de compétition.
Ah, c'était vraiment bien. Moi, j'adore ça, les quiz. C'est vrai que ça me fait voyager et tout. J'apprends plein de choses.
Mais tu devrais prendre l'application du L Quiz. Ça te ferait un peu t'entraîner.
Mais j'ai du Olingo déjà.
L Quiz. Un L Quiz. À l'époque, pour le
Wellfest. C'est quoi ça, le L Quiz? Ouais, faut prendre un ami.
Mais non, pas
L
Quiz. Duel Quiz.
Tu vois comme on a la pointe aussi à l'anthropode.
Eh bien, parlant de pointe, Didouille va nous aider à nous remettre. Dans le sens de la... Je ne sais pas quoi dire, en fait.
De la marche.
Je suis mal parti dans ma phrase, en fait. C'est ça.
Et maintenant, c'est ta Didouille qui va nous apprendre à... Oh, merde.
Et
maintenant, c'est ta Didouille qui va nous aider à nous endormir moins bête.
Nico ou l'art de la transition, tu sais. Elle va être très courte.
Eh ben, c'est pas grave. Tu parles de Ludo?
Pardon. Ouais, bon. Attention.
Do.
Tu parles de la petite parle lorgnette de... ou quoi?
Je préférais qu'elle parle de sauce barbecue et de bagel, moi.
Ah oui, tu viens de comprendre. Savez-vous pourquoi on appelle la police des polices les bœufs carottes?
Ah bah, il n'y a plus de son.
Quoi? T'as coupé ton micro, ça?
Mais non, je l'ai baissé, il est con. Tu dis que c'était trop fort.
Ouais, mais t'as vraiment baissé, là.
Ah, t'entends plus rien.
Et donc, tu peux jouer, Sébastien.
Les bœufs carottes.
Les bœufs carottes, pourquoi? Parce que les carottes sont cuites?
Ah, et le bœuf, là-dedans?
Les bœufs carottes.
Les bœufs carottes.
Il y a des requins, non?
Ah oui, effectivement.
Ah oui, on va te laisser jouer tout seul, ça va être drôle.
Mais non, mais je suis sûr et certain. Oh.
Je suis sûr et certain.
De quoi?
C'est bon? Non, mais je pense que... Non, bah, peut-être parce qu'en fait...
Mais un indice chez vous.
Moi, je peux donner une réponse ou pas?
Bah, tu l'as, la réponse?
Bah, je pense. En fait, je sais que... en fait,
j'ai peur. Cette expression, non, tu peux pas.
Cette expression vient du nord de la France. À l'époque, en fait, les policiers qui étaient en charge de s'occuper des autres policiers qui pouvaient faire des fraudes, en fait, ils avaient des problèmes d'éructation. C'était des bœufs carottes.
Ok, d'accord.
Oh là là.
Ok, d'accord.
Non, mais non. Rigolez pas. Non, Freddy, rigole
non,
pas.
Non, on l'encourage, là.
Non, non, ouais, vous encouragez,
t'as pas
raison,
le micro, tout va bien.
Alors, c'est quoi, donc, du coup, m'a dit oui. Tu
peux attends, mais des indices, parce que moi, je l'ai su.
Bah, donne-nous les...
Est-ce qu'il y a un rapport culinaire?
Oui, un rapport culinaire, mais dans une autre, dans une notion culinaire.
Oh putain, ça va
être
c'est
un zeugme.
Ça veut dire quoi ça,
ça...
Quoi,
non, ça... ce n'est pas un zeugme. C'est le temps de cuisson.
Est-ce qu'on aurait pu remplacer
les pas bœufs, loin, tu
le bœuf par de la chèvre ou, je sais pas, ou tout autre animal qui puisse
oui,
se cuire
tu
facilement
peux.
On peut ouais, ok.
C'est les durée des interrogatoires. C'est
bizarre.
Eh oui, c'est ouais.
Ça c'est
un poids.
Ouais,
enfin, ça, il n'y a pas de point là-dessus.
En fait, on les a appelés les bœufs carottes parce que dès lors que tu te faisais choper par la police des polices, et ben, eux, ils te faisaient mijoter
ouais,
pendant
que...
des heures et des heures.
Ça aurait pu être mouton flageolé. Hein.
D'où ben, ça reste un plat qui mijote. Hein. Ça aurait pu être navarin d'agneau, mais
ah, oui.
Ça fait moins.
Cassoulet.
Ouais, ou cassoulet, ou tartiflette, voilà. Des trucs comme ça.
Sur, sur marmiton.org, ils écrivent que c'est 2h15. Hein, la
ah ouais
c'est pas tant que ça.
Ah si, un bon bœuf carotte,
il y a des gardes à vue qui
doit...
durent plus longtemps.
Ouais. Voilà, donc voilà, d'où le terme, les bœufs carottes.
Eh ben, wow.
Merci,
merci,
wow, alors, je veux dire
merci
là,
d'avoir élevé notre niveau de conscience.
Ouais.
Et culinaire, parce qu'on sait que c'est 2h40 pour en avoir un d'agneau.
Au moins ça.
2h15, pardon.
Au moins, je vais utiliser les jeux de la première fois. Et le lendemain, tu
c'est
recommences à
2h15.
Sur un autre site.
Ah, c'est un plat de Marseille, c'est ça
ah, c'est
ce, qui paraît, ce qui me paraît bien
cuisine
plus
facile.
Ah, ça y est, je monte jusqu'à 5h15.
Oh la vache.
Ah, ce qui paraît plus...
Oui, parce que tu vois, du coup, la viande, elle mijote bien.
Ah oui.
Ouais. Et donc, c'est de Marseille, on est d'accord. Vous êtes obligé de prendre l'accent du sud.
Un petit peu. Sinon,
Dédicace au didgeridoo, là.
Tu fais super bien,
c'est bien bon aussi.
Ah, moi, j'ai pas l'accent du tout. Eh bien, merci Dido, ça crépite dans les oreilles, ça fait du bonheur.
D'ailleurs, qui me suit sur Google Plus. Spécial message à toi,
Digérudle.
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 Eh bien, Starlet, tiens, tu te marres.
Oui.
Allez, tiens.
À toi maintenant. Sometimes when the rain falls, I think of you. It gives me this peaceful feel.
Alors, en fait,
je vais vous
expliquer. Tu sais ce qu'on appelle ça en allemand?
Le bœuf aux carottes.
La glottalisation. D'accord.
D'accord.
Là, tu viens de.
Super.
Qui fera l'objet pour la prochaine? Qui fera l'objet d'un prochain?
Tu viens de donner un coup de glotte énorme.
Et c'est énorme.
C'est vrai?
Oui, t'as donné un coup
je
de glotte.
Je sais faire ça moi.
T'as un
tu peux faire allemand. Ben, j'ai déjà fait l'allemand, c'est bon.
Un coup de glotte, ma chérie.
Coup de glotte qui laisse rêveur.
S'il y a bien un truc qui me fait fantasmer, c'est les coups de glotte.
Ah, tant que c'est pas. Enfin bref, un coup d'autre chose.
Allez. Trêve de galéjade, vas-y, continue ma chérie.
Galéjade.
Comme tu viens du sud, toi. C'est incroyable.
Bon, galéjade,
la gorgnerie, il se calme l'autre.
Alors, on va parler de. On va parler de Netflix.
Ah bah voilà.
Que vous, est-ce que vous connaissez Netflix?
Ah bah non.
Ah bah non,
c'est... Je suis à deux doigts de basculer.
Netflix, qu'est-ce à dire?
Je ne suis pas utilisateur.
De basculer quoi, toi?
Eh bah, ben, de le prendre.
Ah oui, alors, sur quoi?
Qui est utilisateur?
Eh bien, parce que tu m'en as parlé beaucoup.
Enfin, nous.
Et que j'ai...
Et je me fais un peu chier en ce moment chez moi. Donc,
nous, non, façon, il y a du bagel ou du chocolat.
Voilà. Il y a du de la sauce barbecue dans ton bagel.
Non, mais j'ai envie, il y a plein de. Non, mais ça en est pas mal. Et c'est vrai qu'à à 8 euros, c'est ça.
Après, votre joke.
C'est le privé joke.
À partir de 8 euros.
Pourquoi à partir de 8 euros. Je laisserai lui dire. Dis-nous en plus. Vas-y. Ça te dérange pas si je discute avec.
Vas-y, avec ma femme.
Je crois qu'il veut mon coup de gosse.
Vous allez me calmer ou... Non, mais moi, dès qu'elle. À part le saglotte, elle me retient plus. Hein.
Attends, il me voit déjà en pailleté ou je sais
ouais,
pas
bah
quoi.
Ouais, bon, bref, allez,
en pailleté.
En paillé.
Alors.
En paillé, tu vas voir. Tu vas voir.
Je suis en paillé. Hier, on a vu un film où la nana, elle voulait se faire désosser par son.
D'accord. Être très bien.
C'est pas Point Break.
Non, c'était un film avec.
Je vais t'en pailler.
C'est pas grave. C'est un coup de cœur. Tu nous le gardes vers pour la bonne bouche.
Bon, vas-y, parle-nous de Netflix.
Donc, Netflix, qui nous permet de voir des films à volonté, moyennant un certain. Abonnement mensuel, donc c'est à partir de 8 euros par mois, et donc on s'y est mis, nous, il y a 3 mois, à peu près.
Oui, bah quand c'est sorti, en fait.
Voilà, et ben, je voulais dire que c'était quand même super bien que, effectivement, il n'y a pas tout ce qu'on veut sur Netflix, mais je suppose que c'est juste
Netflix.
Pour...
C'est un catalogue.
Netflix, oui. Pour le moment, il n'y a pas tout, mais je suppose que ça va arriver. Enfin, qu'il va y avoir
jamais
de choses, de toute façon. Non, mais de plus en plus de choses récentes.
Bah, comme on disait tout à l'heure pour Spotify, en fait. C'est-à-dire que le catalogue s'étoffe au fur et à mesure. Donc,
en 10 heures.
Ou 10 heures, pardon, excusez-moi.
Ou 10 heures.
Pluralité.
Et donc voilà, pour 8 euros par mois, c'est vachement sympa. D'autant plus que quand on choisit un film ou une série. Un film ou une série, il nous fait des propositions par rapport au genre. Donc ça peut nous emmener arrête de te marrer comme un con, je l'ai en face de moi, je préfère l'avoir à côté en fait.
Vois, non, j'ai déjà une image.
Je te laisse pas déconcentrer, vas-y.
Vas-y.
Allez, fais péter. T'es sur les films de cul toi. La glotte de Lasco.
La glotte de Lasco.
Trou Lulu 24. Vas-y, fais-nous rêver encore.
Je te rappelle le nom de la rubrique, j'ai testé pour vous.
Oui, en plus, c'est oui. Très bon.
Tu as testé quoi? Tu as testé quelques
exemples concrets
voilà.
Plutôt que
t'as
de parler
quoi,
de
t'as regardé quoi par exemple en fait?
J'ai regardé des vieux films.
Ouais.
Mais que non, mais c'est pas des trucs qui viennent de sortir, mais du coup ça m'a j'ai eu des propositions à chaque fois, donc j'ai regardé La Couleur des Sentiments que j'ai trouvé très bien.
J'ai déjà vu, j'adore.
Il est super chouette.
Et le système en fait, ça fonctionne comment? Tu dis
tu choisis un film et après suivant le genre du film ou les acteurs qu'il y a dedans, il te fait d'autres propositions, en fait. Et moi, si j'ai aimé un film, je peux partager
ma note.
Oui, je partage ma note.
Tu peux le recommander.
Je peux le recommander à des gens.
Est-ce que le système, il ne t'enferme pas un moment dans un... tu sais, dans un truc où à un moment, il te propose que des choses par rapport à ce que tu as vu.
Tu choisis ce que tu veux, j'imagine.
Après, oui, mais t'es pas obligé de regarder ce qu'il te propose. C'est le même temps.
Bon, bah d'accord, bon, bah, je vais regarder ça parce que j'ai pas le choix.
C'est bien.
Oh bah merde alors.
Sébastien, oui, tu as.
Mais en fait, toute la force de Netflix, c'est de savoir exactement ce que vous regardez, à quel moment, quel passage vous passez, quel passage vous regardez pas, quel moment vous arrêtez dans les films.
Qu'on regarde à nouveau, papa.
Ce que vous regardez à nouveau, etc.
Mais
donc,
qu'ils
ont sur chaque.
Ah oui,
ils
carrément.
Ont sur chaque utilisateur banque de données. Et la valeur que ça a, c'est ça. C'est plus vous allez regarder, plus ils vont être précis. Et c'est comme ça qu'a été lancé House of Cards aux États-Unis à partir d'une série anglaise. Ils sont aperçus que les gens qui aimaient la série anglaise aimaient bien tel réalisateur et tel acteur. Et donc, ils ont pris pour faire le remake aux États-Unis, Kevin Spacey, et le réalisateur dont j'ignore le nom. Pour que
David
ça marche.
Ouais. Tu vois.
Et donc c'est sur les données très précises en fait que vous offrez à Netflix qui s'appuie pour améliorer les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc c'est de l'algorithme et que petit à petit les algorithmes deviennent intelligents et ils vont être capables de repérer que vous aimez de l'inattendu. Et donc, parce que vous aimez de l'inattendu, ils vont être capables de vous proposer des films auxquels vous ne vous attendez pas du tout.
Ah, voilà.
Et c'est ce côté-là, moi, qui me plaît bien, en fait.
À un moment, ça me fait flipper, ça, moi.
Pourquoi?
Ah non,
parce qu'ils ont tout, ils savent tout sur ta vie et tu saches exactement quel passage.
Ils savent tout, ils savent ce que tu regardes, qu'est-ce que t'aimes.
Bon,
au bout d'un moment. Ta gueule.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. L'un des sujets intéressants de Netflix, c'est aussi d'avoir des profils, en fait. C'est-à-dire que Delphine a son profil, moi j'ai le mien, les enfants ont leur. Et bah, les gamins ils regardent des dessins animés.
Ça t'avertit des nouveautés selon ce que
ça
tu
ça te propose des choses. Là on regarde, nous on regarde pas mal de séries américaines. Donc là bon, il y a une nouvelle série qui vient de sortir qui est Marco Polo qui a priori est une purge, mais ils te le proposent. Alors que peut-être que si t'as un film qui sortait, peut-être tu le mettrais plus en avant. Pour les enfants, sur leur page d'accueil, ça va être le dernier truc des pingouins de Madagascar ou je sais pas quoi là. Enfin, tu vois, c'est un truc qui t'incite. Mais cela étant, t'as une. Enfin, rien que quand tu mets dans ta liste ce que t'as à voir, j'en ai pour 10 ans avant d'avoir tout vu, quoi. Rien que dans les séries que j'ai
pourquoi
pas vues.
Quand même...
Sons of Anarchy, par exemple, que j'ai jamais vu. Maintenant, si je veux l'avoir de façon légale, je vais débourser je sais pas combien en coffret DVD. Là, pour 8 euros par mois, je peux me permettre de le tenter. Et si ça me plaît pas, bah, j'abandonne. Et puis voilà quoi.
Ça, c'est l'offre de base ou c'est
8 euros, c'est l'offre de base.
Alors ça veut dire que tu
montes jusqu'à oui.
Nous, on a 8 l'offre
euros,
à
ça
9
veut dire
euros.
Que tu peux regarder sur un support.
Un support en basse définition. Nous, on a
en
2
basse
euros.
Définition.
Ouais.
Bah ça, sur
c'est-à-dire
un tablette
smartphone
ou...
smartphone ou tablette, etc.
C'est pas suffisant pour la téloche, il faut un truc un peu plus...
C'est léger.
Ouais. Je sais pas, nous on a l'offre 2 écrans et HD. Cela étant, on n'a pas une connexion qui permette d'avoir de la super HD, donc je suis pas sûr qu'on ait vraiment de la HD. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder... moi je regarde sur la tablette, et puis les enfants ils regardent un dessin animé. Tu peux avoir 2 choses différentes, voilà.
Vous parliez de profil, en fait, t'as un mot de passe pour ton profil? Parce que,
non.
Par exemple, si je regarde des films, moi, et puis après, bon, il y a une liste de choix qui m'est proposée. Que, bon, bah...
Alors, pour info, enfin, j'ai peut-être pas bien cherché, mais il n'y a pas les films dont Marius raffole. Par exemple.
Mais est-ce que c'est un engagement à l'année
non.
ou c'est un engagement mensuel?
T'engages sur le mois. Si au milieu du mois, t'as un mois gratuit, tu bénéficies d'un mois gratuit.
Un peu comme
à la fin du mois, si t'en as marre, bah, tu renouvelles pas. Et puis.
Et par rapport aux chaînes classiques et tout, ça a foutu un peu le Bronx ou pas? On sait un petit peu ou...
Pas encore.
Bah, c'est surtout Canal Plus qui doit flipper, non?
Mais ils ont Canal
par
Play
rapport à ces
qui marche
films.
Pas mal a priori.
Canal Play, c'est la même chose.
C'est la même chose, ils ont pas le même catalogue. Mais ils ont une grosse différence, c'est qu'ils ont mis en place le visionnage hors ligne.
Ah ouais,
un peu comme
ce fait
Spotify, c'est-à-dire que si t'as pas de réseau, tu peux le précharger.
Comme Deezer.
Comme t'es pas Deezer aussi, pardon.
Mais il faut être abonné Canal Plus. Je crois.
Je crois non. Non,
je crois pas.
Abonné à Canal Play.
Canal Play seulement.
D'accord.
Non, ils font la pub.
C'est un service indépendant de Canal en fait.
Mais aussi, on développe ce type d'algorithme ou c'est spécifique à Netflix hein?
C'est la grosse force de Netflix.
D'accord.
Je suis pas sûr qu'en France on soit aussi au point.
Netflix,
sur ce genre
ils ont
de
l'avantage
chose.
D'avoir aussi la base de données installée américaine, quoi, qui leur permet d'avoir depuis des années des utilisations de consommateurs, quoi. Netflix.
Merci de m'avoir
aidé. Merci Delphine, c'était super.
C'était un plaisir, on a adoré ton sujet.
Merci, je savais que ça vous
plairait. C'était intéressant.
Tu merci, vois, Sébastien. C'était pas grâce à moi que c'était intéressant, mais je savais que ça allait vous faire rebondir.
Bah oui, mais t'as mis le sujet sur la table.
Voilà, c'est ce qu'il faut. Je suis déjà à table.
Non, puis un truc, vraiment, pour être tout à fait clair, jusqu'à présent, à la maison, les films, c'est moi qui les achète ou qui les télécharge. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et du coup, il y a un moment, ça fait un peu... Enfin, Delphine, je lui impose mes choix, on va dire, entre guillemets.
Ouais, elle s'émancipe quand
même. Non, mais c'est ça. Ouais. Non, mais sans déconner, c'est un peu vrai. Et du coup, là, La couleur des sentiments, c'est pas un film vers lequel moi je serais allé. Et Delphine, ou un film dont elle parlera peut-être plus tard, bah, du coup, avec un profil, elle a... Parce que bah, elle va pas aller télécharger les films sur les trucs qui sont des trucs de geek, de machin, etc. Du coup, bah, elle regarde les trucs qu'elle veut sans que je lui impose quoi que ce soit. Et mine de rien, c'est quand
c'est
même
beau.
Un.
T'imagines ?
C'est pas vers l'émancipation de la femme.
Il me rend ma
Netflix,
liberté.
En fait.
Ça veut
non,
dire
mais
que dorénavant, toutes
con.
Les sorties DVD que va proposer Anthony, tu pourras les prendre
non.
peut-être sur Netflix ?
Non, parce que sorties DVD, t'as la chronologie des médias. C'est le problème de Netflix.
C'est-à-dire
c'est que. Tu as, alors je sais plus, je crois que ça a été réduit, mais c'est en gros 3 ans avant que ce soit disponible en illimité. Enfin, c'est peut-être réduit à 2 ans, je crois, un truc comme ça. Alors que DVD ou VOD que tu achètes à l'unité, c'est 3 mois après la sortie en salle, je crois, quelque chose comme ça. Ou 6 mois, enfin, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en DVD et sur Netflix, tu peux avoir 1 an et demi, 2 ans avant que ça soit disponible. Et tu peux pas imaginer avoir le dernier Game of Thrones sur Netflix.
Par contre, t'as un catalogue de vieux films, de classiques, etc., fourni ou c'est.
Est-ce qu'on trouve les Charlots, par exemple?
Voilà.
C'est ce qui va me décider à l'acheter ou pas.
Quand même.
J'ai pas cherché ça, Freddy. Je te laisserai regarder tout à l'heure.
C'est
si tu veux.
J'ai pensé à toi hein, pour la dernière chanson. Et puis finalement, j'ai pas retenu Noël des Charlots, mais j'ai failli. Hein. J'étais limite.
Ça, c'est salaud, là, par contre. Mais bon.
Je suis désolé, mais.
Mais voilà, il y a un catalogue qui est assez intéressant. Et puis, enfin, à chacun de se faire son avis. Mais il y a au moins un mois gratuit, ce qui permet, pendant un mois, tu le testes. Si tu trouves rien qui t'intéresse, bah, t'abandonnes et puis c'est tout, quoi. Voilà.
Tu ne peux pas ne pas trouver quelque chose qui t'intéresse, forcément.
Oui,
bah
ouais.
Oui,
parce que ça va du documentaire.
Oui, il a préparé
sa
liste de films à voir. Il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a pour un moment.
En fait, ils font vraiment tous les genres.
Par contre,
suivant l'offre de prix, t'as pas de truc plus chose. Récent. Non, c'est non, simplement si tu prix, veux avoir du HD.
C'est
ou
juste
du,
ça, c'est la, voilà, c'est la ça. Disponibilité sur divers écrans et la qualité.
D'accord.
Merci quand même. Moi, je remercie Sébastien qui
a ri.
Qui a ri.
À ta blague.
Non, mais nous, on fait pas à chaque fois non plus.
On peut pas.
En plus, on fait à tour de rôle pour passer plus de trucs.
Donc, Delphine, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, donc c'est ça qui est bien. Donc, moi je vous invite à. Bah, d'une part, à vous faire votre avis, j'ai fait un billet sur mon blog, si vous voulez jeter un coup d'œil, et puis à tester par vous-même surtout. Parce que...
Oui, parce que tout ce que j'ai raconté, je l'ai fusé du blog de Nico. Hein.
Mais essayez-le, parce que c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne initiative en fait. Mais j'ai pas testé Canal Play, hein, c'est peut-être très bien. Mais c'est une autre, c'est un changement dans la façon de consommer.
Ouais, oui, je vais peut-être.
Tu vas peut-être tester.
Mais t'es pas obligé, Marie.
J'ai envie de tester.
Bah, je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, qui sont nos coups de cœur en 60 secondes chrono, et donc je laisse Starlet lancer.
Ou nos coups de gueule.
Ou nos coups de gueule, ah peut-être, je ne sais pas.
Coups de gueule.
Et je vais commencer par Ludo, tiens. Mystère Lulu.
Oui, c'est moi.
Alors.
Bon, bah, d'accord, alors j'y vais.
De quoi vas-tu nous parler? Attention, c'est parti.
1, 2, 3.
Je vais vous parler de Night Call, en fait. Un film de Dan Gilroy avec Jack Gyllenhaal et René Russo. Parce que on parle de journalisme aujourd'hui un petit peu. Donc bah voilà, ça tombe bien. Film que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Super film. Le pitch, rapidement, c'est un Lou Bloom qui est un voleur de métaux qui, par un concours de circonstances, va se retrouver face à un accident de bagnole et va assister au boulot de journalistes qui sont chargés de choper des images chocs de tout ce qu'ils peuvent voir, et il va commencer à rentrer dans cette mécanique, et il va très ambitieux, il va se lancer là-dedans, il va être extrêmement compétent dans ce domaine-là, et le film est extra. On assiste à une prestation glaçante de Jack Gyllenhaal, qui est en fait un cynique sociopathe absolu, dont la progression et la progression dans sa carrière va se faire de manière complètement... C'est difficile, hein. Excusez-moi, j'en ai deux qui se marrent.
Et voilà, c'est super.
Oui, mais là, c'est difficile.
Attends,
parce
on a fait aucun bruit, rien, quoi.
Et donc...
Juste le bruit des maracas.
Je profite des 3 dernières secondes qui sont données. C'est vraiment un super film.
C'est fini.
Super thriller. Qui sont données, qui sont volées par toi.
Je vous le
conseille. Espèce de manouche. Oh, pardon.
Je vous le conseille vivement. C'est un super film qui laisse même un peu mal à l'aise et qui décrit très très bien les dérives d'une certaine forme de journalisme aux États-Unis. C'est vraiment extra.
C'est cool. 1 minute 50, tout va bien.
Tiens, Marius, puisque tu parles. Attends. Non, pas toi en fait, parce que je suis pas prêt. Je vais laisser Didouille, tiens, parce qu'elle a pas rempli le conducteur, donc
attention.
Je sais pas de quoi va parler. Attention, c'est parti.
Moi, 2 coups de cœur. Le premier, le Steampod. Révolutionnaire, fer à lisser à la vapeur qui soigne vos cheveux. C'est cher, mais vous jure, l'investissement, il est génial pour vous les filles qui ont les cheveux frisés.
Combien, Maryse?
Ça, c'est le premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, c'est le Social Perk à Rouen. Donc, petit restaurant sympa qui sert sur le thème un petit peu à la Friends.
Bah, un petit peu, beaucoup, ça a été copié quand même.
Oui, ça a été un peu copié, mais on mange des bagels qui sont absolument divins. Vous pouvez le composer vous-même. Vous pouvez composer vos poissons sautés avec des toppings, des saveurs, c'est super sympa. Par contre, victime de leur succès, c'est assez blindé. Ils ne prennent plus de réservations parce qu'ils ont énormément de monde et la salle est très petite. C'est juste ça qui est dommage. Donc, si vous voulez manger au Social Perk, faut vous y présenter avant midi. Bah, midi, c'est encore faisable, mais les.
Mais à midi, c'est plus possible.
9h45, c'est mieux. Quoi.
C'est marrant, ça t'a aussi à mettre 2 coups de cœur en 1 minute, alors que moi pas.
Trop fort. Un débit.
Non, mais ouais, c'est.
Et là, Marius.
Ah, je suis hiver.
C'est parti.
Donc alors moi je alors là
j'avais pas vu hein. Vous êtes venu tout le long des épisodes.
OK. Shamir donc
vas-y Marius, vas-y.
En fait c'est un genre de truc comme GG avait fait donc dans l'entrepôt de Noël dernier, et en fait ça c'est le genre de truc que je mets et qui colle la patate en
par Williams quand même.
D'accord. Et peut-être que ça va cartonner un an, et en fait on croirait que c'est une nana et c'est le Christophe Willem américain, c'est un mec qui chante. Et puis voilà, je trouve ça vachement bien. Ça me fout la patate.
Pour aller dans le sens de Marius, ils font le buzz et Canal Plus arrête pas de parler d'eux parce que c'est la révélation pour 2014. Oui.
Oh putain, je suis trop fort. Alors fais-moi le malin, sale con. Non, moi ça m'a tout de suite plu. Et puis
c'est très coloré,
ça,
hein,
et
c'est
ça
très.
La patate, mais je peux le faire mon truc. Non, merci ma dédouille. Tu vois, au moins,
tant d'arguments, petit, c'était en tout cas.
Merci Marius.
Mais c'est vachement bien. Mais ça fout la patate. Ça fout la gouache, quoi.
Très bien, ce sera à chacun de faire son avis. Hein, ça sera sur la playlist.
Se faire sa gouache.
Shamir, on a regular.
Ah, c'est à toi, Starlet, tiens. Attention, c'est parti.
Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le 439, que j'ai eu l'occasion de découvrir donc, via Netflix, qui m'a été proposé par l'application. Donc, un film qui est sorti en juillet 2010 avec Renée Zellweger et, entre autres, Jodelle Ferland, la petite fille qui a joué dans Silent Hill.
Et Bradley Cooper, le raton laveur de...
Vas-y, continue.
Merci. Et donc, je voulais vous parler de ce film parce qu'il m'a vraiment happé. J'ai commencé à le regarder un après... Quoi ?
Je peux dire après... Tout ça pour faire sa glotte.
Putain, il reste 10 secondes, là.
T'as vu, c'est dur, hein ?
Là, il n'y a pas de...
Vas-y.
Je n'ai pas le temps de développer,
t'as vu, c'est dur, hein,
quoi. Bande de cons.
Mais c'était bien ton film.
Mais c'était vachement bien. Je vous en parlerai plus jamais. Puis j'espère que vous êtes vraiment des cons.
Vas-y, te déconcentre.
Et c'est très, très angoissant. Mais c'est pas un film d'horreur, mais c'est très, très angoissant. En fait...
Freddy.
Renée Zellweger, c'est une assistante sociale, et en gros sa vie bascule le jour où elle ouvre le dossier numéro 39.
T'as une note.
C'est
Starlet, en tout cas, je suis allé voir, il y a eu d'excellentes critiques sur Allociné, notamment sur ce truc là donc moi j'adore Allociné. Et surtout voilà, donc je suis allé voir, j'adore les critiques spectateurs, donc
c'est pas mal, hein.
Et bah regarde-le.
Mais oui, et je veux le voir, mais j'ai envie
très,
de le voir
bien.
En plus
il est très très bien.
Prends Netflix et puis t'essayes pendant un mois.
Non, mais c'est vrai, mais tu sais que j'ai envie de prendre,
allez,
Netflix
voir
Netflix pour celui-là, bah, comme tu m'en comme
juste
tu
un truc
parlé,
pour info, Netflix pour l'instant c'est disponible que sur Bebox.
J'allais demander, ouais.
Si tu veux le regarder, c'est sur ton ordinateur ou sur la Xbox.
Ah merde.
Sur la Xbox, tu peux l'avoir sur la Xbox.
Et pas sur iPad.
Sur iPad aussi, mais je veux dire sur ta télé, si t'as pas une console ou un ordinateur relié à ta télé, ça marche pas. Hein. Y a que chez Bouygues Télécom que ça marche. Dans la chambre de son fils.
Ah, par contre, si c'est juste pour le 439 que tu veux Netflix, le DVD coûte 8 euros. Et avec un peu de chance, je peux te le trouver à Noz.
Noz, Las Delo.
Juste pour la petite histoire quand même sur le film, c'est vraiment parce que c'est. J'ai commencé à regarder le film l'après-midi parce que j'étais malade en fait. À 15, non mais c'est franchement pour me dire que ça m'a foutu la flippe quand même. À 15h, je me dis bon, il me reste une demi-heure de film. Dans une demi-heure, je dois aller chercher les enfants. Soit je regarde la fin, soit j'ai une demi-heure pour faire la valise parce que Nico était en déplacement le soir et allait dormir chez mes parents. Et ben je suis allée faire la valise.
Ah ouais. Je voulais pas dormir toute seule à la maison.
Non, parce que j'étais trop flippée totale. Et je me suis rematée donc la fin le lendemain matin. Il restait du temps avant la nuit et puis Nico
puis
rentrait le soir.
Jour. Puis il faisait jour.
Vraiment, j'ai été happée.
Ouais. Coup de glotte encore.
Non, vous comprenez. Non, le coup de glotte. Non. C'est.
Tu vois.
Alors.
Ok.
Au contraire, happé, c'est le.
Happé.
C'est le H aspiré en allemand. C'est le ich laut et le ach laut. C'est qui le suivant ?
Un petit plaisir à nos auditeurs qui passent ce moment. Eh ben, Sébastien, tu vas rebondir là-dessus maintenant. Puisque tu as un coup de cœur, un coup de gueule, je ne sais pas, c'est la surprise. Attention, c'est parti, 30 secondes, une minute.
Non, je vous ai beaucoup parlé d'Amazon et sur lequel donc est dispo mon bouquin. Je voulais parler d'une alternative qui s'appelle Publinet, qui est une vraie alternative à tous les vendeurs de livres mainstream, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Publinet, Publinet.net, qui fait un travail initié par François Bon, l'écrivain François Bon à l'origine, qui fait un travail de défrichage de la littérature contemporaine assez formidable. Alors je dis littérature contemporaine, ça peut faire fuir. Il y a aussi de la science-fiction, il y a des nouvelles traductions de textes américains ou anglais. Il y a plein de choses à découvrir. C'est pas beaucoup plus cher que Netflix et c'est de la lecture. C'est voilà. Donc je peux tenir en moins de 60 minutes. Je peux même obligé de rallonger.
Minutes, 60
secondes. Je rallonge un peu.
C'est pas que c'est pas...
Le dernier que j'ai acheté, c'est un Régine de Tambel, blason d'un corps masculin, et c'est juste formidable, quoi.
Quelle maîtrise du chronomètre.
C'est dégueulasse parce qu'ici on respecte l'invité alors que les autres on les traite comme de la merde.
Point net alors.
Je vais laisser le meilleur pour la fin, Freddy. Et je vais,
bah, tu m'as dit que t'avais pas aimé.
c'est. Tu vas, Delphine, tu me dis.
Parti.
Tu me mets le petit son qui
donc
m'a
moi,
bien.
Attends, c'est moi d'abord.
Ah pardon.
L'histoire. Moi, je vais vous parler de Derek. Donc, c'est une histoire qui se passe à Broad Hill, une maison de secrète, une maison de retraite médicalisée, pardon. C'est une série. Ça aborde la vie, la mort à travers le format reportage, par le prisme des yeux de Derek. Donc, une personne de 5 ans dans un corps de 50. Qui illustre très bien la formule heureux les simples d'esprit, pour qui tout n'est qu'émerveillement et question simple, voire simpliste, qui ne pense qu'à faire le bonheur des personnes qui l'entourent. Donc il est entouré d'autres protagonistes qui forment un peu une cour des miracles. On se retrouve dans les cousines de maisons de retraite. On voit le quotidien, les arrivées, les départs, les familles respectueuses du personnel, voire des aînés qu'ils abandonnent. Ça questionne sur la manière dont on a de traiter nos seniors, quel que soit leur passé. C'est la force des séries anglaises qui, avec peu de moyens, arrivent à nous embarquer dans leur univers.
Respire.
Donc c'est Ricky Gervais qui incarne Derek et il fait passer du rire aux larmes, et cette série et ses personnages sont drôles, émouvants, attachants, attendrissants. C'est une série donc qui est diffusée sur Netflix, que j'ai découvert grâce à l'improbable podcast et à Monsieur Hobby. Je les remercie beaucoup parce qu'on a passé de très bons moments.
C'était pas allemand, Derek ?
Non.
C'était pas le même. C'était l'humoriste dont tu voulais parler, en fait.
L'inspecteur Derek.
C'est pas Jean-François Derek, non.
Enfin, humoriste.
Oh, j'adore son sketch.
Gérard Bouchard.
Ça me fait beaucoup rire.
Ah, je vous conseille Derek. Si vous testez Netflix, testez ça, c'est vraiment très bien.
Excuse-moi, j'ai fait un peu le faillot quand t'as dit je garde le meilleur pour la fin. Je croyais que tu parlais de toi.
Non, bah, bien sûr que non, Freddy. Je pensais à toi, mon petit lapin.
Oh, y a de l'amour ce soir, y a de l'amour.
Et d'ailleurs, es-tu prêt, mon petit chat?
Mais je suis prêt. Quand tu l'es. Attends, aussi, je le suis.
Lui, il est plus prêt. Regarde.
Parti.
Alors moi, je vais vous parler d'une chanteuse islandaise qui s'appelle Olof Arnalt. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à écrire parce qu'il y a plein d'accents dans tous les sens. C'est quelqu'un qui a collaboré avec Björk, inévitable quand on vient d'Islande. C'est quelqu'un qui a fait partie d'un collectif aussi, un groupe qui s'appelle Mum, que j'aime beaucoup, qui existe depuis pas mal de temps. Et on ressent un petit peu ce côté-là dans ce qu'on peut écouter actuellement. Le morceau s'appelle Palm. Il est issu d'un album qui s'appelle Palm, lui aussi. C'est une musique un peu froide, comme ça vient d'Islande, c'est pas si étonnant, mais il y a parfois quand même quelques couleurs japonisantes ou comme sur ce morceau là, ce qu'on peut entendre derrière moi. Et j'aime beaucoup parce que c'est simple, c'est bien travaillé, il y a une voix cristalline. Voilà, Nico n'a pas trop aimé, c'est son droit, moi j'aime beaucoup ça. Et je suis un petit peu dégoûté de l'avoir loupé. Elle est passée à Paris dans une première partie il y a quelques mois et je pouvais pas la voir ce jour-là. Voilà.
Par contre, ce qui fait drôle, c'est les maracas sur le. Ouais, le côté
ça fait pas partie du morceau.
Bah, ça fait un peu entre mort d'un petit lutin et puis. Mais, sur
mais on peut l'écouter tranquillement sur le blog un mais peu plus
exactement.
Tard.
Exactement.
Siguros
si Freddy me dit.
Pas vraiment, c'est pas
il y avait une. Oh. Mais non. Mais je te dis pas que c'est du Siguros.
Il va encore s'engueuler, c'est pas vrai.
Ah non, dis donc.
Mais si Freddy disait que je l'avais écouté, c'est parce qu'il a fait un billet sur son blog qui donnait envie d'aller écouter. Après, moi, ça m'a pas parlé. Mais on mettrait le lien sur du son la joie sur le blog. Vous irez voir un peu. C'est bien. Ça m'a donné envie en tout cas. Après, je suis pas resté, alors mais je pense que ça donnera envie à d'autres personnes. Ceux qui aiment bien la musique de Marius en général.
Alors, Marius passe quand même de Timber Timbre à ce machin là.
Non, Chamier. Mais là pour Chamier. Le coup, vous allez voir, il a raison.
Bah écoute, pour tant le mieux. Hein.
Et j'ai monsieur Smith qui vient de me faire une demande de suivi sur Google Plus.
Écoute, voilà, le début de la notoriété.
Ça tue, hein.
Ouais, c'est fou ça.
Chamier, vous allez voir, c'est l'enfer.
Bah, je vous propose de conclure cette émission, hein, qui a encore été, ma foi, fort passionnante. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas pour nous, c'était clair.
C'est le moment où on demande où on peut retrouver les gens. Alors, il faut prévoir une petite demi-heure quand même pour notre invité.
Ah oui, là, Sébastien et...
Ludo, as-tu un endroit déjà? On va commencer par... Parce que Sébastien prend des photos. Aussi, hein. Ludo, où peut-on te retrouver ce mois-ci? Dans ces festivités, il y a un endroit particulier, il y a un site.
Dès le mois de janvier, on me retrouve sur Sauce Barbecue et Bagel. Donc, saucebarbecueetbagel.com, qui est en fait un site partenaire de ketchupetcornetfrites.com.fr.
Voilà. J'avais bien compris.
Très bien, bah, on vous laisse chercher. Hein, pour plaisir. Moi, juste vite fait, je m'en retrouve sur les fonds de tiroir. Je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que c'est aujourd'hui les 3 ans de mon blog.
Ouais,
voilà, c'est ma période autopromo. Voilà, c'était le petit truc. Et puis maintenant, on va laisser la parole à notre invité quand même. Donc, Sébastien, où peut-on te retrouver sur Internet, les internets du monde de Navarre et d'ailleurs?
Un peu partout. Non, c'est sébastien-bailly.com. Donc simplement en tapant mon nom dans Google, normalement on me trouve.
On retrouve.
Attention, on peut trouver un réalisateur.
Alors, on trouve un réalisateur et on en trouve 2-3 autres, dont un pilote de rallye, c'est pas moi.
Ah ouais.
D'accord. Ouais, c'est bon à savoir.
Google.
De toute façon, on mettra les liens sur le billet. Et puis si vous pouvez toujours aimer la page Facebook de l'Entrepode, hein, venir sur le blog. Pour poster des commentaires, le blog, on regroupe toutes les informations dont on parle dans nos épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles sur iTunes, pardon, pour nous aider à avoir de la visibilité, comme l'a fait Walter Proof dernièrement, en nous laissant un gentil commentaire. Je ne vais pas le citer, hein, mais en tout cas, c'était très sympa. Donc, on vous invite à faire de même. Et puis, si vous voulez nous dire qu'on fait des choses pas bien, n'hésitez pas à le dire aussi. Ça nous permettra de nous améliorer. Et puis,
toiletteintime.fr. C'était celui-là.
D'accord.
J'ai un petit traité là-dessus.
Et puis, je pense qu'on va conclure en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes.
Un bon réveillon.
Ouais. Puis, si vous nous écoutez en 2015, bonne année 2015 à tous. Hein.
Oui. Hein.
Et on se retrouve, on sait pas quand. Là, on n'a pas trop décidé, mais prochainement.
Certainement prochainement.
Certainement
très. Je pense qu'à l'année prochaine, on va se retrouver.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Alors, tout ce qui est photo Google, Marius.
Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, Ludo est en train de potasser sa séquence post-générique. Je le sens en stress comme un Marius qui prépare son générique d'intro.
Non, il y a juste deux lignes à dire, quoi. Je vais pas sortir.
Donc,
par rapport à Walter Proof, on peut dire que la saison 2, ça y est, elle a commencé.
La deuxième saison de Colly Basile. Et avec, tu dis ça parce que t'es dedans et qu'il t'a fait plein d'éloges, voilà, mais bien sûr.
Il m'a pas fait d'éloges, je sais pas.
Nous, on était au Golden.
J'étais pas au Golden.
Il cherchait pas une glotte.
Non, là, si, il l'avait avec Ludo. C'était Gunther, Ludo.
Nous, du coup, on attaque la deuxième année. Hein, du coup,
coup.
Ça fait à peu près 6 mois qu'on attaque la deuxième année, Marius.
c'est la saison, c'est en septembre.
Je prends bien, quoi.
Donc voilà. Et bonne fête de fin d'année.
Bonne fête à tous.
À bientôt.
Des gros bingos.
Bonne fête, Timba, Timba.
Oui, qui dit fête dit Noël, dit chien dit Noël, donc chant Noël. Donc je vous ai trouvé un petit truc qui date d'il y a quelques années, puisque comme je disais en début d'émission, ça a été enregistré en 1973 et ça a même été publié sur un label français, Philips, en 1974. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la chose? Je l'ai noté, c'est quelque part entre la Wehrmacht chante Noël et les petits enfants à la croix de fer. Je vous laisse déguster.